Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Vous allez écouter un débrief de série, d'abord diffusé en live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. On a commencé avec House of the Dragon saison 1 en compagnie de Tequila Tex, mais il y a tellement de bonnes séries dans le monde que ce flux continue à vivre, avec toujours des invités de qualité. Bonne écoute!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Incroyable.
Ah, oui, ça marche. Bonjour, Internet. Hello.
Wow.
Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous entendez bien Fabrice Florent qui est actuellement peut-être lui aussi à l'autre bout de l'Atlantique, ou en tout cas du côté de l'Atlantique. Comment ça va Fabrice avec ton très beau soleil couchant ?
Écoute, c'est la golden hour ici, ouais, c'est super, c'est l'heure de faire
Amazon
des selfies.
Qui me fait ma golden hour, toi t'as la golden hour naturelle.
Tout à fait, je suis vraiment face à l'océan.
Bonjour
j'avoue.
Tout le monde, il y a des gens qui arrivent tranquillement. Bonjour.
Salut, salut les gens.
Bonjour, alors quelqu'un a dit, French Fry a dit qu'elle est, ou il, est en British Columbia, donc en Colombie-Britannique, pas si loin de l'état de Washington, c'est vraiment le stream américain. Hello Alex, hello Steel Marty, hello Mathias Alcaraz, que tu connais, Fabrice, qui
m'a
envoyé un retour sur cet épisode qui était tout simplement Karl a attaqué à la jugulaire, et c'est très vrai, j'ai tout aimé avec Karl. Et bonjour Caracol. Écoutez, on va peut-être pas trop tarder à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Fab, comme d'habitude, t'as un podcast qui est sorti récemment, un truc que tu veux mettre en avant ?
Écoutez, non.
Très bien. Mais abonnez-vous néanmoins à tous les podcasts de Fabrice. Voilà. Si, on a quand même annoncé que ce dimanche, dans le Film Club, on vous parle d'un super film, à savoir Arrival, Premier Contact en français, un film de science-fiction et d'émotion qui est actuellement dispo sur Netflix et qu'on doit à Denis Villeneuve, réalisateur de beaucoup de talent, qui a fait Dune récemment, et c'est lui qui a fait le nouveau Blade Runner aussi, je crois. Donc c'est plutôt quali, et voilà, on vous en parle ce dimanche dans le Film Club. Abonnez-vous, je vous mets tout ça dans le chat, hop, et on va pouvoir passer au débrief de Succession, saison 4, épisode 4. Are you ready, Fab Flo ?
Ah oui.
Très bien.
Fin prêt.
Générique. Plaisir. Alors, on a Fabrice qui est en full tournesol. Il est en train de se charger comme Wally, vous voyez ? Il déplie ses ailettes et après, il va faire le bruit du MacBook. Il va faire « tung » quand il sera bien rechargé. Mais je suis ravie que tu prennes la vitamine D que tu mérites, Fabrice. Cependant, on a un petit conseil de collègue dans le chat. Nodius, lui-même originaire comme toi des Hauts-de-France, dit « Attention au coup de soleil, n'oublie pas ta génétique lilloise. » Est-ce que tu as mis de la crème ?
Eh bien, non.
Je comprends parce qu'on est en avril, il fait pas très froid et tout, mais tu peux.
Ne te découvre pas d'un fil.
Tout à fait.
Ouais, je sais.
Le rituel, point spoiler pour celles et ceux qui débarquent peut-être pour la première fois, puisque Succession, en tout cas aux États-Unis, ne fait que. Momo, va-t'en. Non, c'est chiant. Ne fait que gagner de l'audimat de semaine en semaine, puisque cette saison 4 a l'air de.
Ah oui ?
Ouais, enfin, non, l'épisode 3 a été particulièrement regardé, mais l'épisode 4 est en train de le talonner. Donc, il risque d'y avoir pas mal de monde devant cette dernière saison. Donc, si vous nous rejoignez, déjà, bonsoir, bonjour, bienvenue, que ça soit sur Twitch ou en podcast. On va vous parler de tout ce qui s'est passé dans Succession jusqu'à l'épisode de cette semaine, à savoir l'épisode 4 de la saison 4, qui s'appelle Honeymoon States. et donc les états lune de miel, et on ne va rien vous dévoiler de ce qui se passe après, déjà parce qu'on le sait pas, on n'a pas regardé les épisodes en avance, et aussi parce qu'on est un peu anti-spoiler et qu'on n'a même pas regardé les bandes annonces ni écouté des interviews des acteurs qui parlent de la suite, etc. En tout cas pas volontairement, ça m'arrive de me faire un petit peu avoir en écoutant des podcasts, mais voilà, on ne va rien vous raconter de ce qui se passe après. Par contre, on va tout vous raconter sur ce qui s'est passé jusqu'à l'épisode 4 de la saison 4, compris. Oh non ! Oh non, Fabien,
j'ai disparu. T'inquiète.
Ok, le mec s'est barré. Tout va bien, tout fonctionne. J'ai fait un sondage sur Instagram. Y aura-t-il des bugs techniques pendant ce live ? Oui ou ben oui. C'était pas un bug, c'était volontaire. Le mec a dit « Attends, je coupe ma cam, oui. Je me tire. » Donc voilà, on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Si vous n'êtes pas à jour sur Succession et que vous ne voulez pas en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à revenir plus tard en replay. Si vous êtes une de ces personnes qui ne regarde pas Succession, mais qui suit quand même ces débriefs, merci, je vous aime, même si je ne vous comprends pas. On est ensemble, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et let's go sur l'épisode 4 de cette saison 4, sur lequel je pense qu'on aura beaucoup à dire tous les deux. Fab, je t'ai fait un petit déroulé au cordeau. On va juste prendre l'épisode en suivant le déroulé du scénario et du coup analyser ensemble tout ce qui se passe pendant ces scènes de qualité. Attendez, est-ce que ça marche si je fais ça ou est-ce que vous avez... Est-ce que si j'ouvre un... En gros, non, c'est... normalement c'est bon, pardon. Je teste ce setup, donc I don't know. Hop, c'est bon. Très bien. Alright, du coup, on va peut-être commencer, avant de rentrer dans le lard du déroulé de l'épisode, par mettre les points sur les i... et les cochons bien gardés, à savoir, est-ce que Mimi Madame Irma continue à se préciser de semaine en semaine ? Est-ce que mes prédictions ne se réalisent pas, telles celles d'une Trelawney en pleine transe ? Madame Irma, si je puis me permettre ? What's up, guys ?
Alors, moi, je finis par croire que tu fais partie de l'équipe d'écriture, d'accord ?
Alors, mon gars, et déjà, I wish, et crois bien que si j'étais dans l'équipe de succession, ce serait brodé sur tous mes vêtements. J'écris succession, genre vraiment ce serait impossible, c'est comme les bretons, tu sais qu'ils sont bretons, l'intégralité du monde saurait que j'écris pour succession, je serais quand même hyper fière, je ne me prétends pas encore avoir ce talent.
Non, bravo Mimi, franchement à peu près 100% de pronos non pour l'instant.
Oui et non, parce qu'il y a des théories auxquelles je croyais pas, comme par exemple la théorie Shiv est enceinte, et bah au final j'avais tort, mais comme je vous parle surtout des théories auxquelles je crois, vous ne le saviez pas, qu'il y avait cette idée que Shiv est probablement enceinte, et moi j'étais là mais pas du tout, mais on va en causer puisque c'est comme ça que s'ouvre en partie l'épisode. Mais j'avais prédit que Logan mourrait plutôt tôt que tard, it's done. J'avais prédit que Marcia reviendrait, it's done, et crois que j'étais ravie de la revoir. Donc bon, prêtez bien attention aux prédictions qu'il y aura à la fin de cet épisode. Ça pourrait peut-être vous spoiler la suite, mais surtout plein de gens m'ont dit « j'ai pensé à toi en voyant Marcia ». Et c'est un beau compliment qu'on peut me faire parce que je l'aime tellement, même si elle fait peur. j'ai peur de cette dame, elle me terrifie un peu. Mais j'aime tout ce qui se passe. Ok.
Avant de commencer, oui, je voudrais partager au chat et peut-être aux gens qui vont t'écouter une vidéo que j'ai trouvée dans mon loophole, dans mon rabbit hole, tu sais, de succession de YouTube, parce que j'ai regardé beaucoup trop de vidéos et j'en ai de plus en plus. Et en gros, c'est une meuf qui s'appelle Dr Ramani, qui est psychologue et autrice aux États-Unis et qui fait toute une vidéo de presque 20 minutes sur le narcissisme de chaque personnage dans Succession, où elle dit qu'en fait elle, pour elle, c'est sa série préférée. Alors je vous mets le lien dans le chat, vous pourrez aller regarder après. Et en fait c'est assez dingue parce que elle démarre en disant bien sûr le champion du monde du narcissisme dans Succession c'est Logan, et en fait après elle décrit un peu les différents enfants, etc., et elle vient mettre des... Carrément, tu vois, elle vient mettre des diagnostics en fait sur chaque perso, parce que ça fait maintenant 4 saisons qu'on les suit, on finit par voir un petit peu comment ils fonctionnent, etc. Et
quelle saveur de fracasserie ils ont eu à la loterie du destin finalement. C'est tous une petite nuance, mais on est fracasse, quoi.
Exactement. Et alors pour elle, Shiv est celle qui se rapproche le plus de Logan.
Ah, c'est intéressant. Oh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment elle le justifie ? Parce que je dirais pas que c'est l'intention, enfin que c'est ce que nous suggère cette saison finale en tout cas, parce que Shiv elle prend porte sur porte.
Alors c'est fait, c'est sorti il y a 3 semaines, donc j'imagine que c'était tourné avant le début de la saison.
Yes.
Mais en fait, on n'a aucune idée de comment Shiv va réagir à ce qui s'est passé dans cet épisode. Et ça m'intéresse justement de savoir un petit peu comment elle va switcher. D'autant plus avec son état enceinte, etc. Ça peut éventuellement créer chez elle des nouvelles prises de tête ou des nouveaux enjeux qu'elle avait peut-être pas forcément. Voilà, qu'elle avait peut-être pas forcément avant. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle dit que, en gros, c'est elle la pire dans le sens où elle le montre pas, elle le montre beaucoup moins que tous les autres. Et surtout, elle disait que c'était intéressant d'utiliser le genre parce qu'elle est mignonne, elle est belle et tout. Et en fait, elle fait toujours, elle fait genre tout se passe bien. Et en fait, elle fait ses petits coups par derrière qui pour elle est ce qui la rapproche le plus de Logan, quoi.
Ok, bah écoute, c'est très intéressant, j'irai regarder ça, merci pour la reco, le lien sera aussi dans les notes du podcast si vous nous écoutez en podcast, et je sais qu'il y avait eu un truc sur les différents types de réactions à la violence traumatique dans Succession, où il y avait genre fight, fly, des choses comme ça, et en fait, donc on connaît surtout le fight or flight, qui est une idée de quand t'es face à un trauma, soit tu le combats, soit tu fuis. Qui s'applique aussi à comment certains personnages vivent le deuil, par exemple, dans cet épisode. Mais il y en avait d'autres qu'on connaît moins et qui s'appliquaient notamment au personnage de Roman et tout. Donc c'était plutôt intéressant. J'essaierai aussi de vous mettre ça dans les notes du podcast, mais je vais pas le chercher pendant parce que ça va faire un live un petit peu chiant. Il y a Steve Marty qui dit « Oui, j'ai toujours dit que c'est la pire, Shiv. » On va voir en quoi c'est la pire. Elle a peut-être fait des choses moins graves que les autres pour l'instant, à part maltraiter Tom, mais je veux dire, a priori, elle a tatoué le front de personne parce que c'est marrant. Mais elle est pas très douée. Par contre, ça, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement, toi et moi, Fabrice, c'est qu'elle se croit probablement plus douée qu'elle ne l'est. Mais bon, c'est un peu.
Je veux dire, à part maltraiter Tom, à part faire un enfant dans le dos de Tom, alors qu'on comprend qu'elle est enceinte de 3 mois, tu vois, what the fuck.
On y arrive. Du coup, saison 4, épisode 4, Honeymoon States, c'est littéralement le lendemain de la mort de Logan. Et du coup, je pense que c'est l'occasion de vous dire un truc que moi je savais depuis deux semaines parce que Brian Cox en avait parlé dans une interview, mais que j'estimais qu'il était un poilito spoiler. Mais maintenant, c'est vraiment dans toute la presse, c'est vraiment un truc acté de cette saison, donc je pense que je peux le dire. Donc là, ça fait 4 épisodes qui se déroulent sur 4 jours consécutifs. Et en fait, toute la saison va être comme ça. La saison sera juste 10 jours. Donc là, on est parti pour chaque épisode va être une journée. Et on se réveille donc au lendemain de la mort de Logan dans ce que j'ai appelé dans mon résumé une gueule de bois de deuil. Alors on voit Kendall qui est en boule pas très bien dans un appartement magnifique à Buseland avec une luminosité folle. Roman qui se brosse les dents, il a l'air relativement frais quoi. Et Shiv qui se réveille avec un coup de fil d'une docteure qui nous révèle à nous public, parce que Shiv le savait déjà, que Shiv est enceinte. Qu'est-ce qu'on en dit, Fab Flo ?
Ah bah... c'est surtout qu'en fait, on apprend qu'elle est enceinte pas de 15 jours, mais de 3 mois. C'est-à-dire que là, la toubib lui dit qu'elle va faire l'échographie du deuxième trimestre. Donc, on imagine...
Elle lui dit que le prochain rendez-vous, c'est pour... C'est le rendez-vous des 20 semaines. Donc, 20 semaines, ça fait 5 mois. Et du coup, elle est quelques semaines avant ça, donc ça fait 3-4 mois. Je me suis posé la question, même si je pense pas que c'est la direction qu'on prend, mais c'est hors du délai de l'avortement dans la plupart des pays, compris les États-Unis. Moi j'ai dû googler parce que je peux verser en question de grossesse et maternité, même si je me renseigne. La docteure lui parle d'amniocentèse, qui est apparemment un examen qu'on fait à quelques mois pour vérifier notamment s'il n'y a pas des malformations graves sur le fœtus ou l'embryon, je sais plus ce que c'est à ce stade. Et du coup, c'est aussi un coup de fil qui peut potentiellement apprendre à Shiv, c'est pas viable, il faut interrompre médicalement la grossesse. Mais c'est pas le cas, puisque la docteure lui dit « Bonne nouvelle, tout va bien, tout est super. » Plot twist ou pas ? Est-ce que t'avais la moindre idée ? Est-ce que c'était sur ton radar que peut-être Shiv est enceinte ? Je sais même plus si on en avait parlé dans ce podcast.
Pas du tout, parce que pour moi, dans ma tête, je ne comprends pas. En fait, je comprends de ce fait maintenant que je vois comment elle fonctionne, mais... Elle décide donc de divorcer de Tom, alors qu'elle sait qu'elle est enceinte. Alors, après, peut-être que c'est pas de lui. Ça, c'est une autre question.
Ouais, on va en parler, mais pour moi, c'est assez clair.
On sait pas, parce qu'après, ils sont en union libre et tout, tu vois. Et si on comprend bien les fameux 3 mois, ça se passe, en fait, avant le début de la saison, donc entre la fin de la saison 3 et le début de la saison 4. Mm-hmm. Parce qu'il s'est passé 3 mois entre deux, donc ouais. Tu peux te dire qu'a priori ça se joue à ce moment-là. Et oui, alors peut-être que c'est Tom le père, peut-être que c'est pas Tom le père, mais d'une manière ou d'une autre, en fait, moi je trouve ça assez ouf que à 3 mois et demi, 4 mois, en fait, elle lui est toujours pas dit. Alors après, on sait ce qui se passe à la fin de la saison 3.
Bah c'est ça, c'est que c'est ça, a priori sa dernière interaction avec Tom, ça a été Tom qui l'a trahi. Pour son père, à un moment où elle est déjà délaissée par tout le monde, enfin où son père l'a déjà trahi elle-même et tout. En fait, tu vois, si je me mets dans la perspective de je divorce de mon mari abusif, ouais, je vais pas lui dire ou en tout cas qui m'a fait un truc que tu fais pas à une personne que t'aimes, je vais pas lui dire que je suis enceinte parce que c'est pas forcément quelque chose que je veux qu'il sache et qu'il utilise contre moi. Et surtout, voilà, elle est à 3 mois, ça commence à être le moment où les risques majeurs de fausses, enfin statistiquement il y a moins de fausses couches et tout, genre je sais qu'il y a plein de gens qui attendent même dans le cadre d'un enfant qui est fait dans un contexte un peu plus aimant, qui attendent 3 mois avant de le dire à la plupart des gens parce que c'est...
Alors pas aux coparents.
Non, pas aux coparents, bien sûr, mais en fait rien ne dit qu'elle veut que ce soit le coparent, enfin tu vois, c'est compliqué quoi, mais enfin leur situation est compliquée. Et dans sa tête, moi je trouve que toutes ses interactions avec Tom, elle a l'air hyper trauma, tu vois, genre elle supporte pas qu'il la touche, elle est défiante et tu sens qu'à chaque fois qu'elle le voit, en plus la série en joue parce qu'il y a souvent des zooms sur Shiv au moment où Tom y rentre dans une pièce. Maintenant on sait que c'est aussi, dans sa tête elle est là, putain je suis enceinte de lui et il le sait pas, ce qui est aussi une pensée qui prend la tête. Je trouve qu'elle est, clairement elle a pas réglé ses bails avec lui quoi. Donc
alors,
est-ce qu'elle devrait lui dire bien d'accord? Est-ce que je comprends un peu pour qu'elle lui dise pas? Je pense que oui.
On est bien d'accord qu'à un moment donné, il y a Greg qui rentre dans la pièce et il y a un zoom sur Shiv qui fait vraiment une tête de recul, genre Et en fait, je me suis dit,
elle le déteste, hein, je
pense. Est-ce que cousine Greg, c'est le daron?
Mais non, mais enfin, ok.
J'ai vrillé de ce con.
J'ai vu qu'il y a plein de gens qui se demandent est-ce que cet enfant, c'est celui de Tom et tout, et je suis là, mais en fait, selon les mots immortels de Jeremy Strong dans le débrief de l'épisode de la semaine précédente, ça n'a pas de sens dramaturgiquement si c'est pas Tom le père. On va pas ramener un gars random que Shiv aurait ken pendant les 3 derniers mois entre 2 saisons qu'on n'a pas vu, alors qu'il nous reste 5 épisodes, tu vois, genre cet enfant n'est pas intéressant si c'est pas l'enfant de Tom. Et dans la situation de Tom et Shiv, le pire ou le meilleur truc qui pourrait leur arriver, mais c'est succession donc j'aurais tendance à dire le pire, c'est qu'elle soit enceinte. Et en plus il y a eu tous ces petits cailloux du petit poussé, ou notamment pendant la saison 3, et notamment sur la fin de la saison 3, donc le moment le plus près du début de la 4, Tom suivait les cycles d'ovulation de Shiv et la pressait d'avoir des rapports sans protection parce qu'il pensait qu'il allait en tôle et que c'était aussi un moyen de la garder accrochée à lui, quoi.
C'est vrai.
Et on sait qu'ils ont eu une relation sexuelle au moins au mariage de la mère, enfin au remariage de la mère de Shiv, parce que c'est ce moment horrible où Shiv avait dit à Tom, Tom, je sais pas, ils étaient partis pour, et l'un des deux a dit vas-y, on fait du dirty talk, on se parle un peu mal. Et du coup, Tom, il était un peu en mode je vais te mettre une fessée, et Shiv, elle était là, je ne t'aime pas, tu m'aimeras toujours plus que je ne t'aime, tu es avec moi parce que je suis mieux que toi, et Tom était là, non, pas comme ça. Ce n'est pas ça le BDSM. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de dire au dernier moment, ce n'est pas lui.
Mais
le
ça
père.
Peut marcher avec Greg.
Mais non,
ça
mais
peut marcher avec Greg, on est bien d'accord.
Greg avec un bâton.
Il y a Mister Melly qui dit de cousine Greg à papa Greg.
Mais arrêtez,
franchement, ça serait vraiment le meilleur plot twist.
Mais non, mais les gens, ils disent, mon Dieu, cette théorie. Non, mais si cet enfant. J'aime trop Shiv pour qu'elle porte l'enfant de cette raclure de Greg. Et je dis ça, l'autre concurrent, c'est Tom, tu vois, qui n'est pas non plus un saint. Rappelons qu'il avait un employé table basse à un moment. Mais Greg, mais Shiv, mais jamais, elle touche Greg avec un bâton, mais on est où là, enfin.
Il y a Caracol qui a rappelé dans le chat justement que Shiv avait balancé les addictions de Ken publiquement pour le discréditer.
Tout à fait.
Et il y a Mister Melly qui dit qu'elle avait fait taire une victime d'agression aussi, donc.
Ah oui, non, mais j'ai pas dit, enfin, aucun des personnages de Succession n'est une bonne personne, ça c'est une règle de base. Et je dis pas que c'est une bonne personne, je dis que je pense qu'elle le dit pas à Tom. En fait, elle l'a dit à personne surtout, c'est ça. Elle l'a pas dit à ses frères alors qu'ils sont censés. En fait, ils ont passé les 3 derniers mois ensemble à se faire confiance, à monter une boîte et tout, et elle a pas dit qu'elle était... En fait, je pense qu'elle est toute seule avec cette info, et qu'elle vit dans un monde hyper patriarcal où dès qu'elle sort l'info, ça va être utilisé contre elle aussi, tu vois. Là, il se trouve que, elle le savait pas, mais son père vient de mourir, il y a des bails de qui reprend la succession. Déjà, elle sait qu'en tant que femme, elle a 0 chance, et malheureusement, l'épisode va un peu le confirmer. Si elle est enceinte, enfin, c'est ciao pour elle, quoi. C'est ok, va élever tes gamins. Ça aurait été tellement intéressant que Logan le sache. Tout à fait, Malaka. Je suis d'accord. Et je pense qu'elle y pense aussi dans son deuil. Il y a aussi le fait de mon père est mort avant de connaître son nouveau petit enfant, quoi. Et en plus, il y a peut-être un peu un truc de nouvel héritier au trône, tu vois. Comme quand il y a un gamin chez les Targaryens, t'es là. Oh non.
Je suis d'accord avec Marty aussi qui dit quand la mère de Shiv, et elles ont une discussion justement sur le fait d'être mère. Ouais. Et en fait, sa daronne, pendant le mariage, lui dit qu'en fait, elle n'est pas faite.
Enfin, c'est Shiv qui... Ah, est-ce qu'on a perdu Fabrizio ? Allô ? Allô, Fabrizio ? On adore les lives en visio, c'est trop bien.
Mère et elle, ça l'a fait vraiment...
Est-ce qu'il est de retour ?
Allô ? Je suis de retour.
Ok, oui. On t'avait perdu.
Ok.
C'est bon, you're back.
C'est pourtant bien,
donc,
là.
Oui, on t'a perdu au moment où tu parlais de la discussion avec la mère de Shiv qui lui dit qu'elle aurait pas dû être mère.
Bah oui, et en fait, c'est intéressant de voir que finalement, peut-être ça l'a décidé aussi, et que peut-être, on ne sait pas comment ça s'est passé dans sa tête, mais que peut-être elle a aussi fait cet enfant par dépit envers sa mère.
Oui, oui, je pense qu'elle est tordue. Et dans mon souvenir, en plus, c'est vraiment genre, elle a cette conversation avec sa mère qui lui dit que tout le monde n'est pas fait pour être mère et que peut-être elle l'est pas, et qui lui dit qu'elle-même ne pense pas avoir été faite pour être mère. Et c'est immédiatement après ça qu'elle saute sur Tom en mode vas-y, on fait l'amour, alors qu'elle sait qu'il traque son truc d'ovulation et tout. Et ensuite, et du coup, lui, il est là, ok, bah cool, tu veux faire l'amour pour avoir un enfant. Et le lendemain, déjà, il lui dit le dirty talk, c'était pas bien. Et elle est là, ça va, arrête de faire du gaslighting. Et ensuite, elle lui dit, du coup, je pensais qu'on pouvait congeler l'embryon. Il est là, ah bon ? Elle fait, ouais, comme ça, tu vois, on a le temps de. Un jour de se décider, quoi. Donc elle rétropédale aussi assez vite, mais finalement elle est enceinte, elle l'a gardée, elle est hors délai d'IVG. A priori, she is getting a baby de Tom, moi je pense, et pas de Greg, genre tout ça. Pourquoi pas de Carl tant qu'on y est, tu vois, si on te dit vraiment qu'il Shiv à Ken tout le monde, enfin.
Mais j'ai pas dit que Shiv à Ken tout le monde, je dis juste qu'il y a un plan. Je dis juste qu'il y a un plan où. Vraiment très étonnant où il y a Greg qui rentre et tu vois la gueule de Shiv qui fait comme ça et je me suis vraiment j'ai vraiment eu une demi seconde de bug de mais ok est-ce que... bon bref non effectivement ça fait beaucoup plus longtemps que ça qu'elle sait qu'elle est enceinte quoi tu vois
oui aussi oui et on a clairement des moments dans la série où c'est montré que tout le monde déteste Greg dès qu'il veut interagir avec Kendall, Shiv ou Roman ils sont là non merci non merci et aussi bah on sait que Greg et Tom c'est les Disgusting Brothers depuis que Shiv et lui sont séparés que apparemment alors on sait pas à quel point Tom a mérité son surnom de Disgusting Brother mais Greg visiblement oui il a vraiment serré tout Manhattan donc peut-être aussi qu'elle est là oh non pas lui déjà parce que c'est fucking Greg genre moi aussi je serais là oh non pas lui et parce que il lui rappelle les frasques de celui qui est quand même finalement toujours son mari, mais finalement là.
Peut-être que c'est parti en trois sommes, hein, tu vois, on sait pas.
On est là, on est au soleil couchant face à l'océan, et tu me mets en tête des. À un moment dans l'épisode, Shiv, elle dit qu'elle devrait faire un procès à Marsha parce qu'elle lui a mis en tête le visuel de Logan qui fait du sexe au téléphone en disant qu'elle avait des conversations intimes avec Logan tous les soirs.
Intimes.
Et c'est exactement ce que je ressens là tout de suite. Tu m'as mis en tête un threesome, Shiv, Tom et Greg, mais on est où là ? On est sur ma chaîne Twitch et je me fais disrespect comme ça. C'est chaud.
On est bien d'accord que Sarah Snook, l'actrice, est elle-même enceinte, c'est
oui.
ça,
oui.
dans la vie ?
En fait, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que pour le coup, c'est aussi des hasards de calendrier, mais qui parfois peuvent bien servir ou desservir une série. C'est souvent un problème pour les tournages, notamment de séries qui sont longs, quand des actrices tombent enceintes, parce que c'est compliqué à cacher. Il y a plein de vidéos de compiles de comment ils ont caché le ventre de Jennifer Aniston quand elle était enceinte dans Friends, par exemple. Où elle a tout le temps un truc, un meuble devant ou des choses comme ça. Mais là, je pense que ça tombe très bien que Sarah Snook soit tombée enceinte en même temps que son perso. Parce que ça fait que, moi par exemple, j'ai vu la théorie Shiv est enceinte et j'étais là, non, c'est juste l'actrice qui est enceinte et du coup son corps a changé un peu, tu vois. Et mais c'est en fait, c'est pas de la faute de la réal, c'est pas scénarisé, c'est juste qu'elle est tombée enceinte dans la vie parce que là, sur toutes les avant-premières de Succession, elle était enceinte bien, bien jusqu'aux yeux. Donc moi je me suis fait avoir par ça et aussi par le fait que j'aime pas trop commenter le physique des acteurs et notamment des actrices et les prises de poids et tout. Je pense que, en plus, Shiv, elle a beaucoup évolué, en fait, physiquement, de saison en saison. Si on revoit la saison 1, elle avait les cheveux longs, elle faisait vachement plus enfantin, vachement plus jeune. Et en fait, dire oui, elle a forcément pris 10 kilos parce qu'elle est enceinte, alors que peut-être juste l'actrice, elle a pris 10 kilos et on s'en fout et ils l'ont laissé faire. Bah, du coup, je me suis fait bamboozle par le féminisme. Je n'ai pas cru à la théorie Shiv est enceinte parce que j'étais là, non, je ne veux pas commenter le physique d'une actrice, mais.
Eh bien, écoute, pareil.
Reddit avait
j'étais
raison.
Exactement. J'avais capté qu'elle avait pris du poids et je me disais, bon, bah, en fait, c'est pas. On s'en fout, quoi, tu vois. Rien à voir. C'est très bien joué de la part des scénaristes.
Tout à fait. Mais on verra qu'il y a pas mal de choses bien jouées de la part des scénaristes, notamment dans cet épisode, avec une certaine ligne qui souligne ou qui barre, peut-être, trois mots. Et ça change tout. Mmh. Et je trouve que c'est une excellente idée. Alors, ça en parle sur le chat, donc peut-être autant régler cette question qui fait partie un petit peu des quelques questions que l'épisode reste en suspens. Est-ce que quand Shiv, elle tombe de petit entresol, là, des deux marches à la fin, on va avoir une storyline de la grossesse est en danger parce qu'elle est tombée?
Non, je crois pas. C'est pour moi. Ah ouais, tu crois que ça peut être.
Je te pose la question, Fabrice. Je ne veux pas t'influencer avec
moi. Écoute, je crois pas. Pour moi, ça montre vraiment à quel point elle est. En fait, ça, à quel point elle est perturbée et qu'elle chute, en fait. C'est-à-dire que littéralement, elle chute.
Oui, la chute est.
Ce qui arrive souvent en plus dans la vie, c'est que il t'arrive des conneries et en fait, parfois ton corps fait. Eh bien, il est temps de se casser la gueule. Voilà.
Ouais,
donc, tu perds l'équilibre, tu pètes la gueule.
Surtout que c'est un moment où elle est en train d'essayer de projeter beaucoup d'assurance et de contenance parce que c'est le moment où tout le monde applaudit ses deux frères qui ont eu le job et pas elle, lol. Donc, Enfin, c'est vraiment, elle parade comme un pan, quoi. Elle gonfle toutes ses plumes. Du coup, c'est d'autant. La chute est d'autant plus tragique.
C'est triste.
Ouais.
Vraiment.
Je suis d'accord avec toi. Je pense pas du tout que cette chute qui est en plus. Enfin, je suis désolée, mais en tant qu'espèce, on n'aurait pas survécu si ce genre de chute, à coup sûr, mettait fin à une grossesse. Je pense que c'est un héritage du cliché scénaristique, pour le coup, un peu éculé, je pense, de. Effectivement, une femme qui vomit le matin, ça veut dire qu'elle est enceinte. Et une femme enceinte qui tombe, ça veut dire qu'elle va faire une fausse couche. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et elle est enceinte de 3 mois, elle est tombée de 2 marches, pas du tout spécialement sur son ventre ou quoi. Je suis là, bah non, vraiment, enfin, sauf pas de chance. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais je pense pas que c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Moi, je suis dans ta team de « c'est une chute métaphorique, une chute physique qui conclut sa belle cascade émotionnelle ». Et c'est aussi, pour l'anecdote, on est sur la même réalisatrice pour cet épisode que pour l'épisode de l'anniversaire de Kendall, ses 40 ans dans la saison précédente, qui finit sur Roman qui pousse Kendall et Kendall qui tombe au milieu de tout le monde. Et c'est horrible, c'est pour moi le pire moment de cet épisode.
C'est le pire moment, même limite de succession, pas loin.
Franchement, on est sur un niveau de cringe ultra dur. Et du coup, je me dis que c'est peut-être une de ses signatures de faire tomber quelqu'un dans une scène vraiment émotionnellement dure. C'est pas la chute physique qui fait mal. C'est vraiment la chute mentale. Oh, coucou Navavo dans le chat. Bonjour. Es-tu la personne
Navo.
Que je pense que tu es? Je pense que oui.
Salut, c'est Navo, tout à fait.
J'espère que
salut
tu
Walid également
que tu regardes Succession.
Oui, bah oui, bien sûr que Navo regarde Succession. Salut Walid également qui vient parler pour la première fois dans le chat. Bienvenue.
Oh, bonjour Walid, welcome. Ok, donc Shiv est enceinte. C'est un peu tôt pour savoir l'impact que ça aura sur le reste de la saison, mais c'est quand même un sujet. Et peut-être que pour clore le sujet, on peut parler de. C'est intéressant parce que pour moi, ça appuie une question assez récurrente avec les personnages féminins, surtout dans une série où il y en a assez peu, qui est En fait, est-ce qu'on est obligé de faire que toutes les meufs des séries, elles tombent enceintes, quoi, ou des films? Est-ce que leur fin d'arc, ça va toujours être un rapport à la grossesse et à la maternité? J'étais pas déçue, personnellement, que Shiv soit enceinte, ce qui a pu m'arriver. Il y a vraiment des séries où j'ai été déçue qu'un personnage féminin tombe enceinte parce que j'étais là, ok, juste vous savez pas quoi lui faire raconter, vous êtes là, c'est une gonzesse, elle va tomber enceinte et découvrir la maternité et ses joies. Là, je le vois pas comme ça. Je pense que Succession, c'est une série un peu plus intelligente et je trouve que ce truc de grossesse qu'elle vit toute seule, enfin, ça me rend hyper en empathie avec elle et je trouve que c'est quand même une série qui dit un peu des choses sur la place des femmes dans ce monde-là. Et ben, on le voit aussi dans cet épisode avec Shiv qui clairement n'est pas dans la team à la fin. Donc pour moi, c'est pas anodin de lui rajouter un truc qui est codé comme ultra féminin en plus, quoi. Et c'est pas anodin qu'elle en parle pas du tout parce qu'elle est entourée que de mecs aussi.
Oui, alors oui, oui. Non, j'allais dire, elle a un daron, tu vois, avec. Bon, bref, mais.
Alors, elle en a plus, et. Alors, les conseils paternité de Logan Roy.
Non, je parlais pas d'un. Non,
ah, y a
je
un
parlais
daron,
d'un coparent.
Oui, mais bon, oui. Voilà, un daron qui, le dernier truc qu'il a fait, c'est. En plus, c'est quand même. Alors, certes, c'est une trahison, les Roy, ils se trahissent entre eux et tout, mais concrètement, il leur a fait il leur a fait, Tom a fait perdre aux gamins les droits sur la boîte de leur père, quoi. C'est genre, c'est pas juste, on a perdu une des 1000 maisons qu'on a à travers le monde, c'est les droits sur la boîte de leur père, c'est chaud. Donc, complicado! Il y en a beaucoup qui disent, je débarque, vous avez dû le dire 100 fois depuis le début, mais cet épisode 4 est le plus tendu! Quelle tension, mes amis! Bah écoute, on en a pas encore parlé, est-ce que tu y étais tendu, Fab?
Ah, mais pour moi, c'est effectivement l'un des épisodes où c'est l'un des épisodes les plus Game of Thronesques qu'on ait eu, tu vois, parce que c'est un huis clos.
C'est des gens qui
c'est
parlent
assez rare. On n'a pas eu beaucoup d'épisodes de huis clos finalement dans Succession, et notamment, tu sais, on disait au début de la saison qu'on aimait bien Succession parce que ils allaient à droite, ils allaient à gauche,
voyage,
machin, tout ça, il y avait
on
tout
prend
le temps des hélicoptères,
de
des bidules.
Ouais.
Là, que dalle, quoi, tu vois, en termes de, là, c'est vraiment tout le monde dans l'appartement, dans le fameux appartement dans lequel ils se retrouvent, n'oublions pas, saison 1, épisode 1, où, voilà. Et en fait, c'est vraiment la suite de la mort du roi, quoi. C'est vraiment le jour d'après de la mort du roi. Et chacun va commencer à venir placer ses pions.
Ah bah,
effectivement,
tous les courtisans
tu dis
sont dans les antichambres, hein. En
tu
train
dis dans ton récap
les...
rigolo. Mais effectivement, il est encore au funérarium, quoi.
Oui, et en même temps, il y a plusieurs occurrences dans cet épisode de « c'est ce que Logan aurait voulu », c'est comme ça qu'il aurait agi, et je suis là, bah, je suis d'accord. Clairement, c'est le genre de mec qui voulait que sur sa tombe, on commence déjà à signer des contrats et à planter des couteaux dans le dos, donc je suis là, bah, c'est un peu honorer sa mémoire, hein, finalement. Dernier
ouais,
truc.
Quelque part. Et puis surtout, ouais. Pardon. Non, j'allais dire, pour moi, surtout, le truc, c'est que... c'est tous les survivants de Logan. En fait, pour moi, c'est tous les survivants au traitement que Logan a pu leur infliger pendant quasiment, pour certains, toute leur vie pour les enfants. Mais pour, on imagine Jerry, Carl et on va en parler après, Frank, un peu la vieille garde, bah, quasiment toute leur carrière.
Il le connaît depuis 40 ans et il doit avoir 60 ans, tu vois. Donc, c'est quasi
voilà.
C'est deux tiers de sa vie quand même. Hein.
Pour eux, c'est vraiment leur moment de pouvoir briller sans être dans l'ombre de l'horrible Tarba qui lui a fait faire, par exemple, à Franck Born de Flore, quoi, tu vois.
Oui, et il y a un vrai terrible. Truc aussi, on voit à quel point quand la chape de plomb de Logan et aussi son côté un peu chien de berger, tu vois, un peu chien tout ça, est levé, bah, ça se redécouvre des ambitions, ça se redécouvre des capacités à se battre, bah, notamment dans la vieille garde. Et on oui. sort très vite des politesses. Hein. On est quand même beaucoup plus direct une fois qu'il n'y a plus papy pour serrer les vis quand il faut. Quoi. Tout le monde est là pour gratter quelque chose. C'est malheureusement vrai dans la plupart des affaires d'héritage de la vraie vie. Enfin, pas la plupart, mais dans une partie des affaires d'héritage de la vraie vie des gens normaux. Des fois, juste pour un service à poisson, ça peut se déchirer dans une famille. Imaginez quand il y a des milliards et des milliards en jeu. Et ben, il y a beaucoup de monde qui n'est pas là pour kiffer.
Et puis attends merde, j'avais un autre truc en tête, mais je l'ai perdu, c'est pas grave.
Ça reviendra. Oui, tout dernier truc, pardon, sur la grossesse de Shiv quand même. Quelqu'un disait dans le chat que Shiv n'avait pas l'air ravi d'apprendre la nouvelle que a priori il y a pas de problème et que le bébé est viable. Et effectivement, elle répond un truc genre ok. Et moi, je trouve qu'on sent même la docteure un peu déstabilisée en face, genre voilà, donc. Bah, tout va bien. Après, moi, j'avais l'impression que la docteure, elle savait que c'était le lendemain de la mort de son père et qu'elle l'appelle aussi en mode, si vous êtes OP pour parler de ça maintenant. Dans le podcast officiel de Succession, qui est fait par HBO toutes les semaines, l'invité de la semaine, c'est Sarah Snook, qui joue Shiv. Et elle a parlé, du coup, de c'était quoi, selon elle, les émotions de Shiv par rapport à cette grossesse. Et en fait, c'est toute cette ambivalence de, à la fois, elle est pas contre et ça commence à être de toute façon bien lancé. Mais ça pose toutes ces questions de son rapport à Tom et elle dit, il y a une partie d'elle qui espérait une mauvaise nouvelle, entre guillemets, parce qu'au moins, ça règle le souci. OK, l'enfant est pas viable, enfin, l'embryon est pas viable, on fait une interruption de grossesse et on n'aura jamais à se dire, et si jamais, tu vois, on est là, bon, bah, c'était pas viable, c'est la médecine qui l'a dit, ciao. Là, elle est visiblement en train de faire un choix et, bah, il est déjà fait, quoi, elle l'a fait. Mais, bon, effectivement, elle a pas sauté de joie en apprenant que la grossesse se passe bien. Ce qui se comprend vu l'historique familial, quoi. Ensuite... Kendall Roy, bang bang, il a remis un costard, il a enlevé la casquette, il a mis les lunettes de soleil, il arrive, il y a les paparazzi et tout en mode all bangers all the time pour les funérailles de daddy. Et là, qui c'est qui l'attend dans l'entrée de l'appartement, Fabrice Florent?
Je crois que c'est Marsha.
C'est Marsha! Marsha is back, Marsha is back, c'est vraiment la best. Je l'ai vu, on la voit d'abord en arrière-plan flou de Kendall, et j'étais là en mode, tu sais le même de DiCaprio dans What's Up with Time in Hollywood qui pointe l'écran, c'était moi, j'étais là, je l'avais dit. Et surtout, je suis trop contente, pas tant d'avoir raison, mais de revoir Marsha anyway. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fabrice, à part, oh là là, Mimi est une vraie devine.
Alors, effectivement, j'étais là, yes, elle a gagné une fois de plus, bravo. Mais après ça, je me suis dit, ok, on va voir, ça va être intéressant de voir comment elle se comporte, elle aussi, quand Logan n'est plus là. Mm-hmm. Et on voit une facette de Marsha qu'on avait vue froide et dure et qui peut juste savoir ce qu'elle veut et ne pas se laisser se déstabiliser quand Logan était vivant. Mais là, c'est vraiment, elle est montée d'un cran dans le game. Hein. Elle est odieuse, elle est horrible.
Ouais, on l'avait vue se comporter. Pour moi, la pire facette qu'on ait vue de Marsha, c'est un moment où elle parle à Shiv. Alors, d'un côté, elle lui fait un petit reality check, notamment, c'est une scène où elle lui dit ton père t'a construit, enfin, il vous a construit une salle de jeu et il vous a fait croire que c'était le monde entier. Enfin, en gros, c'est toujours cette idée de vous êtes pas des gens sérieux. Mais il me semble qu'elle utilise une insulte genrée envers Shiv, qu'elle la traite de petite slut ou un truc comme ça. Et j'étais là, damn, Marsha? Ok, d'accord. Et rappelons, et en fait, j'avais un peu quand, donc Ken tombe sur Marsha, et il est très surpris. En partie, il lui dit parce que, enfin, il lui dit Cash, je t'avoue que je pensais pas que vous aviez encore une relation avec papa. On va en parler. Mais je me suis rappelé ensuite que Marsha, c'est une des rares personnes qui sait le truc avec Ken et le serveur du mariage. Il y a Marsha.
Oui.
Il y a Colin.
Son fils.
Il y a le fils de Marsha.
Son fils aussi.
Ouais.
Ce qui est.
C'est son fils qui avait trouvé la carte de chambre d'hôtel de Ken sur les lieux du drame, n'est-ce pas? Donc.
Et on imagine à quel point il doit pas être heureux, Kendall, de voir revenir Marsha dans le game en se disant « Ah oui, cette histoire-là, croyez que papa, c'est bon, il m'avait un peu lâché les couilles suite à ça, mais voilà quelqu'un d'autre qui a pris le relais. »
Oui, et ça rentre dans aussi cette dynamique de dès que Logan n'est plus là pour faire peur à tout le monde, bah tout le monde vient gratter sa part du gâteau. Et Marsha, qu'on connaissait déjà, voilà, assez farouche comme personne et assez violente.
Farouche, c'est un euphémisme.
Oui, non, mais farouche parce qu'elle se protège beaucoup et est violente parce qu'elle est juste agressive envers tout le monde. Mmh. Et en même temps, bah, je comprends entre guillemets. En fait, quand tu te maries à fucking Logan Roy, déjà, c'est du business, c'est obligé, parce qu'il voit pas l'amour autrement et parce que je pense qu'à ce niveau de richesse, ça peut pas être autrement. Il l'a trompé une fois avec une meuf, ils ont fait un deal pour qu'elle continue à garder la façade du mariage. Il l'a retrompé avec fucking Kerry. Et après, le gars Joe est dead. On parlera des circonstances de la mort, mais visiblement, c'était pas une mort très glorieuse. Bah ouais, en fait, elle arrive en mode « Bonjour, je suis chez moi, je suis la femme légale, je suis sur le testament, et je vais organiser les funérailles, tu vois. » Je suis là « Bah ouais. »
C'est ça, il y a Navo qui demande dans le chat, on sait s'ils étaient toujours mariés, je crois que c'est clair, ils ont pas divorcé. Justement, oui. C'était l'un des trucs au début de la saison 3, c'était de surtout pas avoir un divorce en ce moment et qu'il fallait... c'est là qu'elle a négocié.
Plus
son aller simple pour Milan.
Pour le shopping à Milan. Et je crois que dans la négo, il y avait aussi des trucs pour son fils, parce qu'il me semble que c'était une des rares fois où son fils est mentionné depuis la saison 1. Mais effectivement, comme la saison 3, c'est quand Kendall a accusé Logan d'être la pire personne en live à la télé, finalement, bah, il est en train de paniquer et de rameuter ses troupes, et il renégocie son contrat de mariage avec Marsha. Donc c'était très clair qu'ils n'étaient pas divorcés, qu'ils étaient... cordialement, plus ou moins, séparés. Et du coup, Marsha affirme qu'elle parlait à Logan tous les jours. Alors, elle dit des trucs qui diffèrent un peu. Au début, elle dit chaque matin et chaque après-midi. Et après, elle dit on avait des conversations intimes chaque soir.
Le soir.
Bullshit. T'en dis quoi, Fab Flo?
Après, en fait, c'est marrant parce que intime, il y a des gens qui l'ont interprété tout de suite comme ok, ils étaient en train de faire du phone sex, en fait.
Oui, comme Shiv qui pense immédiatement à ça concernant son daron, ce qui est déjà un bon morceau en thérapie.
Parce que moi, quand j'entends intime, je me dis bon, il était en train de parler de ses émotions, de ses sentiments, des trucs qui lui prenaient la tête en ce moment, etc. quoi. Voilà.
Mais tu crois que c'est vrai?
Mais moi, en fait, pour moi, c'est exactement ce qui se passe là maintenant. C'est-à-dire que peu importe si c'est vrai ou c'est pas vrai, en fait, il y a que Logan qui le sait et elle. et qu'en fait donc désormais il y a plus que Logan, il y a plus qu'elle qui le sait,
bah oui,
parce que Logan est mort, donc tu peux réinventer l'histoire de la même façon.
Il y a des historiques d'appels, tu vois, et c'est, alors c'est, je pense pas que c'est pour ça que c'est amené, mais c'est un point que Kendall amène plus tard quand Hugo lui dit, alors ma fille a vendu des actions Waystar juste avant la mort de ton père, mais rien à voir. Et Kendall, le premier truc qu'il lui dit, c'est, est-ce que tu l'as appelé? Qu'est-ce qu'ils vont dire les relevés téléphoniques? Et voilà, et il sait que c'est comme ça qu'il va se faire cramer. Et je pense que quand un mec comme
Logan... On appelle
Logan,
ça du délit d'initié, hein, pour info.
Oui, voilà, on en parlera. On parlera de cette scène parce que j'ai... Enfin, cette scène, en plus, c'est l'ouverture au final de l'épisode. Donc, c'est un incroyable moment. Et d'ailleurs, oui, bah, on en a pas parlé. Juste avant que Kendall arrive dans l'appartement de Logan et voit Marsha, il entend Hugo déjà au téléphone, qui est en train d'engueuler quelqu'un en disant « Tu m'as vraiment bien baisé, t'as sorti le gold ceinture et tu m'as baisé. » Et après, on comprend qu'il est en train de laisser un message vocal parce qu'il dit « Bon, rappelle-moi. » Ce qui est déjà... Moi, je pensais que c'était genre « Tiens, c'est une vanne succession, tu vois, c'est un truc dans le décor. » Et en même temps, tout est connecté un petit peu. Donc, j'ai noté un petit peu dans ma tête, quoi. J'ai suivi les petits traits. Mais bon... Peut-être qu'il y aura... En fait, je me dis, si Marsha, elle prétend ça et que ensuite il vérifie les trucs de Logan et que ils se sont pas parlé depuis des semaines, tu vois, je suis là, bah, ça va quand même abîmer un petit peu sa négo pour des bouts d'héritage et tout. Mais la go, elle arrive et direct, elle assène des trucs. Enfin, elle est en mode Big Brother, tu vois, elle réécrit l'histoire.
Bah oui.
Ou alors c'est vrai, mais je pense pas que c'est vrai.
Non, je crois pas non plus.
Mais je pense pas que c'est vrai, en partie parce que je pense que Marsha, elle avait zéro envie de parler à Logan tous les soirs, tu vois. Je pense qu'elle était assez contente de... Enfin... C'est pas un homme agréable, quoi. C'était quand même un vieux ronchon réac de droite. Et je pense qu'elle était très bien à Milan à faire du shopping et à pas lui parler tous les soirs. Donc je suis là...
Oui.
Perso, je n'y crois pas. Mais
bah, oui. Non. Et Hugo, oui, c'est bien sa fille qui sort la blague du go de ceinture. Hein. C'est... On dit long aussi sur le mood.
Ouais, bah, entre Shiv qui pense à son père en train de faire du fun sex et l'autre qui dit à sa fille... Est-ce que tu imagines ton daron Fabrice Florent te dire « T'as sorti le gode ceinture et tu me l'as mis dans le cul ?»
Mais est-ce que je m'imagine, moi, dire à ma fille « Tu m'as sorti un gode ceinture ?» C'est vraiment ça le pire, en fait. Tu vois, je me suis dit « Mais à qui il parle ?» Après, tu comprends qu'il parle à sa fille, tu te dis « Mais putain !» En fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans ce bordel, quoi.
On est vraiment sur un groupe de gens qui vont... mal et qui ne savent pas se comporter en société, clairement. Ils n'ont pas des barrières normales, tu vois, des frontières morales et mentales normales, quoi.
Il y a Navo dans le chat qui dit « Première scène, God ceinture, c'est une réplique rigolote. Dernière scène, God ceinture, c'est la réplique la plus glaçante de l'épisode. »
Ah oui, si on m'avait dit qu'un des chocs émotionnels de la dernière saison de Succession, ce serait une réplique qui finit par « Me fais pas sortir le God ceinture », j'aurais été là...
Incroyable.
Pour une série qui est si peu sexuelle, c'est surprenant. Et au final, ça marche très bien. C'est évidemment un gode ceinture métaphorique. Ensuite, dans l'appartement, on voit qu'il y a deux teams qui se déploient dans l'appartement de Logan. Alors, du coup, c'est une veillée. C'est pas les funérailles. C'est pas le moment où on va l'enterrer et tout. Mais c'est un genre de veillée, mais qui est aussi business. Parce que, alors, quelqu'un demandait dans le chat plus haut, si chaque épisode c'est un seul jour, on a commencé, on était à 48 heures de la vente à Gojo. Du coup, on en est où? Parce que ça fait 4 épisodes. Le truc, c'est que là, en timeline, l'épisode précédent où Logan est mort, c'était vendredi, et il était en route vers la Suède pour arriver un peu plus tôt, parce que ce week-end, on en parlera au moment du coup de fil à Madsen, mais plus en détail, mais ce week-end, donc là, l'épisode de cette semaine, c'est un samedi. Logan est mort un vendredi. Le samedi dimanche, c'est apparemment un genre de retraite d'entreprise de Gojo, la compagnie suédoise de Madsen, et c'est là qu'il devait signer le deal pour racheter Waystar. Donc Logan était parti plus tôt pour avoir de l'avance parce qu'il voulait... renégo le deal avec Roman parce qu'il savait que Shiv et Kendall allaient le bloquer, enfin bon, toute cette zumba du karaoké, vous l'avez chez vous. Et on sait que les marchés financiers, ils rouvrent le lundi, ils ferment le week-end, donc parce qu'il y avait toute cette inquiétude à l'épisode précédent de est-ce qu'on peut garder l'avion dans l'air juste le temps que les marchés ferment parce qu'on est vendredi. Donc je pense que effectivement l'opération de vente devait commencer le vendredi / samedi, mais Logan étant mort un vendredi, bah ça a forcément mis une pause ce jour-là sur les opérations. Et on va voir dans cette scène assez vite que le business n'attend pas. Puisque dans cette veillée funèbre, il y a mi-business, mi-famille. Et il n'y a pas vraiment de temps pour faire son deuil ou parler finalement beaucoup de Logan Roy. Parce que il faut d'abord parler de la suite de Logan Roy.
Puis ça, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir justement mêlé un peu les deux. Parce que c'est aussi... l'héritage que laisse Logan, c'est-à-dire que ça fait aussi partie de son histoire, de son business familial, et en fait ça effectivement, ça empêche quelque part les enfants de vivre pleinement leur deuil et de prendre le temps, en fait, parce que on ne se rend pas compte, mais en fait, ils ont pas le temps. C'est leur daron, il est mort hier, et en fait, ils sont déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire. C'est complètement hallucinant, quoi.
Oui, et ça, et enfin, dès l'épisode précédent, littéralement le jour où leur père meurt, je pense qu'ils ont un quart d'heure de vraiment accuser le coup émotionnellement, et ensuite ils sont obligés. Ensuite, direct, il y a Hugo qui arrive sur le bateau, genre, pourquoi le mec est là? Il y a Jerry qui est là, il y a les gens qui commencent à avoir les bails, il y a, ok, il faut qu'on sorte un statement et tout, donc tu peux jamais t'arrêter. La Terre ne s'arrête jamais de tourner pour tous les gens en deuil, mais quand t'es en deuil d'un mec qui a un vrai impact sur les marchés financiers, est-ce qu'on va enfin penser à la santé des marchés? C'est d'autant plus compliqué, et je trouve que ça se verra très bien dans la scène avec... j'y ai pensé notamment dans la scène avec Kendall et Stewie, plus tard, où bah, Stewie, c'est un des plus vieux amis de Kendall, et il me semble que l'histoire jolie, c'est que les deux acteurs sont aussi amis depuis très longtemps. Ils se sont rencontrés dans leurs études de théâtre, Jeremy Strong et... je l'aurais pas. J'allais dire le nom d'un mec, et c'était pas le bon mec. Donc non. Moayed, quelque chose comme ça. Bref. Ils sont amis depuis longtemps, et en fait, Kendall, il s'autorise genre... 2 secondes de pleurs sur l'épaule de son ami, et après il se reprend et il est là, ok, du coup il y a un papier avec mon nom dessus et tout, et je suis là, ouais mec, et il dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire d'autre, s'asseoir dans le noir et boire du whisky, et je suis là, oui, enfin en vrai oui, fais ton oui. Deuil, tu vois, frère, parle avec les
fais
gens.
Ça pendant 3 mois,
ouais,
trop bien,
et fais-le avec tes frères et sœurs et avec des gens que t'aimes, et parle de ton deuil, et oui, bah oui, c'est ça que font les gens en fait, quand ils perdent quelqu'un, ils se mettent,
on peut mentionner, c'est peut-être le moment de mentionner le pré-deuil de Roman.
Oui, puisque c'est là qu'il l'aborde. Il dit, écoutez, je pense que j'ai tellement pensé à la mort de papa que j'ai un peu fait mon pré-deuil. Et du coup, bah, ça roule, quoi. Une analyse, Fabrice Foulerand, sur cette vision du pré-deuil de Roman?
Alors, moi, je trouve ça intéressant de réfléchir à la mort inéluctable de ses propres parents et à sa propre mort aussi. On en parlait, je crois, la semaine passée, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui n'avait pas l'air du tout prêt à ce que papa meure, c'était bien Roman, notamment dans cette fameuse scène avec Madson. Alors peut-être que d'ailleurs, on ne le sait pas, mais c'est peut-être Madson qui lui a mis la puce à l'oreille ce jour-là et que peut-être ça lui a fait shifter. On se souvient que Madson lui dit « Ton daron, il est casse-cou, il a quand est-ce qu'il meurt? Il meurt bientôt, là ?» Il était là « Non,
meurt,
papa, non
bah, !» C'est demain.
Donc effectivement, Roman est là, moi, un pré-deuil, mais on peut se dire aussi que c'est une façon comme une autre, très intéressante d'ailleurs, de l'avoir mis chez Roman, de repousser le plus possible la tristesse que ça provoque et de surtout pas aller se prendre le mur qui va se prendre tôt ou tard en pleine gueule. En tout cas, il y va au ralenti, en tout cas, on dit.
Oui, et dans l'épisode précédent où Logan décède, c'est clairement celui qui était le plus dans le déni, jusqu'au point où même son frère et sa sœur étaient là... C'est quoi? Ok, on va arrêter de dire papa est mort parce que visiblement ça te perturbe trop. Là, il a l'air en forme, mais c'est aussi le seul qui était allé voir le corps de son père, donc le seul qui a affronté la confirmation physique de sa mort quand même, il faut le dire. Mmh. Probablement parce que jusqu'à la fin, il était pas sûr en vrai, le gars. Mmh. Et il a quand même, en fait, c'est ça qui est tragique avec les Roy, c'est qu'ils ont tous une certaine présence d'esprit, d'à quel point ils sont fracasses, puisque Roman, il dit, il commence par dire ça va à peu près. Mais je suis à peu près sûr que ça va finir par me tomber sur la gueule, tu vois. Ça va me rouler dessus. Juste là, ça va. Et c'est ensuite qu'il enchaîne sur non, mais peut-être j'ai fait mon pré-deuil et du coup ça colle. Mais il a quand même cette idée de. Ben, en fait, comme tout le monde, t'es un peu hébété par le deuil et par la brutalité de la chose. Et puis, bah, voilà, faut faire le business, faut travailler, faut pas laisser la boîte partir aux mains des vieux schnocks et tout. Donc t'as pas le temps de penser. Je pense que ça va lui tomber sur la gueule, mais est-ce que ça va le faire avant la fin de la saison? Du coup, je suis pas sûre. Parce qu'on a plus que 5 jours et 5 épisodes.
Ah ouais. Non, 6.
Oui, 6, pardon. C'est le
5.
5, 6, 7.
Oui, il reste 6 heures.
Oui. Oui, on est épisode 4, je crois. Tout le temps qu'on est épisode 5, mais pas du tout. Moi-même, je n'arrive pas à croire que Logan Roy soit mort aussitôt, alors que je l'avais prédit. Rappelons-le.
Mirma. Mirma.
Madame Mirma, j'ai envie de me faire un émote boule de cristal.
Madame Mimirma.
Tout à fait. Je fais des prédictions extrêmement précises sur des sujets extrêmement niches, comme qu'est-ce qui va se passer dans Succession. Voilà, ça ne marche pas pour le reste de vos problèmes dans la vie, désolé. Attends, parenthèse, parce que ça m'a choqué, mon gars, dans les podcasts, notamment, enfin les podcasts américains, notamment sur Succession que j'écoute, j'ai eu une pub, donc un encart pub comme dans les podcasts, pour un service de médium. C'était les California Psychic, donc les médiums de Californie. Et c'était vraiment vendu comme les trucs de dev perso ou de thérapie, tu vois, en mode, vous hésitez dans votre vie, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous avez des questions sans réponse. Eh bien, notre service de médium, genre, tu les appelles sur WhatsApp et tout, machin, enfin, un truc, tu vois, médium 2.0, vous fera des prédictions grâce à leurs dons certifiés, machin. Et j'étais là, mais on est où en termes de pseudo-sciences? Enfin, il y a vraiment des pubs pour des médiums dans des gros podcasts américains qui sont hyper écoutés, tu vois. Je suis là, waouh. Waouh.
Est-ce que c'est le moment de faire une parenthèse Ted Lasso ou pas? Non, sans doute pas.
Ah, c'est vrai qu'il y a un médium dans Ted Lasso, une médium dans Ted Lasso.
Il y a tout un bail de médium dans Ted Lasso.
Trois, je crois. Mais ça me dérange moins.
Saison
3. Parce que Ted Lasso, c'est un peu une série, c'est un peu une série magique, tu vois. C'est un peu un conte de fées. Mmh. Bref. Très bizarre à entendre dans la vraie. C'est aussi, donc, ce rendez-vous, ces retrouvailles entre, du coup, les deux frères et la sœur et, Greg, qui décide d'arriver, de passer, dire bonjour, qui les appelle My Guys, My Lovely Guys, je le hais, et qui essaye de leur faire un câlin, et ils sont tous en mode, enfin, Shiv fait une tête de type « Oh non, il y a une bouse de chien sous ma chaussure. » Roman lui dit clairement « Trouve-toi une nouvelle daronne, casse-toi. » Kendall
moi,
est un peu sympa.
Moi, j'ai cru que c'était... Moi, perso, j'ai cru que c'était une tête de « Ah mon Dieu, c'est vrai qu'il m'a fait un enfant celui-ci, mais passons. »
J'ai envie de te dire que c'est une théorie qui n'a pas de chance d'arriver, mais j'ai vécu des choses comme la fin de Game of Thrones auxquelles je ne m'attendais pas, donc on peut toujours être surpris par la vie. Mais sachez que ma théorie, c'est que le père de l'enfant de Shiv, c'est Tom. Vous l'aurez quand même entendu. Clairement, je ne suis pas alignée avec mon co-host sur la question. Donc ouais, il y a Greg qui vient gratter l'amitié. C'est un peu, en fait, pour le coup, c'est un peu surprenant pour moi, même si ça me déplaît pas. Une de mes prédictions, c'était Greg va bien s'en sortir. Parce que c'est pas une série optimiste. Et qu'un arriviste comme Greg, qui devient de plus en plus un sac à merde de saison en saison, ça va probablement, entre guillemets, bien finir pour lui, parce que la série nous dit aussi que le capitalisme salit tout, etc. Greg, c'est vraiment devenu le pire gars de l'histoire. On est d'accord, Navo.
Alors, mais c'est là... très intéressant parce que...
Ouais.
Pardon, vas-y, je te laisse terminer.
Non, ben juste là, j'ai l'impression que c'est 4 épisodes de Greg qui rate tout et qui se fait rouler dessus, tu vois. Tom l'aime plus, les gamins vraiment sont là en mode... Enfin, les frères et sœurs sont là, mais non, on n'a pas envie de parler avec toi. Logan est mort, on sait que son grand-père l'a a priori déshérité parce qu'il a rejoint la team Logan... Donc je suis là, ma théorie de Greg finit bien commence à prendre un peu du plomb dans l'aile, j'avoue.
Sauf s'il se marie avec Shiv, mais bon, ça c'est une autre question.
Je vais couper ce live, je coupe le stream, au revoir.
Non mais, je suis d'accord avec toi, c'est terrible de voir à quel point il se fait exploser. Et en fait, pour moi, c'est aussi l'illustration de ce mec qui n'était pas du tout dans ce game-là, qui était sympa et tout au départ, et qui est en train de se faire bouffer tout cru par le système, parce qu'il est pas armé, en fait. C'est-à-dire que de la même façon, on va en parler après avec Tom, de la même façon que Tom est en train de perdre les pédales totalement, en fait, les Roy, c'est juste un système qui te broie totalement. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que la vidéo dont je vous parlais au tout début de la... du live là avec la toubib, la psychologue,
ah oui,
qui analysait le caractère narcissique.
Quel type de narcissisme est cette raclure de Greg? Le narcissisme, c'est le pire.
Mais non, parce que de Greg, elle dit, en fait, il est jeune et il est tellement jeune que on peut pas vraiment dire qu'il a un aspect narcissique parce que généralement, la personnalité, elle se forme pas avant 25 ans. Et elle estime qu'il a entre 20 et 25, tu vois. Et elle dit, en fait, pour moi, il est plutôt dans une forme de mimétisme. Et en fait, il a fini par... Enfin, le système a fini par déteindre sur lui. Et je suis assez d'accord avec ça. Et pour moi, c'est vraiment l'illustration de ça.
Attends,
il est juste en train de se faire...
Saison 1, épisode 2, il y a son grand-oncle à l'hôpital. Et il est juste en train de gratter un taf auprès de... Enfin, tu vois, il a tout de suite été dans une perspective hyper utilitariste. On n'a jamais vu Greg... être sympa avec quelqu'un pour être sympa avec quelqu'un. C'est soit une meuf qui veut serrer, soit quelqu'un qui va lui apporter des choses. Et enfin, c'est le cas de tous les persos de succession, tu vois, c'est un peu un des sujets. C'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant quand il y en a un qui fait un truc sympa. Mais ce truc de Greg, il a été corrompu par le système, bien sûr, oui, parce que, comme tout le monde, mais il a quand même bien choisi d'y rentrer et il s'est très vite senti à l'aise avec le fait d'être un connard, tu vois.
Ah, c'est évident, mais on est bien d'accord qu'au départ, il a pas du tout les codes et les clés. Et
il a pas les codes, mais il a l'état d'esprit, tu vois. Il a pas le même maillot,
oui.
Mais il a la même passion,
j'entends,
qui est d'être un connard.
J'entends. Oh, fibre.
Oh.
Oh.
Les fibros.
Bonjour les fibros.
Les fibros tigros. Bonjour les tigrous, comment ça va? Je sais pas si vous vous appelez vraiment les tigrous, mais j'espère que oui, parce que ça me rendrait très heureuse. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à celles et ceux qui parlent de Game of Roll et Game of Reroll. J'espère que vous êtes aussi attentifs et assidus sur cette aventure 100% joueuse qu'on a sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre une fois par mois. Ah, vous êtes les fibros. Ok, Daizuko, très bien. On est avec Fabrice Florent. Coucou Fabrice Florent.
Coucou, c'est moi.
Et moi, je suis Mimi et je suis dans l'aventure Game of Roll, mais aussi je fais des contenus sur Internet, notamment sur cette chaîne, où je parle de ma vie, de sujets de société, où je fais du jeu vidéo tous les jeudis et où tous les mardis soirs, on débrief la série du moment avec un invité de qualité. Et là, on est sur Succession avec Fabrice, car c'est la meilleure chose. Du coup, on est en train de parler de Succession, saison 4, épisode 4, celui qui est sorti hier en France. Donc attention, si jamais vous n'êtes pas à jour sur Succession et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, on est en full spoiler de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc si vous débarquez là, vous êtes là, ah je vais écouter vite fait, et nous on va dire, quoi ? Oh non, en fait Tom c'était un reptilien. Et vous serez là, non mais je voulais pas savoir que Tom c'était un reptilien. Donc voilà, vous pouvez éventuellement revenir plus tard, par exemple jeudi matin. Mais si vous aimez Succession ou que vous aimez nous écouter parler, restez. Bienvenue. On en était sûr, pourquoi Greg est la pire raclure dans Succession et à quel point il était déjà, son cœur était déjà noir ou à quel point il a été noirci par la famille Roy. Et moi je suis là, son cœur était déjà bien grisâtre, on va pas se mentir.
Oui, j'avoue, oui, d'accord. Mais on est bien d'accord qu'il s'est quand même fait totalement, enfin là pour moi c'est vraiment, il est en train de se faire broyer par le système dans lequel il a pas grandi en fait. Parce qu'il a pas grandi dans la famille Roy quoi.
Mais Tom non plus, et c'est ça qui rend ces persos d'autant plus tragiques, c'est qu'on a envie de se dire que ces outsiders qui nous ressemblent un peu plus pourraient voir à quel point ces systèmes sont toxiques et ne pas les encourager et ne pas vouloir y être. Et après, la réalité, c'est qu'à la fin, t'as un hélico et un immeuble entier à New York, et du coup, les gens et du pouvoir. Et les gens, ils ont envie d'y être.
C'est ça qu'on veut, avoir un hélico dans la vie.
Ouais, tu vois, dans ma vie, ça va. Je me dis, tiens, il n'y a pas trop de moments où je me serais dit, ah oui, là, un hélico. Peut-être si, quand j'ai la flemme de prendre le métro, quoi, mais ouais, on survit. Navo dit Greg, dès que ça bully, il devient le pire sadique parce qu'il vit dans la peur de se faire bully. Il pourrait tuer un bébé avec le groupe des méchants juste par peur de se faire tuer lui. Greg avec un père absent et une mère pas tellement bienveillante et un grand-père qu'il méprise, dit Monsieur Bellic. Arrêtez de me donner de l'empathie pour Greg, je n'ai pas envie. Je le hais. Non mais oui, vous avez raison, il vient pas de
nulle part. On est bien d'accord que dans cet épisode, c'est pas Greg le pire, c'est quand même, ça reste quand même Marcia.
Alors, en termes de violence directe, c'est Marcia. En termes de move de connard, je suis désolée, mais c'est Kendall à la fin. Mais
oui,
on en reparlera.
On en reparlera.
Alright. Tom, de son côté, puisqu'on parle de Greg, parlons de Tom, arrive dans l'appartement de Logan. Il y a ce eye contact avec Shiv où vraiment, elle le voit arriver. Elle est là... Elle a pas envie de voir. Vraiment en mode... Qu'est-ce qu'il fait là ? Je suis là, mais l'épisode d'avant, vous êtes repartis ensemble en voiture de l'aéroport. Ça, honnêtement, je m'y attendais pas. Je pense que c'est une de mes prédictions ratées. C'est que l'épisode d'avant, Shiv va chercher Tom et ils repartent ensemble en voiture. Et j'étais là, ok, ils vont se réaccrocher l'un à l'autre. Shiv parce qu'elle est éclatée et Tom parce qu'il a personne d'autre. Et en fait, il essaye dans cet épisode et ça marche pas. Mais moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive et que Shiv le regarde méchamment. Je pensais honnêtement qu'ils auraient passé la nuit ensemble. Alors, on la voit se réveiller, donc on sait que non. Mais j'étais en mode, du coup, ils ont fait quoi hier soir ? Ils sont toujours fâchés ?
Bah, il l'a raccompagné et puis basta, quoi, tu vois.
Ouais, I guess. Et il lui a raconté comment son père est mort. On verra plus tard à quel point il lui a donné des détails et à quel point il donne des détails réels ou pas aux gens. Puisque je suis pas sûre que toute sa version soit réelle. Mais c'est le moment où on a du coup donc ce que dans les podcasts américains ils appellent les suits, donc les costumes, la team comité exécutif de Waystar Royco qui n'est pas avec les enfants parce que c'est des grandes personnes sérieuses qui travaillent et que je pense qu'ils n'ont pas trop envie de traîner avec et qui respectent l'intimité de la famille, se réunit dans un cabinet de vaisselle pour potentiellement décider de qui parmi eux sera le champion à mettre en rivalité pour devenir PDG de Waystar Royco. Est-ce que t'as kiffé cette scène, Fabrice ? Est-ce que t'aimes bien les
bien
petits niveaux pro là ?
Bien sûr, et c'est pour moi, c'est encore une fois, c'est vraiment les vieux de la vieille qui se retrouvent et qui sont en train un peu de négocier qui on a le plus bavé et à qui c'est de qui c'est le moment maintenant, tu vois.
Oui.
Et effectivement, c'est d'une tristesse parce que tu sens qu'en fait ils se sont tous fait rouler dessus plus les uns que les autres pendant toute leur carrière et que là ils sont là, c'est maintenant notre time to shine. Let's go. Il faut que je sois bon là.
Mm-hmm.
C'est un peu triste, putain. Et en même temps, ils se connaissent depuis tellement longtemps qu'il y a du ressentiment, qu'il y a des histoires. En fait, tu vois, tu sens qu'il y a des histoires, des non-dits entre eux à chaque fois. C'est terrible. Et est-ce qu'on peut quand même dire big up Carl dans cette...
Ah non, mais Carl, dans cet épisode, le mec, il a sorti la nitro, hein. Il a enclenché la nitro. Il était en mode sur l'autoroute à 230, là, il sent pas la race.
Bah, Carl, c'est vraiment le mec qui sort de sa coquille une fois que Logan est mort. C'est lui qui, dans l'épisode dernier, se dit « Bon, allez, moi, je vais m'en siffler un petit, là, parce que j'ai besoin d'un petit remontant et tout. » Et je trouve ça très intéressant de voir comme il est en roue libre alors qu'il était hyper effacé. Enfin, tu vois, jamais il a tenu tête à Logan, quoi.
Et on l'a peu vu, en plus, dans des positions de pouvoir. Il avait l'air un peu idiot par rapport à Frank, qui avait quand même l'air très intello, voire un peu trop, parce que Logan se moquait de lui. Et Carl, c'est quand Roman était pris en otage, là, dans un hôtel en Turquie, je crois.
Avec le banquier
Le banquier. Carl, c'est celui qui le vivait très, très mal. Et il y a toujours eu des vannes sur lui, sur le fait qu'il va avoir des prostituées, qu'il a une vie dissolue, machin. Donc, en effet, il a jamais été menaçant d'aucune façon que ce soit, quoi. Et alors là, bah, il le dit en plus, il dit à Jerry, sois pas si rapide à me jeter de l'avion parce que maintenant que Logan n'est pas là, je me dis que je pourrais me découvrir des nouvelles ambitions. Donc c'est vraiment, pour moi, il est assez transparent, tu vois, Carl.
Oui.
Enfin, c'est quand même
et
genre de...
J'aime tellement la façon dont il se balance des saloperies avec un grand sourire.
Ah, c'est mal.
Tout en se faisant des compliments à la con, des faux compliments, tu sais, de... C'est Kazam qui dit Jerry qui balance comment il a bien géré le câble il y a 30 ans.
Ah
les
ouais,
plus beaux
c'est
faux compliments.
Incroyable cette scène, vraiment. Cette shade de c'est vraiment très bien ce que tu as fait à l'époque des dinosaures avec des outils en silex. Je t'apprécie pour ça. C'est vraiment genre t'es tellement, tellement vieux frère. Et en même temps,
c'est génial.
Du coup, il y a tout de suite une division genrée au final, parce qu'il y a la team Carl et Frank, il y a la team Jerry et Carolina, et je trouve que c'est pas le genre et le sexisme, c'est pas un sujet que Succession aborde de front, tu vois, tu vas jamais avoir des grandes envolées féministes. Je pense que l'exemple le plus proche qu'on a eu, c'est justement quand Shiv, elle va convaincre une des victimes des bails pendant les croisières de ne pas témoigner, donc une victime de violence sexuelle, et que Réa, qui est aussi une femme, dit « moi, je peux pas y aller ». Donc, t'avais quand même deux femmes opposées dans faire du mal à une autre femme au nom d'un homme, tu vois. Mais c'est pas aussi... Enfin, ça parle pas très frontalement de genre, mais en vrai, ça en parle beaucoup, et souvent. Et là, tout de suite, on a Carolina qui dit « bah, moi, je pense que Jerry, elle fait déjà le job, parce qu'elle est PDG par intérim, et que elle le mérite et tout, et en face, t'as Carl et Franck, quoi. » Et ils disent jamais que c'est un sujet genré, mais... On se souvient aussi que Jerry, Logan voulait la virer à l'épisode précédent, en partie à cause de l'épisode des Dick Pics, qu'elle a pas demandé à recevoir, et qu'elle a même demandé à ne pas recevoir de façon assez...
C'est toi qui souvent, dans le film club, dit « show don't tell ». Ben voilà, c'est exactement ça.
Oui, tout à fait. Navo, il dit cette scène, on aurait dit les primaires républicains, que des fions souriants.
C'est clair, putain.
Et il y a beaucoup de gens sur le chat qui disaient « c'est ma scène préférée de l'épisode », donc je pense qu'il y a du bon vieux Succession comme on l'aime dans son jus là. Alors attendez.
Alors il y a
sujet son.
Oui, c'est moi qui. C'est moi qui suis trop
qui
fort
dit,
peut-être.
Il y a une grosse différence de son entre vous deux du simple au triple.
Vous allez
limite,
me dire.
Tu es peut-être trop loin du micro.
Ok.
Très bien. Bah dites-moi. Moi je reste un peu plus près de
moi.
Micro.
Bonjour. Je parle. J'ai baissé mon micro grandement.
Je peux aussi baisser le son de Fab s'il faut sur le stream. Donc dites-moi.
Voilà,
si c'est pareil chez vous.
Je ne veux pas silencier Mimi. Hein. Ce n'est pas mon objectif de.
Attends, la silenciation à distance, c'est abusant quoi.
Surtout que c'est elle qui gagne quoi. C'est sa chaîne.
C'est vrai. C'est moi qui peux cliquer sur
les bons
arrêter
pronos,
le stream. Et voilà. Je gagne les pronos. Tout à fait. Merci beaucoup, Calicera, de l'avoir dit, puisqu'apparemment, ce que Sam dit, c'est bien là. Donc, on a bien réglé. Merci. Moi, cette scène, elle m'a beaucoup rappelé la scène de fin de la saison 2, où il fallait décider qui allait plonger pour le scandale des croisières, ce fameux huis clos sur le yacht, ou qui finit en tragédie avec Kendall qui se fait sacrifier par son père et qui décide de se battre. Parce qu'il y a toute une scène où ils sont... Donc, il y a aussi Jerry, il y a Tom, etc. où ils sont tous autour d'une table en train de dire qui devrait plonger pour le scandale des croisières.
Pour un loup-garou, quoi.
En train de dire, alors ça pourrait être moi. Il n'y a pas de souci, ça pourrait être moi. Mais si, par exemple, c'était pas moi, mais toi, est-ce que ça marcherait pas mieux? Mais je dis ça pour le bien de l'entreprise. Et là, c'est pareil, sauf que c'est genre, et si c'était moi, pas, et si c'était pas moi?
Oh là là.
Moi, j'aime beaucoup ce c'est corporate talk. Dans un grand velours assez mais fin, quand même.
Il faut en venir au moment où Tom finit par dire, les gars, si jamais il faut que quelqu'un se décide et se prononce, ça peut être moi. Et là, Carl sort de sa botte.
Il sort une sulfateuse. Il sort un
mais une sulfateuse, encore une fois, avec le grand sourire de... Alors, je vais te dire éventuellement ce que les gens pourraient te répliquer. Comme ça, au moins, tu seras au courant, hein, d'accord?
Mais c'est pas moi qui le pense. Hein. C'est ce que les gens qui sont contre pourraient dire.
Il lui défonce tellement la gueule.
Franchement, j'ai vécu ce moment, j'ai mis pause, je suis allée me refaire un café. Tellement ça m'avait mis sur les nerfs, tu vois, j'étais là. Ok, c'est du bon succession, là. C'est pas du succession de la DEP, c'est... On va à la jugulaire, My Boy Carl et On Fire. Let's go. Ma passion.
Et en fait, surtout, c'est terrible parce que c'est vraiment le moment... C'est le moment où Tom commence à se dire, ok, il est temps que je retrouve une équipe, en fait, parce que je vais en prendre plein la gueule. Et en fait, effectivement, il y a un moment donné où Shiv lui dit, bah, en fait, le problème, c'est que t'as misé sur le mauvais cheval, le cheval qui a canné, c'est ça?
Oui. Et bah, même Carl lui dit beaucoup plus clairement, le seul gars qui t'aimait est mort, et maintenant t'es juste le mari de la femme du boss, et même elle t'aime pas trop. J'étais là. Et le regard de Matthew McFadden qui joue Tom à ce moment-là, c'est vraiment un truc de. Oh, et même il lui dit un truc genre Jesus fuck Carl, enfin genre je sais qu'on il y a je crois que c'est Navo qui disait dans le chat j'aime bien l'idée que quand Logan n'est pas là il lâche les chevaux quand ils discutent et effectivement c'est des discussions qui sont quand même malgré le langage un peu enrobé bien direct finalement mais alors là ce niveau de direct c'est inédit quoi c'est c'est peut-être comme ça qu'on travaille des décennies entières avec Logan Roy aussi c'est en étant capable de faire preuve de ce genre de violence.
Ouais, et puis l'œuf ou la poule, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi une forme d'éducation que Logan leur a apportée, quoi. C'est... Il faut à la fois être capable de la donner, il faut être aussi capable de la recevoir. Faut...
Oui, et on va voir que ça ne va pas dégoûter Tom, hein, qui va continuer à essayer. Il y a. qui disait. Oui, c'est Vince qui dit Tom, il laisse des cartes de visite pendant tout l'épisode. C'est vraiment ça. Genre, le gars, il est sur LinkedIn, il s'update et tout. Et alors, moi, et je sais que ça va te parler, Fab. Ça m'a fait penser, évidemment, à Survivor, le Koh-Lanta américain, mais qui est beaucoup plus tourné vers la stratégie. Tom, c'est le mec, il y a le conseil ce soir, il a pas de collier d'immunité, et il sait que son dernier allié, il s'est fait éliminer à l'épisode d'avant. Et il est vraiment en mode, je vais aller voir tout le monde et promettre. Vraiment, il dit, je veux servir, tu vois. Dis-moi, j'ai toujours voulu servir. I'm here to serve. Et kiss the ring, tu vois. Et je suis là, mec, déjà... Enfin, il y a un côté, genre, il se rabaisse un peu, tu vois. Genre, il est vraiment... Il n'y a pas honte d'y aller, mais parce qu'il est en... Il est en sursis, quoi. Il tient...
Il n'a plus rien, oui.
Il tient pas grand-chose, hein.
Il n'a plus rien du tout. Il est au bout. Il est cuit. Il est cuit, le bon Tom.
Et c'est pour ça que je pense que ce polichinelle dans le tiroir qui achève pourrait être son ticket d'entrée de nouveau dans la famille. Et rappelons la théorie, Fabrice. La théorie du générique. La théorie qui dirait que dans le générique, ce n'est
mais
pas
ça, tu vois,
ce
pour moi,
Logan,
si,
c'est, mais c'est Tom,
si,
plus
si on sort cette théorie, à chaque fois, on dira que c'est Greg le père de Shiv, quoi, le père de l'enfant de Shiv.
Il n'y a rien qui indique. Encore une fois, je ne pense pas que c'est vrai, mais au moment où j'ai vu que Shiv était enceinte, j'étais là. Un pas de plus.
Maybe.
Mais un pas de plus vers une direction qui est lointaine et probablement imaginaire, mais un pas néanmoins dans la bonne direction.
T'es zinzin.
Écoute, en vrai, j'ai des gens, notamment ma petite sœur Doudou, mais qui est zinzin aussi, du coup, que j'aime beaucoup, hein.
Oui.
Mais qui est zinzin aussi, parce qu'on est de la même famille, qui m'a dit, la théorie du générique, c'est bon, j'y crois. Genre, je l'ai écouté dans ton podcast, maintenant j'y crois à fond et tout, et je suis là, je dirais pas que j'y crois à fond, mais
merci.
J'y crois plus que à Greg, c'est le père de l'enfant, n'importe quoi.
Est-ce qu'on peut faire, il y a Léa qui dit, moi, je crois plus à la théorie de Greg que... Est-ce qu'on peut faire un pôle?
Oui. Ok.
Est-ce que ça part en pôle?
Vous êtes conspi comment? Greg est le père Alors, Greg a fécondé Shiv. Vraiment, des mots que je pensais pas enchaîner hein, ce soir. Où
oui.
Tom est dans le générique. Et du coup, cette théorie, c'est que bah, dans le générique de succession, n'est-ce pas, le monsieur âgé qu'on voit et qui semble être, enfin le père qu'on voit, et qui semble, en toute logique, être Logan Roy avec ses enfants, ce serait Tom Wamsgamesm plus tard, ainsi que sa progéniture obtenue avec Shiv Roy. Et ce serait une façon de nous dire depuis le début que l'histoire recommence. On parlera, au moment de parler de ce foutu paplard, du fait que il y a des indices, parfois, dans les promos de Succession, qu'on ne comprend qu'après.
Incroyable.
Dans l'affiche de Succession saison 4, il y avait un avion dans le ciel. On sait maintenant que Logan est mort dans un avion. Et il y a un autre truc dont on va vous parler assez vite. On sort de cette humiliation publique de Tom Wamsgans pour revenir sur les gamins qui rappellent Madson, parce que du coup, Madson a appelé Roman, qui aller décrocher, mais Kendall lui a dit « Attends, on prend 5 minutes, on se met d'accord entre nous et on le rappelle. » Sauf que Madson, il aime pas. Il aime pas qu'on le rappelle. Tu décroches quand il t'appelle, le fraté. Donc là, il le rappelle 5 minutes après. C'est pas Madson, c'est Oscar. C'est qui Oscar? C'est pas peut-être son Franck, son Karl. Où est Oscar?
Je crois que c'est ça.
On ne sait pas, mais ça a c'est l'air vraiment... son COO.
C'est génial parce que ouais, c'est ça, tu l'entends. Il est là, non, il n'est pas disponible. Et en fait, tu l'entends parler à 2 mètres, quoi.
Ah oui, non, mais c'est ce classique où t'entends le gars au fond qui dit « Non, mais dis que je suis pas là, ça fait chier. » Mais voilà. Trop près du micro.
Quand j'appelle mes parents, ma daronne, elle est tout le temps pas très loin, tu sais, elle me parle à travers le haut-parleur, c'est insupportable.
Ah oui, oui.
Je dis « Non, mais viens, prends le téléphone, plutôt. »
Au lieu de faire les bacs de façon à ce que je t'entende, mais pas vraiment. Et du coup, il y a ce coup de fil qui est dans une hostilité business assez directe, entre mais très suédoise, très pragmatique, très scandinave, entre ce fameux Oscar qui est de la team Madson et les trois enfants. Est-ce que tu peux faire le topo de ce qui se joue dans ce coup de fil en termes business?
Bah, en gros, ok, Logan est mort, mais du côté de Gojo, en tout cas, il y a toujours ce deal à faire. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Bah, il faut faire en sorte de répondre. Et Madson avait déjà expliqué à Kendall dans l'épisode précédent que, en fait, il y a un moment donné, il n'allait pas non plus attendre des plombes et des plombes. Et en fait, au moment où Roman ne décroche pas, je crois que Madson effectivement se dit, ok, en fait, il me casse les couilles. Et donc, il y a un peu un bras de fer un peu idiot, quoi, qui joue un peu business et un peu crétin, qui joue entre les deux. Et le fait de ne pas le prendre au téléphone lui-même, il y a un peu un côté bon bah ok je vous sers mon sous-fifre là et en gros vous allez vous démerder avec le menu fretin quoi maintenant.
Et
enfin en tout cas je le lis comme ça.
Ouais, et d'ailleurs Kendall il dit, alors parenthèse, 80% du chat a voté pour Tom est dans le générique, seulement 20% a voté pour Greg a fécondé Shiv. Ravi de voir que vous suivez les prédictions.
Merci.
De la madame.
Merci ma team de 3. Puisque j'ai également voté pour ça.
Moi, j'ai même pas voté pour moi, mais j'aurais dû. Dans ce coup de fil, Kendall, il dit clairement à Madson, on a juste voulu être tous là pour le coup de fil, c'est pour ça qu'on vous rappelle. Et il lui dit, c'était pas un power play, c'était pas un power move. Et je trouve que c'est hyper direct. D'habitude, ils se disent pas ça clairement, tu vois. Mais on voit que Kendall et Madson, ils se comprennent un petit peu. Et aussi que là, on est à un niveau de business où peut-être on peut se dire les choses. Mais ça ne suffit pas pour leur acheter la gratitude de Madson ou de son équipe. J'ai trouvé que Shiv était nulle pendant ce coup de fil. Genre, elle est pas bien.
Elle est globalement nulle.
C'est elle qui... Oui, elle est...
Est-ce qu'on peut entériner une bonne fois pour toutes que Shiv est nulle?
Elle n'est pas compétente. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Elle n'est pas compétente là-dedans. Oh là
non, mais pas...
On arrête.
Okay. De... Pas nulle.
Joe Coco.
Ah, c'est Joe.
Joe.
Bonjour Joe.
Joe,
ah, dis donc.
Joe, bonjour les Joe Cocos, rebonjour. Si vous étiez
salut
là
les Joe Cocos.
Jeudi dernier pour l'apéro sur le live de Joe, ou vendredi midi quand Joe vous a envoyé sur ma chaîne où je parlais contraception avec une sage-femme. Comme vous le voyez, c'est très éclectique les contenus qu'on produit ici, puisqu'aujourd'hui on parle de Succession, saison 4, épisode 4. Donc attention, je suis avec Fabrice Florent, le co-host de mes débriefs Succession, je vais y arriver. Pour toute cette saison 4, que vous pouvez aussi retrouver en replay et en podcast et sur YouTube, donc vous n'avez pas d'excuses. Mais si jamais vous n'êtes pas à jour sur Succession, du coup, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochains lives et va des rétros, car on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans Succession, y compris l'épisode d'hier. Ok ? Shiv est nul. On y
revient. Ça rigole pas. Ouais, on pourrait faire un sondage. Selon vous, Shiv est nul ou nul ? Non, après, je suis d'accord avec toi. Elle est pas compétente dans le business. Elle est pas nulle d'une manière générale, mais elle est, en fait, elle, pour moi, la façon dont elle réagit aussi dans ce coup de fil, où elle lui fait un doigt comme ça, machin, je suis là, mais en fait, c'est pas pro, là. T'es juste en train de mettre de l'ego dans cette histoire et on y revient toujours, mais de réagir un peu comme ton daron, en fait. C'est exactement le même système. Alors que l'objectif, c'est quand même de faire en sorte que le deal se fasse. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que les enfants veulent. Non, on est bien d'accord, que le deal se fasse.
Sur Kendall, je sais pas. Je suis toujours pas sûre que Kendall, il veut le deal. Roman et Shiv, oui. Mais Kendall, on en parlera, mais je suis pas sûre de ce qu'il veut faire. Il dit à Stewie qu'il le veut, mais le dernier truc qu'on l'a vu faire, c'est Madson qui l'appelle et qui lui dit « Si vous faites ça, je kill le deal. » Et Kendall a fait le truc. Mais c'était au moment où il y avait encore son père et où il pouvait encore faire chier son père. Là, il peut plus. Donc, à voir. Oui. Ah oui, il y a Mathias qui dit, merci beaucoup Mathias, j'avais oublié, qui dit dans le chat, remember la présentation de Shiv dont tout le monde se foutait dans l'avion de Logan, elle est vraiment mauvaise. Effectivement, durant la période où Logan avait fait miroiter à Shiv que peut-être ce serait elle, la prochaine PDG, il y avait ce moment. Et en même temps, bah, elle débute, tu vois, genre, je sais pas, c'est comme ça qu'on apprend. Après, elle est quand même censée être en communication politique, donc faire des bons PowerPoint, quoi. C'est censé quand même.
Toujours est-il que. Il y a quand même Madsen qui dit « Ok, est-ce que vous pouvez venir demain ?»
Comme prévu. Est-ce que vous pouvez venir comme prévu à la rendez-vous, quoi.
Voilà. Parce qu'il faut conclure le truc, quoi. Donc, maybe, les semaines prochaines, c'est un trip en Suède.
C'est un trip en Suède. Et alors, il y a Marty qui demande dans le chat puisque tout le monde, a priori, veut vendre, pourquoi est-ce que c'est si important qui devient PDG? C'est pour être chef genre 10 minutes. Et effectivement, ils insistent sur le fait que c'est une mission d'intérim, puisque le PDG de Waystar Royco, normalement, tout ce qu'il va faire, c'est vendre toute une partie de Waystar Royco à Gojo. Et du coup, bah, il sera plus PDG de Waystar Royco, puisqu'il aura vendu la boîte comme prévu. À voir déjà si le PDG va le faire. Et ce qui se joue, c'est qu'il va falloir renégocier cette vente. Parce que là, le cours en bourse de Waystar Royco s'est effondré. Et que Madson, qui est déjà un mec assez tendu, je pense qu'il va vouloir renégocier le prix. Donc la question, c'est aussi, la personne qu'on choisit comme PDG, il faut que déjà les marchés aient confiance dans le fait qu'elle est fiable et qu'elle va bien mener la barque, et bien mener la barque jusqu'au deal, et aussi qu'elle réussisse à négocier un deal qui n'est pas raté avec Madson, qu'elle brade pas l'entreprise. Donc en vrai, comme tout le monde veut avoir, comme dit Karl, son parachute doré, quitte à partir, autant partir avec beaucoup d'argent, bah c'est quand même un sujet. C'est est-ce que le nouveau PDG, il va paraître stable pour les marchés financiers parce que sinon l'action va continuer à tomber. Et est-ce qu'il va mener ce deal à bien? Parce que le deal, on va le renégocier et Madson, c'est un connard. Donc c'est pas si simple que oui, il va juste cliquer sur j'accepte et c'est bon, quoi. Le
et
chat a voté pour Shiv et nul.
Ce truc,
à 71%.
Bien sûr. Il y a aussi ce truc, je trouve, de boucler un peu ce truc que papa voulait, quoi. Et,
oui,
et d'avoir. Karl, je crois que c'est Karl ou c'est Franck qui en parle et qui dit mais moi je veux boucler ce truc là et en gros je veux avoir ma minute de gloire, quoi. C'est mon moment à moi, parce qu'il y a un côté
alors non,
si tu fais cette vente là
non c'est alors non c'est Kendall c'est, qui dit ça à Stewie quand il dit quand Stewie lui dit pourquoi tu m'aiderais à faire ça, enfin en gros quand Kendall lui fait son pitch, il lui dit ce serait feather in my cap, donc c'est une bonne ligne sur mon CV d'avoir mené cette vente, même si ce serait être PDG pour 3 mois, tu vois, ça fait quand même hyper bien sur mon CV, et après je me casse, je vais faire d'autres choses. On en parlera, mais c'est la storyline de Kendall, c'est vas-y laissez-moi faire ce truc, je vais mener la vente à bien. Laissez-moi un peu avoir mon moment, s'il vous plaît. Et après, de toute façon, je me casse, je vous laisse tranquille. Je vais faire des médias avec ATN et Pierce. Peut-être merge les deux et voir ce que je peux faire. Par contre, il y a d'autres gens qui sont pressés de la vente pour d'autres raisons financières, comme Karl, par exemple, qui apparemment est en train d'acheter littéralement une île en Grèce avec son beau-frère et qui ne voudrait pas que, du coup, ça tombe à l'eau, quoi.
Étonnant. Quelle vie,
et
vraiment, ces gens.
Et rappelons aussi que on parle de fusionner ATN et Pierce, mais les gamins peuvent pas acheter Pierce s'ils n'ont pas les sous de la vente à Gojo. Et la vente à Gojo peut se faire à moins cher que prévu, puisque entre-temps, Logan Roy est mort. Donc en vrai, il y a quand même un enjeu sur cette vente, quoi. C'est pas genre, ok, il suffit de paraffer et de signer. On n'est pas sûr de combien ça va se vendre et on n'est pas sûr de ce qui va se passer après, quoi.
Moi, j'ai l'impression que Kendall, il dit ça un peu, genre, ok, donnez-moi le bise et en fait, comme ça après, enfin, bref, il est en train, c'est un peu un écran de fumée, quoi, cette histoire de fusion d'IT et
d'IT. J'ai confiance dans le fait que Kendall va vendre la boîte de papa. Hein. Vraiment, je pense qu'il va la garder, en faire ce qu'il veut, mais on verra. Ensuite, dans l'épisode, après ce coup de fil qui, du coup, se passe pas très bien et où les Suédois insistent pour que les enfants Roy viennent les voir le lendemain, quand bien même ils sont en deuil de leur père, ce qu'ils décrivent comme oh yeah yeah, bad one. Vraiment genre, ah ouais, ça craint. Ce qu'on dit quand ton père vient de mourir, c'est bof, quoi. Donc a priori, ils vont y aller assez vite. Willa et Connor arrivent dans l'appart, ce qui donne lieu à un de mes moments préférés, qui est l'interaction entre Marsha et Willa, suivi de l'interaction entre Marsha et Connor. J'étais là, mais c'est... Si tout Succession, c'était ça, ce serait quand même déjà la meilleure série, quoi.
Voilà, là. Willa la défonce tellement, Marsha, j'étais là...
En
good job, girl.
Non, mais grave. Parce que du coup, Marsha lui dit « Ah bah, regarde où t'en es arrivé. » Et Willa lui dit « Regarde où on en est arrivé. » Et là, je suis là... C'est peut-être la seule qui a pas peur de Marsha, en vrai, hein.
Ouais.
Et respect.
Bien sûr.
Parce que moi, j'ai peur de Marsha. Personnellement.
Et donc, Connor lui dit « Dis donc, je sais que c'est pas trop le moment et tout, mais... Est-ce que cet appart, comment ça va se goupiller là ?
Si jamais, un jour, tu pensais vendre, mais peut-être, voilà, j'ai honte de même dire les mots et tout, quelle est la réponse de Marsha à cette proposition nimbée d'empathie ?
Fais un chèque-os, c'est genre, combien elle lui dit ? 65 millions ?
Non, elle lui dit, je serais entre...
Millions.
Elle lui dit, ok, j'étais sur entre 60 et 70 millions, donc Connor, il est là, oh the girl was ready, à part les business et immobilier, ok. Et aussi, c'est une grosse somme, hein, on va pas se mentir. Rappelons qu'il y a 2-3 épisodes, Connor était en dèche de 100 millions pour relancer sa campagne présidentielle. Donc 63 millions, c'est quand même une bonne somme d'argent.
Non, il n'était pas en dèche de 100 millions. Il se demandait si ça valait la peine d'investir 100 millions et qu'en vrai, il serait toujours riche, mais riche moins 100 millions.
Oui, mais moi, j'y crois pas vraiment au truc de... En fait, c'est vraiment impossible pour moi d'estimer la fortune de ces gens, mais je me souviens que dans l'épisode sur le yacht, Connor avait demandé 100 millions à son père pour renflouer la pièce ratée de Willa, et que son père lui avait dit « Oui, si t'arrêtes tes délires de campagne présidentielle. » Donc, je sais pas s'il a beaucoup de 100 millions à lancer comme ça, et d'ailleurs, il finissait par dire à Willa « Est-ce qu'on pourrait pas faire un mariage extravagant pour avoir de la pub sans payer les 100 millions, tu vois, pour faire venir les médias anyway ?» Alors, il y a eu des surprises au mariage de Connor, mais je pense pas que c'est vers lui que les caméras étaient tournées, puisque son père a gâché un petit peu la fête. Donc je dis pas qu'il a pas les 63 millions pour l'appart, mais je dis qu'il en a pas, il a pas mille fois 63 millions. Et d'ailleurs, bah on voit une scène après avec Willa qui est un peu saoulée, tu vois, en mode ah oh, pourquoi t'achètes ça et tout machin. Et moi dans ma tête, je suis là, Willa, elle s'est mariée à un mec qui a tant d'argent. Et s'il met 63 millions dans un appart, enfin dans un immeuble, lui il a moins d'argent et elle, je suis pas sûre qu'elle a la moitié de l'appart, tu vois. Enfin de l'immeuble.
Ah bah non.
C'est clairement pas juste un
bien
appart.
Bien sûr. Surtout il y a un contrat.
Ah oui, je pense qu'ils
sûr.
Ont un prenup. Comme on dit,
ils ont un prix de ouf.
Je pense pas que Willa aura la moitié de ce qu'a Connor en cas de... Ou alors peut-être quand
non,
il meurt,
non,
mais pas avant.
Et les familles très riches comme ça, les pièces ajoutées, entre guillemets, souvent elles ont des prix ultra vénères aussi en cas de divorce pour la garde des enfants, etc. Enfin, c'est ultra hardcore, quoi. Donc non, faut pas. À mon avis, ils ont un gros contrat. Mais c'est marrant parce que quelqu'un disait tout à l'heure dans le chat, je me souviens plus qui c'était, pardon. Mais est-ce que vous avez pas la sensation que Marshall a sorti genre un montant absurde Mais bon, on n'est pas spécialiste de l'immobilier, nous on ne sait pas.
Non, et en vrai, ça a l'air d'être un immeuble. Alors des podcasts américains que j'écoute, ça a l'air d'être un immeuble sur la 5e avenue avec vue sur Manhattan. Je connais pas tout, mais je sais. Alors. Comme je suis très cultivée, je regarde Selling Sunset sur Netflix, ok. C'est des gadgets habillés pas du tout comme des agentes immobilières, c'est genre elles sont habillées comme des mannequins et tout, c'est absurde, elles ont un partenariat Chanel pour toute une saison, enfin bref. Qui vivent dans une agence immobilière tenue par deux gars, je sais pas quoi, c'est bizarre. Et qui vendent des
c'est
maisons
quoi,
de
ta
luxe.
Vie,
bah c'est Netflix, c'est compliqué. Et qui vendent des maisons de luxe dans les hauteurs de Beverly Hills, Los Angeles, etc. Et quand elles vendent des maisons genre à deux chiffres de millions, tu vois, à 10, 20, 30 millions, c'est déjà beaucoup. Et c'est une maison. Donc je me dis, un immeuble au milieu de Manhattan qui coûte 63 millions, je pense pas que Marsha, elle l'a fait à l'envers à Connor. Par contre, elle l'a fait en mode, on se crache dans la main, on signe maintenant, comme ça, elle, elle a zéro à se faire chier avec la paperasse et tout. Mmh. Et ça montre aussi que, bah, elle a pas de rapport sentimental avec Logan, quoi. Elle veut pas rester dans cet appart parce qu'ils y ont vécu ensemble ou parce qu'elle a des souvenirs, quoi. Elle est vraiment en mode, fais un chèque.
Ça t'a fait marrer qu'il se crache dans la main? Moi, j'étais mort.
Oui, parce que j'arrivais pas à savoir si c'est Marsha qui fait ça pour se foutre de la gueule de Connor. En mode, elle fait pas ça d'habitude, mais comme il est débile, elle se crache dans la main parce qu'elle sait qu'il va le faire. Ou si c'était un truc.
Elle est libanaise, non?
Ouais, elle est mi-libanaise, mi-française, l'actrice et tout. Donc il y a aussi des trucs de code culturel différents. Mais je pense que c'est aussi une façon de s'adapter à Connor qui a cette idée très, tu sais, chevaleresque, très tradie du passé. Et par exemple, je pense que Connor, dans sa tête, il est propriétaire de l'appart, hein, déjà. Parce qu'à un moment, en plus, il dit Mikasa et Tukasa à ses frères et sœurs. Et je suis là, frère, t'as rien signé, hein. T'as craché dans la main d'une meuf. Pour le coup, Marsha, demain, quelqu'un arrive avec 75 millions. T'inquiète, la barre, tu vas pas l'avoir. Hein. Donc, il y a ça aussi. Je pense que c'est moins garanti que ce que Connor pense, mais Connor a toujours beaucoup de confiance dans la vie. Il y a Malaka qui dit, ma théorie, c'est que Connor est dans la merde financièrement, mais il le cache à Willa. En vrai, je sais pas, c'est un peu possible. Enfin voilà, c'est un des rares où on a eu des discussions régulières sur est-ce qu'il a assez d'argent pour ce qu'il veut faire. Sur Kendall, sur Roman, sur Shiv, on n'a jamais ces discussions de est-ce que Kendall il a assez de thunes pour monter sa boîte ou machin, tu vois. On n'a jamais personne qui vient demander 100 millions à papa et tout. Donc, peut-être, mais pas sûr. Moi, j'espère toujours, bien sûr, la campagne présidentielle de Connor Roy. On est là.
Il y en a qui dit 63 millions pour un bien immobilier qui garde sa valeur. C'est pas pareil que brûler 100 millions dans une campagne, surtout quand t'es un Roy. La banque te fait un prêt. J'en profite pour faire un petit big up parce que Navo et moi on avait fait un épisode d'histoire d'argent ensemble et il parlait justement de ça et de comment il avait appris ce truc dingue que seuls les riches connaissent, qui est en fait achète ton propre appart, en fait résidence principale plutôt que de louer et de continuer à payer le prêt de quelqu'un d'autre, quoi. Voilà.
Oui, et je pense qu'il y a aussi un petit sous-texte de les grandes demeures comme ça, elles se transmettent de main à la main parmi les puissants, tu vois, genre les nouveaux riches entre guillemets n'auront pas les moyens d'accéder à cet immeuble historique de New York, et c'est un peu comme les offres d'emploi qui sont jamais tu sais qu'un poste s'ouvre mais il sera jamais sur LinkedIn, quoi, ça va se faire entre initiés, comme le délit d'initié de Hugo finalement qui arrive très bientôt. Mais avant ça, mon gars Franck appelle Karl dans la bibliothèque. C'est vraiment Cluedo, quoi. Alors, c'est Franck et Karl dans la bibliothèque avec un bout de papier. Et Franck, il lui dit, mon gars, il y avait un bout de papier dans le coffre. On est dans la Hesse. À ce moment-là, Fab, toi, tu te dis qu'il y a quoi sur le bout de papier? Parce qu'on met longtemps à le savoir. Hein. Et c'est trop malin, déjà, qu'on mette longtemps à le savoir.
Bah oui. Écoute, moi, je croyais que c'était un bout de papier, genre, en rapport avec les croisières.
Ah ok, tu pensais que c'était le scandale des croisières qui allait repopper.
Ouais.
Ok.
Mais non, c'est bon. C'était clairement tiré par les cheveux, mais effectivement, pendant 3 secondes, je me dis.
Bah en vrai, les croisières, c'est l'intrigue qui dure 3 saisons, hein, parce que saison 1, il y a Tom qui envoie Greg détruire les papiers, et saison 3, c'est les conséquences de, c'est le deal avec le département de la justice et tout machin. Donc en vrai, c'est pas complètement débile, quoi. C'est un vrai fil conducteur dans 3 saisons de Succession.
Ouais, je me suis dit, ok, il y a un truc qui incrimine vraiment Logan, et genre post-mortem, quoi, tu vois.
Ok.
Bon.
Ah, c'est
bien. Il y aura pas besoin de ça pour le salir. Hein.
Non, pas trop. Je pense qu'il s'est bien sali tout seul. Hein.
Fiston va s'en charger.
Fiston et Hugo et le gars de ceinture. Il y a Navo qui a dit plus haut dans le chat. Non, pas Navo, pardon. Navo avait félicité, je crois, la personne qui l'a dit. Le gars de ceinture de Chekhov. C'est cette fameuse théorie du fusil de Tchekhov où si t'as un fusil accroché sur un mur dans une pièce de théâtre, il faut qu'un coup de feu soit tiré avant la fin de la pièce parce qu'il est pas là pour rien. Et effectivement, cette conversation God ceinture de Tchekhov, ça me plaît beaucoup. Moi, j'ai pas du tout pensé au scandale des croisières. Je pense parce qu'ils hésitent à le détruire ou pas. Et je pense que dans ma tête, si c'était un truc du scandale des croisières, ils l'auraient détruit direct parce qu'en plus, Karl, il est clairement mouillé, Franck un peu aussi, donc j'ai pas pensé au scandale des croisières. J'ai un peu repensé à la théorie de Kerry, peut-être elle est enceinte de Logan. Je me suis dit, attends, imagine, parce qu'une de mes prédictions qui, je pense, ne va pas se réaliser au point où on en est, c'était, imagine, Kerry, elle est enceinte de Logan et du coup, un nouveau challenger rentre dans le ring. Donc j'ai un peu pensé à ça et après j'étais là, ok, je pense que c'est une lettre qui dit je veux que machin me succède. Et moi, j'avais pas du tout en tête que la famille a pas la majorité sur le board. J'étais un peu en mode, si Logan, il a dit donnez la boîte à machin, ça va être machin. Tu vois, j'avais pas les subtilités en tête. Et je pensais que ce serait du coup Greg. Parce que du coup, je suis toujours dans mon truc de Greg, c'est le pire et du coup, il gagne à la fin. J'étais là, imagine, il trouve un papier qui dit c'est Greg et ils sont en mode... What? Qui?
Ah, ça aurait été drôle, putain. Ça aurait été beaucoup plus drôle que de mettre Kendall.
Mais Greg, il y croit. Et voir Greg qui y croit une demi-seconde, c'est quand même hilarant. Ah, oui. Parce que le voir y croire et se rendre compte que non, c'est quand même mieux. Parce qu'on adore voir Greg être triste. Ah, il y a Steel Marty qui dit « Quand ils ont dit Little Princess, je pensais que c'était Shiv. » Alors, c'est intéressant. En effet, Carl, il dit à Frank, donc une fois qu'ils ont fini de faire des blagues dans un esprit humoristique sur « Ah, si ce papier tombait dans les toilettes, dites donc, ce serait marrant et tout. » In a humorous vein, dit Carl, qui est vraiment bref. Il y a Carl qui devient tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus cash avec Frank, hein, toujours en continuant cette lancée qu'il a eue avec Tom. On va y aller droit au but et qui lui dit « On va pas laisser la petite princesse nous mettre des bâtons dans les roues. Je suis à ça d'acheter une île grecque avec mon beau-frère. » Et c'est à ce moment-là que Jerry arrive. Et il dit « Si Jerry veut me bloquer, j'espère bien que j'aurai mon putain de parachute doré parce que je suis à ça d'acheter une île grecque avec mon beau-frère. » Et du coup, moi, j'ai un peu compris que la petite princesse, c'était Jerry. Que en gros c'est juste une façon misogyne de parler d'une femme puissante et qu'il est là en mode la petite princesse qui fait des caprices qui est en plus un peu une couronne tu vois parce qu'elle est PDG par intérim et c'est elle qui a contrecarré les plans de Carl de peut-être revenir dans la course donc moi j'avais compris ça comme ça mais du coup il y a des gens à qui ça a fait penser que c'est chiffre sur le papier parce qu'il dit petite princesse.
Il a écrit ton nom juste pour s'en rappeler, dit Roman à Greg.
Ah oui, non, mais attends, le débrief du papier avec tout le monde, mais c'est pic succession et on est que à l'épisode 4, quoi. Cette saison, elle est sous stéroïdes. Et d'ailleurs, Jerry vient les interrompre. Pendant qu'ils sont en train de râler sur Jerry, Lago, elle arrive dans la pièce et c'est vraiment genre... Tout le monde débarque à tous les moments inopportuns dans cet épisode. Enfin, tout le monde a son nez dans tous les bails parce que tout le monde sait que tout le monde est en train de faire des naninana, quoi.
Que c'est le moment, en fait, vraiment.
Il y a un moment, un perso qui dit ils sont en train de réécrire l'histoire, les 48 heures à venir seront décisives. Je crois que c'est Connor quand il parle des orientations politiques de son père, mais c'est vraiment ce qui est en train de se jouer. Et c'est encore une fois très Survivor et un peu Koh-Lanta où... Quand t'es à 2 heures du conseil d'immunité, dès que tu vois quelqu'un s'isoler avec quelqu'un, tu vas voir ce qu'il se dit parce que...
Il faut
savoir les bails. On a le moment. Donc Connor rejoint les Kendall, Shiv et Roman qui reçoivent les journaux avec les nécros de Logan. Et en parallèle, c'est aussi le moment où Hugo il parle à Kendall du God Ceinture. Tu veux qu'on commence par quoi? Tu préfères les négos et le thérapeute du deuil de Kendall ou Hugo et son délit de
Le thérapeute. Le thérapeute du deuil, c'est... Oh là là.
Est-ce que tu me détestes si je te dis que j'ai un peu pensé à toi à ce moment-là? Quand Kendall, pourquoi il dit... Alors, parce que c'est à la fois efficace. En fait, c'est le seul à recommander aux autres. En fait, la thérapie, ça aide. Et pour gérer ce genre de trucs, quoi. Et du coup, trouver quelqu'un, d'autant plus qui est visiblement spécialisé en deuil, il leur dit un truc, genre ça donne des outils et tout. Il y a des trucs qu'on peut faire, parce que je pense que Kendall est un peu contrôle fric, et du coup, il a envie d'avoir l'impression d'avoir des outils pour avancer.
Oui.
Et en même temps, genre, ça m'a fait penser à toi, parce que des fois, j'ai l'impression que tu speedrunnes un peu des trucs de thérapie, tu vois, que t'es là en mode, tu sais quoi, on va faire un gros morceau, et après, ce sera réglé. Et en même temps, t'avances aussi beaucoup dans la thérapie, et moi aussi, et on a juste des philosophies différentes, tu vois. Mais quand Kendall, il est là...
Moi, je me souviens de quand j'ai commencé la thérapie, au bout de quelques mois, je me suis dit, disons, oui, ça te ferait vachement du bien, et tu m'as rionné pendant des années.
Mais je suis désolée, mais pour moi, ça va dans ma théorie. Parce qu'en fait, toi, t'as fait de la thérapie à, je sais pas quel âge t'avais, mais genre 40 ans, et moi, j'en avais genre 23-24, et 25. Je dis pas que ça m'aurait pas aidé. Mais je pense que je t'ai dit à un moment, genre, mec, laisse-moi y arriver à mon rythme, en fait, genre, à mon âge. Oui. T'étais pas en thérapie, t'étais pas végé, tu faisais pas de la méditation, tu faisais pas du sport. Et j'aurais comprends bien ce aimé. Truc de, j'aurais aimé l'avoir plus tôt. Mais il y a aussi un truc de, des fois, c'est trop tôt pour être prêt, tu vois. Et c'est ce truc de, j'ai envie de te montrer que ça existe parce que je pense que plus t'y vas tôt, mieux c'est. Et en même temps, il faut du temps pour être prêt à y aller. Donc, ça m'a fait un peu rire que Kendall soit là en mode, Ok, j'ai mon Grief Guy et je peux vous filer son numéro et ça peut aider parce que c'est véritable, mais tu vois, genre, je trouve que c'est un movie père gentil aussi et que tous ces gens profiteraient beaucoup d'avoir une thérapie autour du deuil de leur père, quoi. Donc, c'est pas un burn, c'est pas shady, mais j'ai pensé un petit peu à toi. C'est mieux de penser à toi devant Kendall que devant Greg.
Oui.
Au final, ça pourrait être pire. Ah, il y a Malaka qui dit... Alors déjà, merci beaucoup Navo pour le sub. Merci pour le sub de 3 mois d'avance. Ok, le mec est là en mode, je crois en vous pour 3 mois. C'est sympa parce qu'il reste genre 6 épisodes de succession, ça fait pas 3 mois, mais merci. Ça me touche. Merci beaucoup Navo. Il y a Malaka qui dit, mais son thérapeute, c'est pas un médium ou quelque chose comme ça? Alors je pense que non, mais j'ai eu le même doute. Parce que c'est bizarre comment il le dit, Kendall, il dit... En plus, moi, donc je regarde en anglais avec des sous-titres en anglais. Ce qui fait que parfois, il y a quand même des trucs de vocabulaire où je déduis du contexte, mais j'ai pas le mot exact. Et il dit, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais au milieu de la nuit, parce qu'il dit qu'il a pas dormi cette nuit, vu que c'est la nuit où son père est mort. Au milieu de la nuit, j'ai appelé un gars que mon thérapeute m'avait recommandé. On a fait une session et ça m'a beaucoup aidé. Et en vrai, moi, mais je pense que j'ai confondu session et séance, ou en anglais, quand ils disent séance, c'est vraiment une séance avec des médiums. C'est un truc de parler à l'au-delà, c'est genre une séance de Ouija, alors qu'une session, c'est une session de thérapie ou de voir quelqu'un. Et comme c'était au milieu de la nuit, que ça parle d'un mec mort et tout, et que Kendall, il est quand même un peu fou, j'étais là, est-ce qu'il a embauché un médium pour parler à son daron? Et en même temps, j'étais là, est-ce qu'on pourrait avoir la scène de Kendall qui parle à Logan via un médium parce que je la veux dans mes veines, déjà? Mais je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est moi aussi qui avais mal compris et qu'on parle vraiment d'un... Comme Shiv lui dit, t'as le meilleur... Grief Guy, genre, t'as le meilleur spécialiste du deuil, je suis là, ok, c'est juste un thérapeute en visio, quoi.
Oui. Oui.
Mais j'ai eu le doute aussi, donc je me permets de le mentionner parce que je pense que Malaka, toi et moi, on n'est pas seuls, ok. Et bien
j'avoue
sûr, il a
que, effectivement, la séance de médium de Logan qui va parler à papa pour régler ses comptes, on a envie de voir ça, quoi.
Ah bah, j'espère que c'est, tu vois, une scène coupée, un bonus DVD, un truc comme ça, quoi. Peut-être qu'on peut kickstarter ça si on est plein. On fait une pétition sur change.org et Jeremy Strong, il joue ça, mais tout seul, tu vois, avec des marionnettes. Et ça marche quand même, et c'est horrible. Et je trouve que c'est une des scènes où on voit le plus la façon différente dont les quatre enfants, parce qu'il y a Connor aussi, gèrent le deuil. Donc t'as Kendall qui a le best Grief Guy. T'as Roman qui a pré-grieved, donc c'est bon. Qui a fait son pré-deuil. T'as Connor qui est plutôt dans le soin. C'est lui qui vient et qui arrive et qui dit comment vous allez, mais genre comment vous allez vraiment, comment ça va toi, comment ça va toi Kendall et tout. Et t'as Shiv qui dit rien sur elle en vrai. Elle dit écoute, Roman a fait son pré-deuil, Kendall a le meilleur Grief Guy, mais du coup elle dit jamais comment elle ça va. Est-ce que ça t'a parlé ce truc de montrer le jour d'après et de continuer ce thème de l'épisode précédent de comment on traverse ce deuil-là et qu'est-ce que ça dit des relations des persos à leur daron qui était quand même un peu variées, quoi.
Bah ça, pour moi, c'est surtout la façon dont eux-mêmes gèrent leurs propres émotions et on peut... En fait, ça montre aussi à quel point... pour moi, Kendall est le plus amoché parce qu'il a été le plus près du soleil, quoi. Et en fait, après, globalement... On comprend que Connor s'en est pris plein la gueule, mais lui, c'était il y a un moment, et il a repris de la distance avec Logan beaucoup depuis quelques années, depuis on ne sait pas quand, mais en tout cas, on imagine qu'il n'est pas dans la boîte et tout. Roman, qui lui est dans le déni total, tout comme bah, il était dans le déni jusqu'à la fin, parce qu'il a quand même, il a quand même viré Jerry sur l'ordre de son père, alors qu'il n'en avait pas du tout envie.
Non, très peu.
Et Shiv, qui de toute façon déteste montrer toute forme de vulnérabilité, qui... reste là-dedans, quoi, qui ne préfère pas partager. Donc, je trouve que c'est plutôt d'équerre avec leur personnage et avec la façon dont ils ont géré leur relation avec leur daron, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et j'ai trouvé que la façon dont tu vois, genre, le fait que Shiv, elle taquine directement Kendall en lui disant « Ok, t'as le meilleur gars du deuil, tu vois. C'est toi qui as le meilleur. » Alors, pour le coup, je l'ai pas vécu comme un truc méchant entre guillemets, tu vois, de je me fous de ta gueule ou je rejette ton conseil d'essayer la thérapie. C'était vraiment un truc genre, ok, bah Kendall, tu fais une Kendall, tout comme Roman, il fait une Roman et on le sait. Et c'est rare les moments où on se rappelle qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils ont vraiment grandi ensemble et qu'ils se sont chamaillés et qu'ils se connaissent par cœur comme tu connais que les gens avec qui t'as grandi. Et j'ai trouvé que ce moment, il montrait aussi ça, tu vois, que en fait, ils se connaissent et ils savent comment ils marchent et du coup, ils sont là, ok, bah Kendall, il a payé un gars qui est le meilleur, et c'est littéralement le pitch de The 100, l'entreprise qu'il voulait monter, tu vois. C'était, on prend les meilleurs cerveaux dans tous les domaines, et comme ça, on aura les meilleures infos. Et quand son père, il est mort, il a appelé son assistante en lui disant, tu me trouves le meilleur docteur aéronautique et le meilleur docteur du cardiaque et tout. Il veut le best guy, et je trouve ça chou de voir qu'ils se connaissent quand même assez pour savoir comment l'autre fonctionne. Parce qu'ils ont passé tellement de temps à se rejeter qu'on n'est pas toujours, on voit pas toujours cette lucidité qu'ils ont les uns envers l'autre et cette capacité de s'aimer même avec leurs défauts, tu vois. Je pense, moi, demain, enfin, c'est dur à dire parce que, voilà, mais si j'ai une épreuve, enfin, je serais la meuf qui fait à bouffer à tout le monde, tu vois, c'est un deuil dans ma famille. Et je pense que des fois, mes sœurs, elles seront pas en mode, Mimi, t'es encore en cuisine, parce que c'est genre, girl. Ah bon, il va falloir faire le deuil, tu peux pas juste cuisiner jusqu'à aller mieux, je serai la watch me. J'essayerai.
Watch me faire des sauces piquantes.
Non, pour les tout le monde. Il faut attendre une semaine avant de pouvoir les faire. Moi, j'aurai pas une semaine, je serai là, je vais faire que des trucs où faut surveiller la cuisson, tu vois. Genre un risotto, faut touiller en permanence. Une friture, si tu clignes des yeux, du lait sur le feu et tout, je serai là. Je vais occuper mon cerveau très fort. Bref.
Puis en même temps, tu ne sais pas, puisque
je
tu
ne sais pas,
pas encore
car
vécu.
J'ai la chance de ne pas encore l'avoir vécu, en tout cas à ce niveau de proximité avec la personne décédée, oui. En tout cas. Kendall, c'est la Fire Festival Energy. Il est en mode dev perso. Roman, déni total. Shiv, complètement égocentré. Connor fait bonne figure comme le patriarche qu'il aimerait être en tant qu'aîné. Oui, c'est pas une mauvaise vision, Navo. Après, je pense que, comme tu dis, Fab, Connor, il y a aussi le truc de hisser autant que possible. Pour lui, détaché de j'ai envie que mon père m'aime. Enfin, il y a eu cette conversation au karaoké et tout, qui était très très touchante de la part de Connor. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il est là. Mon daron est mort, j'ai acheté son immeuble. Ah, je peux aider mes petits frères et sœurs à traverser ça, quoi.
Oui, alors Squazam, est-ce que Shiv ne dit rien parce que c'est une femme dans le même sens où elle ne dit rien de la grossesse et qu'elle ne peut pas faire aveu de faiblesse? Tu peux le voir comme ça, tu peux aussi le voir comme c'est une façon comme une autre de se protéger et de pas. Et en fait, pour moi, l'une des très grandes forces, mais que j'imagine Shiv n'a pas compris encore, c'est justement montrer sa vulnérabilité.
Ah oui, bah elle n'a pas compris parce qu'en même temps, elle n'a pas. Excusez-moi, j'ai ma light qui est tombée.
Elle n'a pas
été élevée dans des gens qui t'apprennent que c'est une force. Au contraire, je pense que dans cette famille, être vulnérable, c'était juste se faire planter immédiatement. Mais oui, je pense que ça joue un peu dans le sens où, en tout cas, si on a un qui doit faire part de sa vulnérabilité en premier, ça va pas être Shiv. Et bah malheureusement, l'épisode va prouver qu'elle a un peu raison aussi de se méfier parce que. Même quand ça vient de ta famille, le fait d'être une femme, ça finit par jouer, quoi.
Oui, même si t'es nul, pardon.
Et du coup, il y a ce moment où on rigole avec les nécrologies de Logan, et où en fait, c'est un vrai moment Big Brother 1984, la novlangue, tu vois, où ils décryptent ce que disent les journaux pour décrypter ce que ça dit vraiment sur leur père. Typiquement, c'était un homme de son temps, bah ça veut dire qu'il était super raciste. C'était un bon businessman, bah ça veut dire qu'il payait pas ses impôts, enfin, qu'il faisait de l'optimisation fiscale, tu vois. Donc c'est un rare moment de rire après un épisode qui en a été assez dépourvu, hein, l'épisode 3. Est-ce que t'as kiffé ce truc de retrouver un peu de cohésion dans aussi bah tracher le daron, quoi?
Ouais, bah comme d'habitude, hein, c'est un peu leur game depuis 3 épisodes là, depuis 3-4 épisodes, depuis 3 épisodes en vrai. Non, 2 épisodes, ça n'a duré que 2 épisodes.
Bah ouais, ça
le trashage de daron.
Et pour le coup, tu vois, genre Roman, il a jamais été trop à l'aise avec trasher le daron, mais là il participe. Mais parce qu'aussi c'est des trucs genre, je pense que Roman, il est là. Oui, il était raciste, tu vois. Genre oui, il était raciste. Oui. Je veux pas dire les trucs que les gens savaient pas, mais on va pas nier qu'il était raciste, genre ça c'est OK, tu vois. Il y a des trucs. On verra plus tard, il y a des trucs ça se dit pas sur papa, quoi.
Ouais, clairement. Donc non, moi j'ai trouvé ça marrant et puis surtout ça dénote un peu tout le cynisme dont ils font preuve et dont ils connaissent comment fonctionnent les médias, puisque en gros papa les a élevés là-dedans, quoi. Donc ils savent décrypter entre les lignes ce que disent les journaux, et effectivement quand ça concerne leur père encore plus sans doute.
Oui, ils sont très cyniques sur le monde médiatique, mais je pense qu'ils ont raison. Et ensuite, le god ceinture de Chekhov, Hugo, il arrive, il dit « Hello, Kendall, may I borrow you for a moment, please ?» Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Fabrizio, avec Hugo et sa fille?
Bah, ce con-là, il a prévenu sa fille que Logan était mort, et En fait, elle a vendu les actions de Waystar avant que l'info sorte. Donc, en gros, elle a fait ce qu'on appelle un délit d'initié. C'est-à-dire qu'elle a vendu les actions quand elles étaient encore au plus haut de leur valeur. Et en gros, elle a fait une énorme, donc on imagine une énorme plus-value. En tout cas, elle a évité la moins-value.
Oui.
Si une heure plus tard, elle les avait vendues une heure plus tard quand l'info était sortie, on voit bien à la fin de l'épisode 3 que, il y a Roman qui regarde son téléphone et qui voit le cours de bourse qui s'est effondré, qui dit This is dad.
Ça, c'est papa.
Effectivement, c'est papa. Et de ce fait, c'est répréhensible par la loi, parce que il y a des tas de règles et de lois qui font que ça.
Ah oui, si on part comme ça, il y a rien qui va, c'est pas juste, tu vois. C'est pas juste. T'as une info que les autres avaient pas. C'est pas fair play. Le capitalisme l'est tellement, mais on a quand même cette idée de, il faut que tout le monde ait une main de départ à peu près juste pour qu'on puisse continuer à tenir, quoi.
Voilà. Et je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi il lui dit à Ken. Il lui dit parce que il se dit, ok, bah pour info, voilà ce qui vient de se passer. Mais en fait, je me demande pourquoi il lui dit à lui. Enfin, c'est assez étonnant, en fait. Pour moi, c'est plutôt ok, firewall total. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Parce que déjà, c'est sa fille. Bon, alors c'est lui bien sûr qui aura balancé le truc. C'est sa fille qui a vendu les actions.
Ouais, je pense que si t'es en délit d'initié, si t'es le mec qui a dit à ta fille que Logan Roy est mort, t'es aussi en taule. Il me semble que les bails de gros délit d'initié qu'il a eu.
Ah oui.
Genre lui, il est pas, c'est pas juste ma fille va aller en prison. C'est lui aussi potentiellement, il peut y aller ou en tout cas avoir des problèmes, quoi.
Oui, mais qu'est-ce que ça lui change, tu vois, de le dire à Ken? Est-ce qu'il s'imagine que Ken va le protéger? Enfin, j'en sais rien, comprends pas trop ce move.
Je comprends pas pourquoi
l'honnêteté.
Il lui dit. Moi, j'ai un avis un peu plus méta et peut-être un peu plus cynique qui est qu'il lui dit pour qu'on ait cette scène à la fin de l'épisode. Et que.
Oui, bien sûr.
Il faut que Kendall ait un levier. Mais d'habitude, dans Succession, c'est pas que ça, tu vois. Ils font pas des trucs juste pour que ça marche scénaristiquement. Il faut que ça ait du sens pour les personnages. Et. En fait, je me dis aussi, il est obligé d'en parler à quelqu'un, parce que ça va tomber. À qui il peut en parler? Bah, pas à Jerry, parce que Jerry, c'est l'aspect légal, donc c'est non. Et en fait, les autres, on n'a pas les autres plus âgés de la boîte, on n'a pas l'impression qu'ils apprécient beaucoup Hugo, qui a l'air d'être le chef des communications, mais Carolina, qui est sa N-1, clairement, ils sont en rivalité pour le poste, et les autres n'ont pas l'air de l'apprécier trop. Et du coup, peut-être que l'hypothèse de Navo, Hugo, il en parle à Kendall parce qu'il doit en parler aux enfants et c'est l'enfant dont il a le moins peur. Peut-être que c'est, il faut que j'en parle à quelqu'un pour être protégé.
Sans doute.
Et en vrai,
et sans doute.
Nonobstant le papelard dont on va parler, c'est pas le pire cheval sur lequel miser Ken pour l'héritage de son père.
D'autant plus qu'on va en parler, mais Ken a toujours fait en sorte de braguer une sorte de ok, le capitalisme c'est bien, mais moi j'ai envie de faire un capitalisme éthique, un capitalisme avec un peu d'honneur et un peu de conscience.
The same, but different.
Peut-être il se dit que c'est une bonne façon et qu'il peut être un bon allié par rapport à ce potentiel coup dur qui va lui tomber sur le coin de la gueule, quoi.
Et en vrai,
c'était sans compter sur.
Bah non, mais en vrai, il a pas tort.
Sur.
Parce que
ouais,
d'autres gens l'auraient juste. Jeté sous le bus, Kendall il a pris l'info, il a dit c'est chaud pour ta gueule, hein. T'es bien dans la merde quand même mec, mais si Hugo fait ce qu'il veut, peut-être que Hugo va s'en sortir indemne avec son truc de délit d'initié, tu vois. Donc peut-être qu'en vrai il a fait le meilleur pari, qui est pas le meilleur pari moral ni éthique, mais qui est j'ai confié mon secret maudit à la seule personne qui, enfin en tout cas à une personne qui va me permettre de m'en sortir là-dessus. Et d'être, et
voir.
Lui avoir vendu mon âme, parce qu'on pense son âme au diable dans Succession, mais c'est mieux que d'aller en prison finalement. Comme Tom nous l'a appris, oui, c'est compliqué la prison. Il y a un aspect auquel j'avais pas pensé, qui m'est venu de David Chen, qui anime Decoding TV, un podcast de débrief de séries, surprenant ou pas, aux États-Unis. En fait, j'arrivais pas à comprendre parce qu'il dit que Hugo, il dit le pire, c'est que j'ai pas de relation avec ma fille. Genre, on n'a pas une bonne relation, tu vois, on n'est pas proches. Et j'étais là. Mais du coup, pourquoi tu la préviens? Sauf si toi-même t'espérais profiter de cette vente, genre tu lui dis on s'arrange, tu vois, pour les profits ou quoi. Je sais pas pourquoi il l'a appelé du coup. Et en fait, le mec, donc David Chen, amène une hypothèse que j'avais pas, qui est que Hugo, il a quand même vu mourir un homme sous ses yeux, puisqu'il était, enfin, Logan est mort, quoi. Non, pas sous ses yeux, mais il y a la mort de Logan qui est arrivée, et peut-être que ça lui a juste fait un truc humain de se rappeler de, en fait, j'ai des enfants et ça me rend triste d'être éloigné d'eux, et je vois ce mec qui est mort et où tout le monde se déchire sur les miettes de son cadavre et il est mort tout seul dans un avion avec des collègues et aucun de ses enfants auprès de lui. Et peut-être que je vais appeler ma fille dans un moment en plus de panique un peu émotionnelle et professionnelle et lui dire écoute, il se passe un truc et en fait j'ai envie de te dire que je t'aime et que je suis ton père parce que bah Logan il meurt et que ça m'y fait penser et que la gamine a été là. Logan il meurt? Ok, je vais vendre des parts immédiatement. Ce qui rend le truc vraiment tragique, je trouve. Si même les rares moments d'humanité... C'est niqué quoi.
Cynique once again.
Ouais, c'est pas une série très optimiste. Il y en a vous qui dit je crois peu à cette théorie. Bah du coup pour moi l'alternative c'est oui il a fait un bail avec sa fille de tu vends tes parts ça se verra pas et tout mais bon il est pas bête il sait bien que ça va se voir quoi. Enfin peut-être qu'il lui a dit tu les vendras plus tard et du coup elle l'a fait un peu trop tôt. Et quelqu'un sur le chat disait peut-être que ah oui c'est Darvek qui disait est-ce que il le dit pas à Kendall juste parce que Kendall l'a entendu parler au téléphone en entrant. Il a pas entendu des trucs très précis. Il a entendu, là, t'as sorti le gueux de ceinture et tu me l'as foutu dans le cul, il pourrait dire, il peut inventer un peu n'importe quoi pour justifier cette conversation. Il est pas obligé de dire des lits d'initiés. Alright.
Wow.
Back to le bout de papier. It's time for Kendall, Roman et Shiv d'apprendre l'existence du bout de papier. Et c'est le moment pour nous d'apprendre... Qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier? Qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier, Fabrice Florent?
Bah, en fait, que Kendall s'appelle également Logan.
Eh, Kendall Logan Roy. Je pense pas qu'on le savait. Moi, je savais pas.
Non,
en tout cas.
On savait pas.
J'étais là.
Mais non.
Oh my god.
Il s'appelle en tout cas, Kendall Logan. Ça m'a sauté au visage.
Ah, moi aussi. Hein. J'ai vraiment crié en mode. Il s'appelle Kendall Logan Roy. C'est très important quand même.
Incroyable.
Et à part ça, c'est peut-être pas l'information la plus brûlante comme... de ce papier néanmoins.
Non mais en fait c'est pas l'information la plus brûlante mais je trouve que ça dit un truc en fait quand tu nommes tes enfants. C'est un vrai...
Surtout que j'ai vu quelqu'un sur
vrai
Reddit
que
noter qu'il a déjà eu un fils avant. Il a déjà eu Connor. Et il a vu son premier pancake et il s'est dit celui-là je vais pas l'appeler Logan. On va le faire avec le deuxième. C'est horrible parce que je pense pas que Connor il s'appelle Connor Logan Roy.
Non je crois pas.
Franchement
c'est un vrai... C'est un vrai truc hein, de décider d'appeler son enfant avec le prénom du daron quoi. Ça c'est lourd. Je crois qu'il faut pas le mettre de côté.
Ah oui hein. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant déjà dans la vie en termes de qu'est-ce que ça dit en termes de psyché des gens qui font ça et de qu'est-ce que ça va mettre comme pression à leurs enfants de soit devenir le même en mieux soit devenir l'inverse total parce que on va être en opposition à ça et dramaturgicalement, dramaturgically, comme dit Jeremy Strong, c'est hyper intéressant dans une série où il nous reste 6 épisodes pour savoir c'est quoi la fin, d'avoir un des héritiers principaux du trône qui a le même nom que Feu le Roi, quoi. C'est pas anodin. Peut-être que Hell to the OG partie 2 va finir par nous arriver.
Et pour moi, bah, un peu comme ce que dit Navo, moi je vois aussi ce truc très évident de. Ok, le mec est mort, mais en fait, il continue à foutre le bordel dans la vie de tous ces gens.
De fou.
Juste avec un truc qui sort de nulle part, d'un coffre-fort, qui semble être tombé limite de l'au-delà, quoi, tu vois, où tu te dis, ok, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est limite cryptique, tu vois. Ben voilà, ça continue d'être cryptique, il dit lui-même. C'est limite, tu décides de ce que ça veut dire, puisqu'en fait, le mec n'est plus là. Pour le dire, pour venir le mentionner. Donc, c'est au vivant. Mais comme on le disait la semaine passée, c'est le problème, c'est toujours pour les vivants qui restent de se démerder avec ça. Et toi, t'es là, t'es morte, t'en as plus rien à foutre. T'es là, eh bien, maintenant, démerdez-vous avec tout ça, ça n'est plus mon souci.
Oui, et je pense que.
Et notamment.
Une des façons de faire du deuil, c'est d'arriver à en avoir soi-même rien à foutre de ce que la personne décédée pensait ou pas, ou machin, parce que, ça compte plus, enfin. Ça n'a plus d'impact.
Et c'est là où apparemment le thérapeute de Kendall n'est encore du travail, en tout cas avec Kendall, puisque
c'était soir
à partir 1, du moment où...
Séance 1, nuit 1
oui.
De la mort, quoi.
J'avoue, mais comme le gars était là, moi, ok, j'ai trouvé le super gars et vous allez voir, il y a des outils et tout. Bah, en fait, les outils, une fois que Kendall il les a en main et qu'il se retrouve face à un bout de papier à la con avec un prénom, est-ce que c'est barré? Est-ce que c'est souligné?
Je lance le sondage dans le chat en fait, immédiatement. Et comme je suis généreuse, je vous laisse
les pédales.
5 minutes entières pour voter parce que c'est la question la plus importante de cet épisode, probablement.
Bien sûr.
À part, est-ce juste.
Alors, pour toi, c'est quoi?
Alors, pour moi, c'est barré. Pour moi, c'est barré de fou.
Bah, bien sûr que c'est barré.
Bien sûr, hein, on est d'accord. Parce qu'il y a, donc, il y a ce truc.
C'est évident que c'est barré.
Pour les quelques personnes qui ne regardent pas Succession, mais qui écoutent quand même ces débriefs, c'est un papier qui dit que, à un moment, il y a environ 4 ans, il y avait un papier, pour le coup, tapé à l'ordi, qui dit que Logan, entre autres choses, on va en parler parce que Internet a décrypté les plans rapides sur la feuille, qui dit qu'il voulait que sa boîte revienne à Kendall Logan Roy. Et plus tard, a priori dans les 18 mois précédant le moment où là la saison se passe, donc à un moment qui était dans l'intrigue de Succession, de la série qu'on a vue, il est revenu à ce papier, il a ajouté des trucs au stylo Bic sans les dater, donc on ne sait pas exactement de quand ça date, et il ne les a pas fait valider par un notaire, un avocat, etc. Et il a soulibarré Kendall Logan Roy, c'est-à-dire que ça commence comme souligné en dessous, mais ça remonte sur la fin pour barrer. Et du coup,
ouais, c'est surtout
c'est souligné ou barré?
C'est la main d'une vieille personne qu'on imagine bien trembler, tu vois, qui est incapable de faire un trait correctement. C'est tellement malin, ce move-là. Scénaristiquement, c'est tellement drôle. Ça marche. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu ferais pas ça, tu vois. Et pour moi, ça en dit tellement long aussi sur la façon, sur le rapport que Logan pouvait avoir avec les gens dans ses propres relations, où il passait son temps à souffler le chaud et le froid. Mmh. Là, il soulibarre le bordel.
Alors, mais je pense pas qu'il l'a fait exprès de soulibarrer. Tu vois, je pense pas qu'il était là. Ça va
inconsciemment.
Bien les niquer quand je serai mort et tout. Mais
inconsciemment, il l'a soulibarré le bordel. C'est-à-dire que inconsciemment, il était tellement incapable de décider et de venir dire qu'en fait, il préfère se dire tiens, en fait, on verra bien. Enfin, vraiment, j'imagine bien inconsciemment le bordel qui dit tiens, tu vas voir, ils vont se démerder avec ça et puis ça sera pas mon problème quoi.
Oui, clairement.
En tout cas,
je
l'ai lu comme ça.
S'il avait, je ne suis pas sûre qu'il ait réfléchi à l'impact de ce papier, mais s'il y avait réfléchi et qu'il avait compris la merde que ça allait foutre, il aurait fait super. On le garde, on touche
bien
rien,
sûr.
On rajoute rien.
On l'imagine très bien. On l'imagine très bien là-haut en train de se marrer.
Ah bah le gars est vraiment MDR. Bon, il y a une unanimité pour la team barrée pour l'instant dans le sondage sur le chat.
Bah
toi
oui.
Et moi, on est d'accord. Moi, une des raisons qui me fait penser tu reviens jamais sur un papier pour souligner un truc plus, ils nous ont noté dans le chat que c'est au crayon de papier et pas au Bic. En fait, Logan, il va jamais s'asseoir pour souligner 3 ans après, oui, c'est bien Kendall Roy, alors qu'entre-temps, en plus, on sait que Ken lui a fait les pires crasses. Donc, je suis là, bah, frère, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, est-ce qu'il a rouvert ce papier pour souligner ton nom, tu penses? Est-ce que c'est le genre de ton daron? Je doute. Ah, il y a Calistera qui demande, est-ce qu'on a vu la note? C'est en diagonale. Alors oui, on l'a vu dans l'épisode. Et dans le podcast officiel Succession de cette semaine, du coup, il y a la meuf qui a géré notamment tout l'aspect props, donc les décors, les accessoires, les costumes et tout, et qui a parlé déjà de la fierté qu'ils avaient ressentie dans l'équipe de scénaristes quand ils avaient eu cette idée de, ok, on va avoir une lettre qui n'a pas d'impact légal. Parce que c'est pas Logan qui décide qui reprend la boîte, mais qui va quand même déjà tous leur retourner le cerveau. Et quand ils ont eu l'idée de « Attends, c'est soulibarré », c'était genre « Oh my god, ok, c'est ça ». Et moi, j'avoue que le papelard, j'étais là « Ok, bon, c'est un peu Agatha Christie, tu vois, il y a un truc dans son testament, d'entre les morts, on sait pas d'où ». Mais quand j'ai vu le trait souligné barré, j'ai fait « Ça, c'est du Succession, tu vois, ça, c'est le génie ». Et du coup, il y a eu plein de versions différentes. Genre, il y a des gens dont le métier, enfin, des gens, une personne probablement dont le métier, c'était de souligner barré Kendall Logan Roy sur différentes versions papier de ce papelard, jusqu'à avoir celle où ils ont dit « Ok, là, c'est assez ambigu ». Parce qu'en vrai, c'est ambigu, tu vois. T'as vraiment la moitié qui est soulignée, je dirais, et l'autre moitié qui est barrée, donc on pourra jamais savoir. Et Kendall pourra jamais savoir. Et personne pourra jamais savoir. C'est ça, le génie de la chose, quoi.
Mais Kendall, à la fin de l'épisode, il s'en rend compte, non? Pour moi, il est malin, quand même. C'est-à-dire que, certes, ils sont tous incompétents à plein de niveaux et tout, mais Ken, il est quand même malin, il se rend bien compte qu'il y a un moment donné où.
Mais en fait, ils sont.
Ce truc.
En vrai, ils sont tous trop malins pour continuer à croire que leur père était sympa, mais ça les a pas empêchés, tu vois. Ils ont quand même tous cru aux sirènes de Kendall. Alors, pourquoi ils décident de montrer ce papier aux enfants, les grandes personnes, à ton avis? Je vois que ça a débat sur le chat de pourquoi ils ont pas juste fait le truc de Carl de. ce papier disparaît. De toute façon, en plus, voilà, légalement, c'est moins grave, quoi. C'est pas on déchire le vrai testament du gars et ça va juste trop faire chier. Pourquoi il décide d'appeler les enfants et de leur dire « Écoutez, il y a ce papier qui dit des trucs. »
Parce que Logan les a matrixés toute leur vie et qu'en fait, il continue de les matrixer. C'est-à-dire que pour moi, il y a une forme de loyauté complètement foireuse à ce moment-là qui n'a aucun intérêt, comme tu le dis, légal, qui ne sert strictement à rien d'autre que de foutre le bordel. Mais bon, en fait, c'est leur vie depuis 40 ans. Comment tu veux qu'ils fassent autrement, tu vois?
Ok, ouais, c'est intéressant. Je vois ce que tu fais, assez Logan. D'accord, je pense. Bah ouais, il est fort et il est mort que depuis 24 heures, même pas. Donc, il y a aussi ça, c'est qu'ils sont en train d'opérer dans le même système que d'habitude. Pour moi, il y a un côté où ils savent que le papier n'est pas légalement incriminant. Donc, il y a quand même un vrai... Tu vois, ils vérifient quand même dès le début que ça ne va pas mettre un des gamins à la tête de la boîte légalement. Je pense qu'ils sous-estiment peut-être un peu la capacité des gamins à s'unir aussi. Je suis pas sûre qu'ils s'attendent à ce que Ken prenne le job. Et en même temps, la plupart, ils étaient partis dans l'idée de toute façon, on va vendre notre parachute doré. Enfin, tu vois, ils ont pas toute une carrière à sauver, quoi, là, donc ça va. Ils prennent pas un risque fou. Et pour moi, il y a un vrai truc de la meilleure façon de garder un secret, c'est entre trois personnes, c'est qu'il y en ait deux qui soient mortes, tu vois, comme disait, je crois, le générique de Pretty Little Liars. Et en fait, à partir du moment où Frank, Carl et Jerry le savent, s'ils le disent pas au gamin, il y en a un des trois qui le dit au gamin et les deux autres, ils sont morts, tu vois.
Oui.
S'ils disent au gamin, il y avait un papier de votre père avec ses dernières volontés, parce qu'en plus, il y a aussi des trucs sur, on en parlera, mais il y a des trucs sur ses volontés pour quel type de service funéraire il veut et tout, donc il y a ça aussi. Et là, je te rejoins, Fab, sur, il y a peut-être un truc de respect, entre guillemets, aussi pour l'homme, tu vois, de, bah, vas-y, c'est une de ses dernières volontés, littéralement, pour après sa mort. C'est pas un truc qui, légalement, nous fout totalement dans le zbeul, donc on va pas aller jusqu'à le brûler, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû avec le recul?
Non, parce que ça aurait sans doute fait une fin de série moins intéressante.
Oui, c'est vrai. Non, je veux dire pour leurs propres intérêts. Parce que, alors attends, il y a Skazam qui est en échec 8D qui dit, et Steel Marty qui dit, c'est un calcul pour diviser les enfants aussi. Et Skazam qui dit, est-ce qu'il n'y a pas Carl et Frank qui veulent mettre à mal la candidature de Jerry, la petite princesse? Oui, ça
c'est
aussi.
C'est possible. Hein.
Je pense que ça joue aussi. Et moi, je trouve que cet épisode, il montre très bien que l'incapacité des gens à s'unir, qui a été créée par Logan, qui a monté tout le monde les uns contre les autres, ça fait que, bah, par exemple, en fait, je pense que si tous les anciens du board, ils se réunissaient solidement pour dire, on va faire front commun derrière Jerry, par exemple, et on va dire au board que les gamins, ils sont pas prêts, qu'ils sont pas compétents, qu'ils ont pas assez d'expérience, qu'ils sont clairement instables. Enfin, Ken, d'où Ken, c'est un candidat légitime, tu vois. Même Roman, il lui dit, mec, t'as vraiment essayé d'envoyer papa en prison 12 fois. Enfin, c'est quand même... ou de couler la boîte 12 fois, ou les deux, tu vois. Je pense que si le board avait réussi à s'unir, ils auraient pu gagner. Un peu comme si les enfants Roy avaient réussi à s'unir, ils auraient pu gagner.
J'allais te dire.
Ouais. Et du coup, c'est marrant qu'ils sont pas, ils sont dans le même bateau, en fait.
Parce que Logan fait ça, c'est-à-dire qu'il divise pour mieux régner. Et donc, les gens, une fois qu'il est plus là, en fait, sont incapables de se retrouver. Et la preuve, là, en fait, les gamins se déchirent, c'est-à-dire que dès qu'il est mort, leur alliance, alors certes, on la sentait fragile, hein, l'alliance des enfants, mais là, le daron, il est mort, c'est finito, quoi. C'est, ça se sent, et en fait, je me demande vraiment.
Là, très vite, hein, ça va très très vite être finito. En fait, dès que Frank y dit, le papier, il disait Kendall Roy, t'as vraiment, alors t'as un plan sur Jeremy Strong en Kendall qui est vraiment en mode. Here we go again, let's go! Et derrière, t'as Roman et Shiv qui se regardent en mode. Here we go again, tu vois, ok, bah, ça va jamais marcher, mais on le savait que, comme disait Ramsay Bolton,
temps,
si tu
j'aime
penses
bien
que ça,
ça
finit bien, tu n'as pas été attentif, quoi.
Oui. En même temps, j'aime bien aussi l'aspect, ça vient appuyer sur l'aspect d'addict total de Ken, qui est, ok, en fait, il y a de la bonne à me foutre dans le pif, let's go, quoi. C'est ce fameux truc auquel j'ai cru il y a, on imagine, 4-5 ans, quoi. Et qui m'est passé sous le nez, j'ai le droit d'y replonger là.
Lui, il a vraiment été, on a compris en tout cas de façon étude et business, élevé dans tu vas être le PDG de la boîte jusqu'à ce que son père l'éclate saison 1. Donc effectivement, ça a été son drive toute sa vie. Shiv fait une référence à ça dans l'épisode. À un moment, elle lui dit « Stop jonesing », c'est genre des symptômes de semi-manque, semi-fébrilité de la drogue. Ou en gros, elle lui dit vraiment t'es... Mec, t'as l'air sous crack, donc peut-être si tu veux qu'on prenne au sérieux le fait que c'est une bonne idée, là on a juste l'impression que c'est toi qui reviens à tes addictions, quoi. Et je pense que c'est vrai, c'est que la plus grande addiction de Kendall, c'est pas de son père. Et bah, dans la, au tout début de la saison 4, quand ils sont en train de monter peut-être The 100 avec son frère et sa sœur et peut-être pas, il dit, en fait, dans ma vie, j'ai pris l'héroïne et il va me falloir donner un truc qui est au moins assez fort pour mon cerveau. J'ai vraiment besoin de m'occuper. Et je pense que, bah là, on peut dire qu'il est occupé, Kendall Roy.
Là, il est reparti, là.
Le gars est busy. Alors, on va parler de ce qu'il y a sur ce papier selon les enquêteurs et enquêtrices de Reddit, qui sont mes personnes préférées au monde, comme nous le sachons. Alors,
hop.
Donc, sur Reddit, sur le subreddit Succession TV. Donc, si vous ne savez pas, Reddit, c'est un grand forum sur lequel discuter sur les internets, notamment anglophones, mais pas que. Il y a Educational Green 711. On rend à César, qui a essayé de décrypter parmi différentes captures d'écran ce qui peut être marqué de plus sur ce bout de papier, puisqu'ils n'arrêtent pas de l'appeler « piece of paper » dans l'épisode, en plus de le truc de Kendall Logan Roy. Donc a priori, c'est « ceux qui gèrent mon testament et à ma famille, voici des ajouts et des clarifications pour ajouter à ma lettre officielle de mes souhaits dans l'éventualité de ma mort ». Blablabla, des informations personnelles mais aussi financières, blablabla. Je vous mets le lien dans le chat, comme ça vous avez la version longue en anglais, mais je vais vous passer les trucs qui sont juste... voilà, ici on va parler de ceci et cela. Donc il dit, c'est ma préférence que le titre et le rôle de PDG devraient revenir à Kendall Logan Roy, et la personne sur Reddit a même réussi à faire un truc où il semi-souligne Solibar sur Reddit. Donc bravo, bravo pour ça. Il dit que pour ses funérailles, il veut que ce soit des funérailles catholiques, de l'église catholique. On sait qu'il a grandi catholique en Écosse. Il dit ses hymnes préférés, Amazing Grace, I Watch the Sunrise Lighting the Sky, Le Seigneur est mon berger, tout ça. Il souhaite être enterré avec, a priori, alors c'est pas très clair, mais en reliant des bouts du papier qu'on a pu screener et un truc que dit Franck, il veut une photo de sa sœur Rose dans sa poche quand il est enterré. Donc toujours ce fameux mystère de qu'est-ce qui est arrivé à sa sœur. Et une photo de Marcia dans la poche droite dans sa poche de poitrine droite. Donc il veut être enterré avec une photo de Marcia, selon ce papier qui date, encore une fois, d'il y a 4 ans.
D'il y a longtemps.
Mais qui n'a pas été updaté là-dessus, en tout cas. Et il voudrait changer l'épitaphe sur sa pierre tombale. Dans un proverbe, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver la version biblique, mais c'est quelque chose autour du mensonge, si j'ai bien compris. Une affirmation vraie reste toujours valable, mais les mensonges ne tiennent qu'un instant. Le mec, il veut ça sur sa pierre tombale, a priori, donc vraiment tight. Il dit que certaines choses devraient rester dans des coffres. Alors ça, apparemment, ils en parlent un peu dans l'épisode. Il a des tableaux impressionnistes de Gauguin, des œuvres d'art, etc., qui gardent dans des coffres pour des raisons fiscales, plutôt que de les rendre accessibles au public, ce qui est genre...
Pour des raisons fiscales.
La droite. Non, la meilleure chose, c'est que quand ils disent ça... En fait, personne sait ça dans la famille à part Roman. Roman, c'est le seul qui dit « Oui, papa, il avait des impressionnistes, des Gauguins et tout », ce qui montre aussi qu'il était plus dans les bails de son daron ces dernières années. Mmh. Et il dit « Mais personne ne les a jamais vus pour des raisons fiscales ». Et Shiv, elle fait une blague cynique où elle dit « Bah, il a qu'à les brûler pour l'assurance, au pire ». Et Carl, il dit « Financièrement, ce serait le rêve ». Ce serait pas bien, mais financièrement, ce serait le rêve. Je suis prêt. Va acheter ta putain d'île grecque, là. apparemment, il laisserait une montre. Alors, c'est pas là-dessus, mais je l'avais vu dans d'autres trucs. Il laisserait une montre qui vaut plusieurs millions à Colin, son garde du corps et son best pal, comme on le sait maintenant. Et alors, donc ça, c'est les trucs dactylographiés. Et alors, qu'est-ce qui a été rajouté à la main? NRPI, No Real Person Involved, le fameux slogan de Logan Roy pour les affaires dans lesquelles des prolos meurent, comme le scandale des croisières, mais aussi le crime commis par son fils. Donc il y a une ligne qui dit NRPI, un truc sur des antiquités, peut-être des mots qui disent école de journalisme, point d'interrogation, sachant qu'une école de journalisme en son nom a été ouverte pour sa célébration à Dundee. Ils avaient fait des vannes en mode c'est comme si Kadhafi ouvrait une école des droits de l'homme, tu vois, genre c'est vraiment la pire personne pour parler journalisme. Et le fameux Greg, point d'interrogation. Comment interprètes-tu ce Greg, point d'interrogation, mais aussi la présence globale de Greg dans ce moment, qui est vraiment genre, le gars il rentre, je t'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là?
Ah, Roman qui lui dit, il a écrit ton prénom pour pas l'oublier, je trouve ça tellement... Écoute, je sais pas, je sais... Je sais pas pourquoi. En fait, pour moi, c'est le moment où Greg rentre dans sa vie. Tu vois, si c'est vraiment ça, c'était au début de la saison 1.
C'est, bah là, ça fait à peu priori, à peu près 18 mois, et le début de la saison 1, c'est flou, mais on est peut-être plutôt sur 2, 3 ans, voire 4. Donc Greg était déjà dans sa vie, mais il commençait à apprendre du galon, tu vois, à rentrer chez ITN avec Tom et tout, il y avait peut-être ça aussi.
Ouais, et puis il y a l'histoire avec son grand-père, enfin, avec son frère, donc. Enfin, pour moi, il doit y avoir une histoire comme ça, parce que qu'est-ce que viendrait foutre Greg, il faudrait revoir tous les épisodes. Est-ce qu'il y a un moment donné où il était dans ses petits papiers, parce qu'il a quand même, eu le dos avec les croisières.
Ouais, mais je sais pas, je pense pas qu'il était dans les petits papiers de Logan. Mais ouais, les histoires avec Greg, c'est quand même Greg, c'est le mec qui a. En fait, quand Kendall trahit Logan en faisant le speech sur Logan, c'est la pire personne et c'est le responsable du scandale des croisières. C'est avec des documents que Greg lui a filés. Donc peut-être que Logan était en mode, est-ce que c'est Greg la source ? Peut-être qu'à un moment, il s'est demandé, est-ce que je devrais coacher Greg, le groomer et en faire mon successeur parce que les autres sont nuls ? Peut-être qu'il y a eu cette question légitime. Mais peut-être que c'est, Greg qui m'a trahi, sachant que voilà, il y a marqué pas de vraie personne incriminée. Est-ce que c'est pas quand Logan a utilisé Greg contre son frère ? C'est possible. Est-ce qu'on sait à quel endroit du papier il a griffonné Greg ? Alors en bas, normalement sur le truc Reddit, je pense que vraiment les nerds, je vous aime trop. Je pense que vous avez la photo du coup du papier. Greg, c'est la partie rajoutée à la main. T'as le sous libéré de Kendall. T'as un truc encadré et sinon tout en bas à droite, t'as des petites notes dont Greg.
Merci Walid.
Merci
pour
Walid.
La photo dans le chat.
Tout à fait. Je vous mettrai tout ça dans les notes du podcast. Donc ouais, on n'est pas sûr de l'implication de Greg, mais lui il se dit peut-être ça veut dire que je suis numéro 2 de la boîte. Bof, mais la confiance néanmoins. Il y a un dicton féministe qui dit qu'on m'octroie la confiance en lui d'un homme blanc médiocre et je pense que Greg est la personnification de ce dicton en une personne fictive vraiment.
Oui, exactement.
Je le.
MDR.
Et juste après ça, on a la scène trop jolie entre Franck et. Enfin, moi j'ai trouvé trop jolie. Entre Franck et Ken. Rappelons que Franck est le parrain de Kendall et bah c'est ce moment où tout le monde s'en va et laisse Kendall en fait accuser un peu le coup de attends il y a quand même un papier où mon père a dit qu'il voulait que je sois PDG ce qui est genre le truc que j'ai voulu qu'ils me disent toute ma vie donc c'est quand même je vais encaisser le coup quoi et il y a cette idée de est-ce que c'est barré est-ce que c'est souligné qu'est-ce que t'as pensé de cette discussion filleul parrain avec Franck
bah il essaie tant bien que mal d'expliquer à Ken que il n'est pas obligé de se prendre la tête avec ça et que en gros c'est sa vie qui compte quoi. Mais c'est trop tard.
Il pourrait get out. Il pourrait sortir de là.
Qu'est-ce que tu veux qu'il get out ? Il peut pas get out de quoi que ce soit. Il est emprisonné dans ce bordel depuis toujours et en fait s'il a le moment où il a pu get out, souvenons-nous-en, c'était le moment où il réclamait la thune et de se barrer et que Logan lui a dit fuck off.
Il réclamait parce que son père lui a envoyé une carte d'anniversaire qui dit prends ta thune et casse-toi. Donc ça sortait pas de nulle part quoi. C'est Logan qui lui a proposé à la
base. Il lui a dit ça. Et la seconde, et genre la semaine d'après, il lui disait bah non, en fait c'est pas possible. Après avoir fait goûter le dessert, le plat que Kendall lui avait fait, lui avait préparé par son fiston. On est vraiment. Donc, ouais, j'ai trouvé ça à la fois très émouvant et en même temps très triste de, bah, en fait, t'as beau dire tout ce que tu veux, Franck, c'est trop tard, en fait. Ces gamins, ils sont tous fuckés jusqu'à l'os, quoi, jusqu'à la moelle. Ouais.
Quand tu vois l'intensité du regard de Kendall et de Jeremy Strong, du coup, au moment où, enfin, depuis le moment où Franck a dit, et il semblerait que votre père ait voulu que ce soit Kendall qui soit PDG, le mec, il est. Enfin, c'est aussi un comportement d'addict, tu vois. Alors, ils ont tous un comportement de. Enfin, c'est les parents toxiques. Tu crées une relation de dépendance qui est pas saine. Mais Kendall ayant eu ses problèmes d'addiction et tout, c'est vraiment. C'est dire à un mec, t'es pas obligé de reprendre cette dose, tu peux juste partir, tu vois. Genre, a priori.
Ouais.
La plupart du temps, le mec la reprend, quoi. Est-ce que tu penses que c'était un peu un calcul de la part de Franck aussi, qui. Bah, comme on a vu, la vieille garde. A plutôt à gagner que les enfants reprennent pas la boîte plutôt qu'ils reprennent. Et je trouve que c'est un peu un thème de tout cet épisode, c'est à quel point quand les gens ils se parlent, comme on disait, à quel point ils sont capables d'être humains et à quel point ils sont obligés d'être en mode business ou juste incapables de désactiver ça, quoi.
Ouais, mais en fait, peut-être que c'est un calcul de la part de Franck, mais peu importe, parce que je trouve que dans le fond, il a raison. Il devrait, en fait, il a raison quand il lui dit, mais va vivre ta vie et pourquoi tu reviens dans ce trou que dont tu voulais partir et en fait, dans lequel t'as plus rien à faire. Il a tellement raison. Mais d'un autre côté, donc peut-être que c'est un calcul politique stratégique, mais je trouve que pour le coup, c'est sincère et il a raison, quoi, tu vois.
Oui, je suis d'accord.
Pour moi, il veut du bien à Ken, tu vois.
Et comme il se trouve que le bien de Ken coïncide un peu avec ses intérêts personnels, ça tombe pas plus mal, quoi. Mais je pense que c'est une saison et un épisode où c'est beaucoup les deux sont vrais. Oui, c'est un peu calculé, mais ça veut pas dire que c'est pas sincère et ça veut encore moins dire que c'est pas une bonne idée pour Kendall, effectivement, d'aller vivre sa vie et de pas s'occuper de est-ce que mon père il voulait vraiment machin et tout. Alors, il y a la vraie tortue là qui est en théorie Reddit. Quelqu'un a parlé de l'hypothèse que la team de la vieille garde ait volontairement fait ce fameux sous-libérage pour semer la zizanie, car il y a une ellipse bizarre entre la découverte du papier et le brief aux enfants. Alors oui, c'est des trucs que j'ai vus aussi. À quel point ils auraient pu modifier le papier, à quel point Franck a peut-être rajouté lui-même ces trucs pour que le papier il soit vraiment confusant. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Bah, comme dit French Fry, je suis d'accord. Je pense qu'ils sont trop fidèles à Logan. Pour moi, c'est vraiment... C'est des hommes-liges, hein. C'est des sous-fifres de Logan depuis des années, en fait. Je n'imagine pas qu'il y en ait un qui dit « Non, mais moi, je vais prendre le truc, je vais le barrer à moitié, je vais le souligner. » Non, pour moi, c'est too much. C'est vraiment un move de Logan pour moi.
Ouais, pour moi aussi. Et je pense qu'en fait, si ce papier, il les embête autant, ils le détruisent, tu vois. Ils s'embêtent pas à faire ce truc qui n'existe pas, de souligner, barrer et tout. Par contre, je pense que dans le montrer aux enfants, donc il y avait ce truc de destruction mutuelle assurée de toute façon maintenant qu'ils sont trop à le savoir, autant le rendre public. Mais peut-être aussi un peu de, oui, ça va semer un peu la zizanie parce qu'on a vu que les enfants, ils ont tendance à se tirer la bourre pour qui va être chef. Et au final, bah, comme ils n'arrivent pas à s'allier non plus, c'est les enfants qui ont gagné cette fois-ci. On va voir le temps que ça dure. Moi, j'ai trouvé cette scène très belle et je trouve que aussi Franck, enfin, il dit les choses et c'est un peu un écho parfois de la figure du père que Kendall aurait pu avoir eu, tu vois. Aurait pu avoir, mais il serait jamais Kendall et sa vie serait différente, mais il a un vrai rapport. Et je pense que quand il lui dit, en fait, ton père, c'était un old bastard, donc c'était un vieux difficile, mais oui, il t'aimait. Et oui, parfois.
Un vieux salaud.
Ouais, un vieux salaud, c'est ça. C'était un vieux salaud, mais oui, il t'aimait. Et oui, parfois. Il pensait que tu devais avoir la compagnie. Parfois. Tu vois, il lui ment pas, il est là. Oui, c'est vrai. Des fois, c'était vrai. Et des fois, c'était pas vrai. Et il lui dit, tu le sais, c'est vrai. Kendall, il est au courant, quoi. En parlant de choses qui sont à la fois calculées et à la fois réelles, juste après ça, Tom rattrape Shiv dans les escaliers. Qu'est-ce qu'on en dit de ce moment, Fabrice ? Là, t'as l'air blasé. Hein. Pour l'audio description, pour les auditeurs et auditrices de podcast, Fab vient de poser la tête dans sa main en mode...
Pour moi, c'est d'une tristesse ce moment parce que donc Tom explique. En fait, Tom essaie de faire revenir Shiv au tout début de leur relation et à quel point il a pu être un support pour elle. Et en plus, c'est avéré puisque c'est Shiv qui en parle, je crois, et qui dit moi, quand j'ai rencontré, c'était un mess. Et en gros,
ça fait plusieurs fois qu'on a cette idée de quand ils se sont rencontrés, Shiv, elle, on ne sait pas pourquoi, mais elle était vraiment pas bien.
Ouais. Et il essaie de remettre de l'empathie et de la connivence entre eux et de aussi rattraper un peu ce truc de, bah, en fait, souviens-toi pourquoi on est ensemble, etc. Et il se prend une bâche d'une violence. Et effectivement, comme tu dis, c'est sans doute un peu calculé, mais pour moi, il y a aussi un côté, on est, je crois, d'accord, toi et moi, pour dire que Tom est toujours amoureux et était amoureux de Shiv et l'est toujours, sans aucun doute. C'est pas lui qui veut ce divorce. Je me demande d'ailleurs s'il va finir par apprendre que cet enfant existe et comment il va le prendre. Parce que ça risque de le détruire, quoi.
Ah
vraiment.
Oui, je pense que pour le coup, le truc du gamin, ça, si c'est pas Shiv qui décide de se remettre avec lui et qui lui dit, voilà, je suis enceinte, on va l'élever ensemble, si c'est Shiv qui lui dit, j'ai un gamin et il sera jamais dans ta vie, Ça va être dur, ouais. Mais je pense que ça va bien finir pour Tom, donc je pense pas que ça va finir comme ça.
Tu crois? Parce que toi t'es dans la théorie du générique.
Non, même au-delà de la théorie du générique, en fait, je pense que c'est un peu tragique pour Shiv si elle se remet avec Tom, parce qu'elle saura jamais.
Ah oui.
En fait, c'est comme Kendall, il saura jamais si son père il a barré, enfin il l'aimait ou pas. Et je pense que si Shiv elle se remet avec Tom à ce moment-là où elle est fucked up et où Tom il a zéro autre allié, elle aura toujours en tête est-ce qu'il s'est mis avec moi parce qu'il avait zéro autre allié ou est-ce qu'il avait vraiment envie qu'on continue, tu vois, c'est compliqué.
Ouais.
Mais après, dans la scène de oui. C'était l'épisode 2 où ils se tiennent la main le soir là, ils se retrouvent et... non, épisode 1 je crois même. Elle vient chercher des fringues, ce qui d'ailleurs dans ma tête, j'étais là, elle vient chercher des fringues parce qu'elle est enceinte et que du coup les fringues qu'elle a pris il y a 3 mois, elles lui vont plus. J'étais là, putain, c'est malin. Ils finissent par divorcer, enfin acter qu'ils vont divorcer et se tenir la main, et il y a de l'amour, il y a de la tendresse là-dedans, tu vois, je le nie pas. Mais je pense que là il y a trop de calcul dans ce que fait Tom. On voit vraiment tout l'épisode où il essaye de trouver une alliance en appuyant sur les boutons qui marchent chez cette personne. Et du coup, le fait que... Moi, je trouve que Shiv a la raison de lui mettre un stop, tu vois. Et en plus, genre, on a jamais vu Tom s'excuser de ce qu'il a fait. Il lui a jamais dit « je suis désolé », tu vois. En partie parce qu'elle l'a pas laissé. Mais là, bah, il lui parle, il pourrait lui dire « je suis désolé ». En fait, il lui dit... Il lui dit pas « voici comment tu pourrais aller mieux », il lui dit « voici comment je pourrais te faire aller mieux ». Et voici pourquoi t'as besoin de moi. Je suis là, Tom.
Oui,
Tom.
Et d'un autre côté, on se souvient tous de cette... Il y a eu plein de moments où Shiv, elle est odieuse avec lui, en fait. Donc, c'est dur de continuer à être amoureux de quelqu'un qui fait tout pour t'éloigner de toi, tu vois.
Oui. Et rappelons-nous cette phrase tragique de Tom, saison 2. Je ne sais pas si la peine que je ressens, que je ressentirais sans toi, ne serait pas moins pire que la peine que je ressens en étant avec toi. Qui est vraiment une phrase dure à dire à la personne qu'on a épousée il y a moins d'un an, rappelons-le, parce qu'ils sont mariés pendant la série, quoi. Donc, moi, cette scène, elle m'a brisé le cœur, mais j'étais fière de Shiv. J'étais un peu en mode, t'es pas tombée dans le panneau, girl, tu vois. Et je dis pas que ton couple avec Tom il te rendrait malheureuse, mais je pense que là il est pas là pour les bonnes raisons là tout de suite. Et en fait Shiv elle est en hyper protection tout l'épisode, et bah je trouve malheureusement que l'intrigue lui donne raison de l'être. Et je suis là, en fait t'aurais cédé à Tom, tu te serais laissé être vulnérable avec lui. Probablement que dans 2 épisodes il te l'a fait à l'envers, parce qu'en fait toute ta vie les gens, et notamment les hommes puissants, parce que Shiv c'est aussi la seule meuf de cette foutue famille, ils te l'ont fait à l'envers, quoi. Donc maybe casse-toi, élève ton gosse et arrête de croire les hommes. Les hommes de cette famille, finalement. Il y a Steel Marty qui demande, mais il sait qu'elle sait. Alors, si la question, c'est est-ce que Tom sait que Shiv sait que c'est lui qui l'a trahi auprès de Logan ? Oui, puisqu'elle voit à la fin de la saison dernière Logan faire une accolade à Tom, et c'est la seule à le voir. Par contre, je ne sais pas si les autres, si Kendall et Roman savent, en vrai. Ça, c'est toujours un peu un mystère. Et je me dis que s'ils le savaient, ils l'auraient rossé dessus, tu vois, surtout Roman. Genre, il lui aurait dit « Bâtard, tu m'as trahi auprès de mon père, jamais je te parle », tu vois, mais personne lui en parle, donc je suis là... Peut-être qu'elle l'a pas dit à Kendall et Rome, ce qui fait que, si elle se remet avec Tom, bah ça va peut-être passer parce qu'ils savent pas que Tom les a trahis auprès de leur daron, quoi. Ah oui, tout à fait, Malaka dit « Je pense que les autres ne savent pas parce qu'ils sont surpris quand elle annonce le divorce ». C'est vrai que quand elle annonce qu'elle va divorcer de Tom, Kendall et Roman sont surpris. Mais oui, c'était triste cette scène, et en même temps, je pense qu'à la fin, ils finissent ensemble, et je pense que c'est pas une bonne chose, donc... Notez ça dans votre carnet, prédiction de madame.
De prédiction.
De Mimirma. Tout à fait. Ensuite, il y a ce moment un peu chelou avec le mec républicain qui fait un discours de droite. Menken qui arrive, mais finalement non. J'ai pas trop compris, je t'avoue, ce passage. Et pourtant, je suis la première à réclamer de la politique dans Succession, mais là, j'étais en mode.
Bon. C'est une façon comme une autre de venir redire que déjà il y a l'élection qui arrive. En fait, l'importance de Logan dans tout ce système et dans les décisions politiques au niveau du pays, quoi. Mais effectivement, ça sert trop à... J'ai trouvé que ça servait trop à rien, quoi. Si, pour moi, le seul truc marrant, c'est Tom qui fait des vannes à Greg, et Greg qui répond à un truc débile du genre « il a dessiné en forme de bite
oui, ». Il a modelé le pays pour en faire une bite. Et Tom qui est là, mec.
Il l'a regardé tellement mal.
Tu as vu l'écriture du show, c'est sharp. Toi, tu dis, c'est une bite. Ça, ta vanne. Wesh. Ça juge, hein. J'adore que Tom déteste Greg. Plus il y a des gens qui détestent Greg, plus je suis contente.
When Kendall came after.
Mais oui, je suis. Alors, mais est-ce que. Enfin, c'est quand même l'occasion, la première fois pour nous depuis l'épisode précédent, où on a une version un peu plus précise de ce qui s'est peut-être passé pour la mort de Logan. Donc, les infos qu'on a, c'est que. Il est mort dans les. Il est mort en essayant de repêcher son iPhone de chiottes bouchées dans son jet qui ont été bouchées par Carl, qui n'a pas mangé de légumes depuis avant la chute du mur de Berlin. Et qui portait pas ses chaussettes de contention, ses bas de contention, pour être sexy pour Kerry. Et on apprend plus tard qu'il est mort d'une embolie pulmonaire. Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu crois pas dans cette version de Tom ?
Pour moi, c'est très possible. Enfin, moi, je suis dans la team. Il a écouté le message de Roman.
Ah oui, ça pose cette question aussi. S'il a recherché son téléphone, c'est peut-être parce qu'il a écouté le vocal de Roman, ouais.
Et en fait, pour moi, il fait son attaque à ce moment-là.
Ok.
Voilà. Fin du jeu. Et en fait, il fait tomber ton iPhone dans le chiotte en voulant se relever et en voulant voilà. Mais pour moi, cette théorie, elle marche. Voilà.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que on revient toujours à ce truc de
pour l'écouter et bah là, il fait son. Alors c'est pas une attaque, c'est une embolie pulmonaire. Et c'est important.
Ouais. De quoi ?
Et c'est important que ce soit une embolie pulmonaire parce que, ok, Docteur Mimi, let's go. Il porte pas ses bas de contention, qui sont des trucs qui permettent de favoriser une meilleure circulation sanguine, pour pas avoir de caillots dans notamment les artères, etc. Il les porte pas. Il est dans un avion où il y a beaucoup de pression et il fait une embolie pulmonaire qui est globalement un caillot. Donc en vrai, je pense que quand Shiva elle dit on l'a un peu tué, enfin on l'a tué parce qu'il est mort dans l'avion et que sans nous il serait pas dans l'avion, je suis là. Peut-être que s'il avait pas été dans un avion, il serait pas mort. Mais peut-être que c'était pas un con qui boit trop de whisky et qui porte pas ses bas de contention, il serait pas mort, tu vois, y a pas de problème. Mais je trouve que c'est intéressant que l'épisode nous donne assez d'infos
il aurait pris
pour
un avion.
Comprendre qu'il est mort aussi sa propre fierté, tu vois, de sa propre.
Il aurait pris un avion whatever, tu vois.
Oui, au pire, il aurait pris un avion le lendemain. Après, quand elle dit il aurait peut-être vécu 20 ans de plus, je suis là. Pff. Ça fait quand même 4 saisons que le gars il meurt de mourir une fois par saison, quoi.
Oui. Et à 85 ans, ça suffit, quoi. À un moment donné, il faut mourir, quoi. C'est bon.
Tout à fait. Ouais, bah voilà, je suis d'accord avec toi. Je ne crois pas à tous les détails graveleux que Tom raconte, mais je crois à l'hypothèse globale qui est il était au chiottes. Je suis d'accord avec toi qu'il a probablement essayé d'écouter le message de Roman parce que il était hyper sharp sur quand est-ce que Roman il va virer Jerry et tout. Donc je pense qu'il a vu qu'il avait un vocal de Roman. Ah, tu penses qu'il
l'a écouté, je crois que c'est. Ouais, pour moi c'est ça qui lui crée son malaise.
J'espère que Roman le saura jamais. Mais en vrai, je vois pas pourquoi ça lui créerait un malaise. Son fils qui lui dit, est-ce que t'es pas un peu un connard? Parce que je suis là, ça va, c'est Logan Roy, tu vois, genre tous ses enfants ont dû le traiter de connard au moins une fois. Il a pas fait un malaise quand son gamin a essayé de l'envoyer en prison. Enfin, je suis là, ça va.
Je crois pas que Roman, mais je crois pas que venant de Roman, parce que pour moi c'est ça, c'est qu'en fait Kendall il a l'habitude que ce soit.
Ouais, mais il y a bien
salopard,
une première
etc.
fois un jour, tu vois, où Kendall l'a trahi pour une première fois, je sais pas.
Mais c'est Roman. Et donc, mais pour moi Roman, il avait un statut particulier aux yeux de Logan.
C'est le number
et
one.
Et c'était
boy.
Le dernier un peu. C'était un peu le dernier en qui il avait confiance et en fait qu'il aimait encore en retour, tu vois.
Ok, je vois.
Donc là, il était en train de lui dire putain, mais est-ce que t'es pas un connard?
Est-ce que je vais pas faire les trucs que tu veux que je fasse finalement?
Ouais.
Ok. J'étais pas sur ce lien aussi direct de cause à effet, mais je comprends. Mmh. Je crois à cette hypothèse et je pense que de toute façon, on saura jamais.
On le saura sans doute jamais.
C'est comme le souli barré. Ça fait partie de. En fait, c'est le deuil. Tu sais pas. Il y aura plein de questions sans réponse. Il faut juste faire la paix avec.
Ou le rire de Sandy.
Ah j'adore Sandy. On va pas faire très longtemps parce que c'est un moment très bref, mais vraiment, Sandy arrive et sa fille dit faites pas gaffe, c'est sa tête en ce moment parce qu'il est malade. Et le mec est juste, il a la banane, c'est le Joker.
C'est trop. Tellement bien écrit, putain. C'est tellement bien écrit.
Ah là là. Je l'ai revu hier avec mon copain Mathias que vous aviez vu sur cette chaîne pour The Last of Us et qui revient d'ailleurs la semaine prochaine, supplanté Fabrice Florent qui sera en vacances pour le débrief du prochain épisode. Et au moment où Sandy, avec un i, donc la fille d'eux, dit « Non mais faites pas gaffe, c'est sa maladie qui le rend comme ça » et que Roman dit « Je suis à peu près sûr qu'il vient de me faire un clin d'œil », Mathias a craqué, genre vraiment, il était...
Tellement drôle.
Moi, j'étais
putain.
Surtout contente de revoir Stewie, qui est mon mari, mais aussi mon perso. Un de mes persos préférés, je pense. Vraiment, s'il y avait un spin-off sur Stewie, je m'abonnerais encore une fois à HBO.
Et qu'il y a des fossettes.
Non, mais c'est un peu un arabe avec des fossettes et une barbe, tu vois. Genre, et cette petite mèche un peu grisonnante, là. Bref. Faut qu'on parle de Kerry Fabrice.
Oh là là!
Mais pour moi, c'est l'un des moments les plus cringe, et pourtant il y en a eu beaucoup dans cette série, c'est l'un des moments les plus cringe de toute la série.
C'est horrible.
Vraiment, c'est... En fait, pour moi, c'est les victimes de Logan. C'est-à-dire, pour moi, Kerry, c'est juste Tom, puissance 1000, tu vois, de à quel point elle est paumée, elle est perdue, et en gros, elle misait tout sur Logan. En fait, c'est terrible parce que là, maintenant, elle l'a plus. Et donc, elle est paumée, elle est fucked up, elle est flingasse. Elle revient chercher. On imagine des affaires dans toutes.
Oui,
comme t'as mis dans le récap rigolo, des petites culottes.
Qu'il y ait eu ou pas coup de fil intime avec Marsha tous les soirs, très clairement, Marsha, elle n'était pas à New York dans l'appart et Kerry a bien pris ses quartiers, quoi.
Kerry, elle était là pour Pépon le Vieux, quoi, tu vois, c'est sûr et certain.
Marsha, elle l'a tué hors de
sûr.
Ma vue, mais de fou d'avo. Tu hors de ma vue de suite. Mais non, mais en plus, surtout, Marsha, elle lui a dit, je lui ai dit de pas venir. Donc, elle a eu quand même une interaction avec elle avant. Et bon, bah, en vrai, c'est quand même l'amante de ton mec, tu vois. Je comprends que t'aies pas envie que l'amante assistante maîtresse de ton mec, elle se pointe au funérailles, tu vois. C'est genre, bon, girl, tu as profité quand il était vivant, maintenant il est mort. On va pas non plus pousser le vice à t'inviter à l'enterrement, tu vois. Je peux entendre.
Oui, après,
mais est-ce
elle
qu'on est
pourrait
d'être
juste.
Cruel.
Elle pourrait juste la laisser monter chercher ses affaires et se barrer, se carapater, quoi, tu vois. C'est bon. Mm-hmm. Ça. Un peu. Et d'ailleurs, c'est très étonnant. Roman qui vient un peu à sa rescousse.
J'y ai pas compris.
Pour moi, c'est. En fait, pour moi, ça prouve à quel point Roman est, quoi qu'il arrive dans l'empathie, est le plus empathique des trois enfants. Et qu'il est capable de voir, tu vois, la saloperie quand elle arrive, tu vois, et de comprendre. Et en fait, pour moi, il vient aussi s'identifier directement à Kerry qui est perdue, parce qu'en fait, pour moi, Kerry, elle est juste la façade de ce que Roman, en pré-deuil,
non, mais grâce à son pré-deuil, ne veut pas. Il a fini le deuil, il a fait le deuil accéléré. En voilà. Anticiper, et du coup, c'est bon.
Pour moi, il est juste, ok, en fait, si j'étais pas en train d'esquiver mes émotions, je serais sans doute dans son état. Donc, je vais prendre soin d'elle, en fait.
Ok.
En tout cas, je l'ai perçu comme ça.
Ouais, je comprends. Et le chat est plutôt d'accord avec toi parce qu'ils disent, bah, Roro, c'est un bébou, Roro le faux méchant et tout. Et qu'ils disent aussi, bah, Kerry, elle mérite pas autant de compassion. Marsha, elle a été pas mal humiliée par les amantes de son. Alors non, elle a pas été humiliée par les amantes. Elle a été humiliée par les infidélités de son mec. C'est pas pareil. Elle peut enfin faire quelque chose contre et tout. Est-ce qu'il y a pas peur? Kerry pourrait devenir une grosse épine, nous dit Walid, pour la famille via un futur deal avec un média pour tout révéler. Donc il y a beaucoup de, comme d'habitude dans Succession, il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent au-delà des émotions. Moi j'ai été très surprise de l'attitude de Roman qui est normal, quoi, qui est une réaction d'humain normal. Et on a vu Roman être un peu sympa avec des gens, mais rarement de façon aussi normale. Donc j'étais à quoi ? Et aussi public, parce qu'il y a aussi ce truc de, en gros, il vient prendre soin de la meuf pestiférée, personne la touche avec un bâton. S'il y a bien un consensus dans 100% des gens présents dans cet épisode, c'est on peut rouler sur Kerry, il n'y a pas de problème. On n'a jamais vu Roman avoir... Enfin, l'épisode précédent, il se foutait de la gueule de son audition, tu vois, et c'était le premier à dire « on va la regarder 14 fois » et tout. Donc j'ai un peu un truc dans ma tête qui me dit « soit c'est un calcul, parce qu'on le voit qu'il lui demande plusieurs fois son numéro personnel, et je pense que le
tu
calcul... »
Tu sais ce qu'il veut savoir.
Il veut savoir
tu
si
sais
son père
veut savoir.
A écouté le message.
Écouter le message,
ouais,
tout simplement.
Je pense qu'il y a de ça. Il y a peut-être même un calcul un peu plus profond de, bah, elle sait des trucs, tu vois, elle était avec lui très proche de lui sur ces derniers mois, donc peut-être qu'elle sait des trucs. Et effectivement, bah, c'est peut-être aussi, pour le coup, elle a l'air bien, dans une phase du deuil très chaotique, Kerry, donc, en effet, c'est peut-être un côté bombe à retardement. Après, je pense honnêtement que quand tu deviens la maîtresse de Logan Roy, tu signes un NDA de fou. Tu peux pas aller vendre le truc à un média. Tu vas te faire prendre un procès dans la gueule par Waystar, par la famille, par tout le monde. C'est comme dire demain, Meghan Markle, elle divorce et elle peut aller tout raconter sur la famille royale. C'était déjà un ride pour elle de raconter ce qu'elle a raconté. Et je pense que les 90%, tu peux pas les dire parce que T'as signé ouais, des trucs sûr. Et... Enfin aussi, tu vois, on a, je crois qu'on a dit dans le live de pré-saison que probablement que Logan Roy, il a fait tuer des gens, tu vois. Genre, c'est potentiellement des gens qui font tuer oui. des gens aussi, quoi. C'est pas oui. juste un risque financier et de réputation, donc... Je pense pas... Moi, je suis pas dans l'idée d'elle, surtout avec que 6 épisodes, je pense pas qu'elle va aller tout raconter à la presse. Je pense qu'on est sur une vraie détresse, aussi un vrai choc. Et c'est peut-être aussi faire le deuil, non pas seulement de Logan, mais de toute la vie qu'elle avait imaginée avec Job Haïtienne, les bah, revues et tout.
Mariage.
Bah ça, tu mariage. Vois, elle dit, à, ouais, elle dit à Roman, on parlait mariage, il disait qu'il allait écrire à ses avocats, est-ce que tu peux regarder ? Parce que c'est pour ça qu'elle veut monter aussi. C'est parce qu'elle veut voir s'il n'y a pas une note qui confirme que, selon elle, ça parlait mariage. Tu penses que ça parlait mariage, toi ?
Alors moi, je crois que Logan était très très capable de ménager la chèvre et le chou et de la laisser croire ce qu'elle voulait bien croire.
Ah, je suis d'accord. Après, et que... même de lui dire clairement, enfin, le classico de t'inquiète bébé, je vais quitter ma femme, tu vois, il est vieux comme le monde, donc, enfin, vieux comme le mariage au moins. Donc, même sans dire je la laisse croire, peut-être qu'il lui a dit frontalement, oui, oui, t'inquiète bébé dauphin, on attend la fin de la vente et tout machin, et puis après j'en parle à mes avocats, et puis au final, bah, comme certaines personnes, parfois on se casse littéralement de la vie face à des situations compliquées et d'urgence, on est là, je vais check out avant de devoir gérer ce truc. Complicado. Kendall veut salir son père, donc il peut engrainer Kiri à parler. Ah, c'est vrai, Navo, on en parlera dans les prédictions à la fin, mais c'est vrai que là où Roman ne veut pas, a priori, salir son père, peut-être que Kiri va être un atout pour Kendall dans sa croisade contre l'héritage de Logan. Et d'ailleurs, il me semble que Hugo l'amène dans les potentiels sujets dont il pourrait parler. Ils disent, il y a la mère de Connor, la situation à Kiri et tout, parce que bon, c'est quand même son assistante et tout. Enfin, c'est... On parlait de délit d'initié, le délit de sauter son assistante, c'est pas... Fifou. Et oui, comme dit pas Marty, ça parlait, même si ça parlait mariage, le gars est mort, il est marié à Marcia, donc whatever. Oui, oui, je sais, mais elle espère, quoi. En ouais. fait, elle, là, tout le monde est en train de lui dire, girl, le mec est mort hier à 17h11, oui. toi à 17h12, t'as arrêté d'exister et d'être bienvenue. Et je pense qu'elle essaye de rester présente dans ce milieu comme Tom. C'est une bonne comparaison que t'as faite. Sauf qu'elle, elle est mariée à personne, donc, peut-être est-elle enceinte. Finalement, on ne sait pas. Ensuite, c'est Kendall et Stewie. Est-ce qu'on a kiffé Kendall et Stewie ?
Écoute, moi, j'ai pas de... Enfin, moi j'aime bien les petits moments de camaraderie. Après, j'avoue que je suis beaucoup moins sensible aux fossettes que toi.
Non, mais au-delà des fossettes et du charme physique de Stewie qui porte le col roulé comme personne, moi, je trouve le perso, il est cool parce que c'est un peu une version genre... T'es presque Kendall, mais t'as l'air plus normal, tu vois. Toujours un requin de la finance et tout, mais Stewie, je suis là, j'ai l'impression qu'il a des potes et des vrais gens dans sa vie, et pas comme Leroy. Il a l'air plus normal. The same, but different.
Écoute, ok. Oui, enfin oui, bien sûr qu'il est plus normal que... Mais pour moi, en fait, tu peux pas lui faire confiance non plus, quoi.
Bah à la fin business is business tu vois et voilà. il peut te faire un deal à l'envers mais je pense pas qu'il te fera une Kendall où il te fait un deal à l'envers parce qu'il a des daddy issues éclatées et tout tu vois je pense que ça sera toujours oui. le business et bah j'ai une meilleure opportunité tu m'en veux pas la prochaine fois c'est toi qui va me la oui. faire à l'envers tu vois et là d'ailleurs bah il dit
d'ailleurs
à...
il lui dit
ouais comment il lui dit il parle de ses poils pubiens
tu dis la dernière fois ils ont senti le roussi.
Ils l'ont traduit comme ça. Les poils pubiens. Je crois qu'en anglais, c'est genre, je me les suis coincé dans la braguette. Tu vois, je me suis fait un peu tirer les poils pubiens la dernière fois que j'ai été dans ta team parce que,
je t'ai fait confiance.
Rappelons que Stewie et Kendall devaient sortir Logan de la boîte déjà saison 1. Mais Kendall a malencontreusement laissé mourir un gars dans un étang en Angleterre et du coup, sans jamais pouvoir dire à Stewie pourquoi. Il s'est retourné contre lui, il est devenu robot Logan en mode je fais ce que mon père me dit de faire. Et Stewie, il a jamais su quoi. Et là, Kendall, il lui dit au max qu'il peut lui dire parce qu'il lui dit j'ai dû prendre du recul pour ma famille, il n'y avait aucune carte qu'il n'était pas prêt à jouer contre moi.
Contre moi, ouais. C'est horrible, mais oui.
Moi, j'ai l'impression que Stewie, il comprend ce qu'il veut lui dire, tu vois. Il est là en mode, ok, genre, je sais que ton père, il était éclaté, et je comprends que t'es en train de me dire que, bon, je sais pas ce qu'il avait sur toi, mais il avait des trucs, quoi. Et peut-être sur ses enfants aussi, parce que je pense que Kendall, quand il dit My Family, il parle aussi de... Qui se souvient que Kendall a des enfants, finalement? Pas lui, lol. Et donc, Kendall dit à Stewie, voilà, soutiens-moi, au pire, fais-le comme une faveur pour ton meilleur pote le lendemain du jour de la mort de son père. Et il dit, moi, je veux que le deal arrive. Kendall, parce que Stewie, il lui dit, écoute, là, tout le monde veut le deal, ok? Et toi, historiquement, tu fais quoi dans la vie? Tu fais pas ce qu'on veut que tu fasses. Donc, est-ce que si je te soutiens, tu vas faire le deal? Et Kendall, il dit oui. Tout le monde aime le deal, y a pas de problème, c'est un intérim, je fais le truc de PDG, je signe la vente à Gojo, et ensuite, de toute façon, moi et mes frères et sœurs, on a des projets, les news, Etienne, Pierce. T'es à combien de pourcentage de je crois que Kendall, il veut mener le deal à bien?
Euh, 15%.
Je pense que je suis pareil. J'allais dire genre entre 10 et 20.
Pour moi, c'est vraiment... En fait, pour moi, il a vrillé à partir du moment où il a vu que papa, il avait écrit ce truc, quoi, tu vois. Et c'est fini. En fait, on le rattrapera plus. Pour moi, c'est vraiment ça.
Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Stewie lui demande est-ce que ça va bien dans ta tête, quoi. Parce qu'il y a aussi ce truc à demi-mot de personne ne parle jamais d'à quel point Kendall, il est touché par les addictions. Il a quand même, il y a eu tout un épisode la saison dernière où on n'était pas sûr qu'il soit pas mort dans une piscine au mariage de sa mère. Enfin, gars, il va très mal depuis un moment, quoi. Donc, je comprends aussi que Stewie soit là en mode, mec, ton père vient de mourir. Es-tu en état de prendre des décisions business? Mais il décide de le soutenir. Et je pense que c'est en partie parce qu'ils sont vraiment copains, autant qu'on peut l'être dans ce monde bizarre. Alors, il y a Steel Marty qui dit Stewie voulait renégocier le deal. Ouais, Stewie et Sandy, ils sont dans l'équipe de, il y a deux épisodes, qui disaient, on veut faire en sorte que Madson paye plus, donc on va essayer de renégocier le deal. Et Kendall, il a dit ok à ça, une fois qu'il a appris que s'ils font ça, Madson, il va annuler le deal. Donc il était plutôt dans le truc de le faire à l'envers à son père. Là, il dit, je vais faire le deal, le mener à bien, et ensuite, I'm out, vous avez plus besoin d'entendre parler de moi. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'une fois, et d'ailleurs tout le monde, c'est pour ça que tout le monde prend autant au sérieux cette annonce de PDG intérimaire, c'est parce qu'ils savent très bien que c'est temporaire le temps que c'est temporaire et que ça peut très bien devenir définitif, quoi. C'est quand même un gros symbole. Et du coup, c'est le moment où Ken et Shiv et Roman et pas Connor, qui vraiment s'en va sans même qu'on ait besoin de lui dire qu'elle a « ouais, je vous laisse, hein, clairement je suis pas impliqué dans ces décisions de l'héritage de notre père dont je suis le fils aîné ». Pourquoi je serais là? Mikasa, est-ce tout casa? Lui, il va mesurer des trucs avec Willa pour faire tomber des murs porteurs et repeindre des tapisseries, tu vois, il est au top. Ça va maroufler sec. Il y a ce débat entre les trois de qui devrait être chef et pourquoi ça devrait être moi, avis global de trois personnes. Et quand on est trois, ça finit toujours en deux contre un. Qu'est-ce qu'on en dit, Fabrice?
Bah, pour moi, c'est pour ça qu'il faut jamais faire trois enfants. C'est que,
et oh, j'ai deux sœurs, ça va très bien.
Mais on est bien d'accord que c'est toujours deux contre un.
Non, nous, c'était nous contre nos parents, surtout.
Oui, ok. Mais
non,
en
mais
fait,
oui, il y avait des deux contre un. Non, oui, je suis d'accord
avec
toi.
Au sein de la fratrie.
Oui.
Au sein de la... Je ne sais pas comment on dit. De la sororité.
De la sororité. Ouais. Non, la sororité, oui, je suis d'accord avec toi.
C'est toujours deux contre un. Et en fait... Moi, ayant grandi dans une famille de trois, je vois exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est toujours deux contre un.
Rappelle-moi,
c'est jamais...
toi, t'es l'aîné?
Je suis l'aîné, en plus, donc je gagne, moi. Je suis au top, de la chaîne alimentaire.
Alors, t'es l'aîné, t'es un mec. C'est... Parce que moi, l'aîné, du coup, c'est une de mes sœurs, et je suis pas sûre qu'elle dirait « je suis l'aîné, donc je gagne ». Elle a pas mal râlé sur... un peu « I'm the eldest son », tu vois. Des fois, elle était là « en fait, je suis l'aîné, je suis la plus vieille, pourquoi elles ont tous les trucs cool et pas moi, quoi ?» Ce qui... Comprends, tu vois,
alors,
t'es en mode
oui, j'ai eu ça aussi. Ah oui, j'ai eu ça aussi, bien sûr. Mais ça, c'est un truc que tu peux pas savoir quand t'es pas l'aîné. C'est-à-dire, juste à quel point, parfois, ton frangin ou ta sœur, ils ont découpé à la machette, tu vois, dans la jungle pour faire en sorte de
frayer
un chemin à toi derrière. À toi, tu ne sais pas, en fait. Tu t'en sais jamais
toi,
derrière.
Là,
parce que toi, pour toi, c'est juste normal.
Dans la jungle. Tranquille.
Tout à fait. Donc, voilà. Pas d'accord, signer un mec en couple. Bah oui, mais c'est pas.
Je pense pas
ça
que c'est
pas
pareil.
Ce n'est pas la même dynamique.
Et je pense qu'avoir des négociations. En fait, signer un mec en couple, le jour où t'es un mec marié à deux meufs ou à deux personnes et que vous divorcez et que ça se passe bien entre les trois, Tu vois, genre, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il faille gérer qui devient chef du truc, qui a l'argent, qui a machin, tu vois, qui a la garde des enfants et tout. Je pense que ça, déjà, à deux, c'est compliqué. À trois, ça l'est forcément. C'est un thème récurrent de succession de, ils sont trois et du coup, il y en a toujours deux qui finissent par, il y en a un qui finit outvoted. C'est vraiment très Survivor cet épisode, j'adore. Et, bah, d'ailleurs, Roman, dans l'épisode précédent, quand il était pas ok au moment d'un truc sur la mort de leur père, parce qu'il était là, en fait, on n'est pas sûr que papa soit mort. Et, bah, les deux autres étaient là, vraiment, on est sûr que papa est mort, enfin. Il faut accepter qu'il est mort, et il était là, quoi, je suis outvoté, c'est ça, genre vraiment, vous êtes deux contre moi, et du coup, c'est un vote, et c'est comme ça aussi qu'ils voient le prisme de leur relation, mais là, on est clairement sûr. Qu'est-ce qu'on pense de cette issue pour qui dirige, du coup, à la fin? Waystar Royko, en intérim, bien sûr.
Bah, Roman et Ken, qui yes. décident tous les deux que... et je suis assez d'accord, en plus, avec cette décision, c'est-à-dire, ok, en fait, si on se met tous les trois à la tête... Il y a un peu un côté népotisme et ok, on vous fout tous les trois à la tête et parce qu'en fait vous êtes les trois enfants, peut-être en fait tout simplement que c'est plus sympa, c'est plus simple et ça fait moins gros sabot si il y a que Roman et moi, parce que Roman c'est le CEO.
CEO, du coup on est d'accord que c'est genre directeur, enfin il y a PDG. Et CEO, c'est le numéro 2, c'est Chief Operating Officer.
Ouais, c'est ça.
Donc en français, c'est quoi? C'est directeur des opérations? C'est genre. Pour moi, il y a PDG directeur.
Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, c'est un peu le DG adjoint, quoi, tu vois.
Ouais, ok. Donc c'est vraiment un poste important. Et ça a l'air d'être un truc, genre, il dit, comme je suis CEO, c'est déjà. Il parle de draft plan, le truc de genre, en gros, de ce que j'ai compris, c'est genre dans le process normal.
Il est dans le process. Ouais, c'est ça. Il est dans le process déjà.
Ouais. Mon nom, il est déjà quelque part, quoi. Là où Shiv, c'est juste, c'est un peu juste la fille d'eux, quoi, au final.
Bah, oui, c'est ça. Et puis, en fait, elle a aucune expérience. Ils disent aussi, t'as aucune expérience dans la boîte, etc. Donc, si on veut faire en sorte que ça passe le mieux possible vis-à-vis des marchés, parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est peut-être une bonne idée qu'on y aille que Roman et moi. Et effectivement, c'est dur pour Shiv, mais en fait, quelque part je comprends cette décision, quoi, c'est-à-dire que il y a un peu, enfin je comprends la réflexion qu'il y a derrière.
Oui, je la comprends aussi, et en même temps je pense que encore une fois il faut pas oublier l'aspect genré, tu vois, c'est aussi les deux gars qui disent à la meuf non.
Oui.
Dans un monde et un business qui est très patriarcal, et je pense que tu peux, en fait c'est vrai. Mais comme souvent dans Succession, plein de choses sont vraies à la fois, et tu peux raconter la même histoire et décider de la spin autour de, on va mettre Shiv justement parce qu'elle est pas ternie, parce qu'elle a pas essayé de mettre son père en taule et de faire couler la boîte comme Kendall, parce qu'elle a pas une attitude bizarre avec l'intégralité du monde comme Roman, et parce que c'est une meuf et un peu une meuf de gauche, tu vois. Et du coup, on peut la mettre on emmène la compagnie vers un avenir différent et plus moderne. Tout en ayant en dessous Roman et Ken qui assurent du coup la stabilité, la transition et l'héritage de Waystar, tu vois, on pourrait imaginer ça en fait, s'il y avait plus de Shiv, s'il y avait plus de gens dans l'équipe de Shiv que littéralement juste Shiv, et potentiellement Tom, mais en vrai je pense qu'elle a compris que Tom il sera toujours dans sa team à lui, donc elle a pas trop envie de lui faire confiance et de se reposer sur lui. Après c'est vrai que Shiv elle a pas beaucoup d'expérience dans la boîte, mais voilà, elle a pas beaucoup d'expérience dans la boîte et au moins elle a jamais essayé de la couler en faisant des fucking allocutions publiques en disant que le PDG qui est son père il devrait aller en taule, tu vois, enfin c'est aussi ça quoi.
J'avoue.
Et alors Navo dit le plus légitime depuis le début c'est Ken, il est formé pour, son seul défaut c'était l'impatience, Shiv et Roman ils sont éclatés. Alors oui, mais par exemple la saison 1 sous sur Ken qui fait un gros deal en rachetant c'était Volter, une boîte, c'est Vulture quoi, c'est un média web un peu cool. Et Logan est persuadé qu'il l'a acheté beaucoup trop cher parce qu'il s'est fait avoir par son propre enthousiasme et il s'est pris de la poudre aux yeux. Et pour l'instant, les instincts de business de Logan ont l'air, a priori, ils sont assez bons. Donc c'est aussi Ken, on l'a pas vu beaucoup taffer en fait.
On sait pas trop.
On sait pas.
On sait pas trop parce que, en fait, pour moi, en fait, c'est pareil que Logan lui demande de sacrifier Vulture au nom de. D'une forme de loyauté qu'il a vis-à-vis de lui, quoi, tu vois. Et donc, il le fait comme un bon petit soldat.
Non, mais avant qu'il lui demande de le sacrifier, dans l'épisode 1 de la...
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Pardon, il est fâché qu'il ait acheté Voltaire trop cher. Il lui dit tu t'es fait arnaquer.
Ah oui.
Et je pense qu'il y a un côté où Kendall, probablement qu'il était légitimement enthousiaste de ce nouveau média moderne et de moderniser la boîte de son père, mais aussi probablement un peu trop enthousiaste. Enfin, tu vois, c'est typiquement le genre de connard qui achète des vestes Gucci qui coûtent 8 SMIC. Donc oui, probablement qu'il a overpay. Et on a pas... Alors, tu vois, il y a Navo qui dit tu mets Roman et Shiv aux commandes, ça se branle contre des vitres en faisant exploser des fusées, puis ça fait des presses dégueulasses en négociant mal. Je suis désolée, mais Kendall, il a réussi quoi professionnellement depuis le début de la série, hein? Je dis pas avant.
Pas
on sait qu'il a fait ses études de commerce à Shanghai. Enfin, il a fait tout son business parcours avec Stewie et tout machin. Hein. Mais on l'a pas vu réussir beaucoup de business. Quand il a essayé, il y a un moment où il essayait de racheter une boîte d'artistes. C'était ultra gênant, ça marchait pas. Tout le monde se foutait de sa gueule.
Oui.
En fait, il a fait un ou deux gros coups contre son daron, mais en business, on l'a pas vu être super fort. Mais je trouve ça intéressant que la série, elle arrive à nous mettre dans la team de bah ouais, il peut pas y avoir Shiv, alors qu'en fait c'est juste il nous présente le c'est le seul prisme qu'on a sur la situation, c'est les deux gars qui disent voilà pourquoi on peut pas avoir Shiv. Je suis là ouais, mais il y avait pas deux personnes qui nous expliquent pourquoi on peut pas avoir l'un d'autre de vous deux, tu vois. Ou ne serait-ce que bah en fait, on peut pas mettre Roman parce que Jerry clairement elle veut sa part du gâteau et qu'elle a des fucking dick pics de lui et que si ça sort on est dead, tu vois. Enfin, ils ont tous des casseroles au fion, mais bizarrement c'est que Shiv qui a pas assez d'expérience et ça enfin elle le sent. En vrai, elle est fâchée, quoi. Et du coup, c'est l'heure du couronnement.
Bah oui.
Kendall Logan Roy, King of the Andals and the First Men, First of His Name, Protector of the Realm. Est-ce que t'as kiffé la scène... Donc, il y a d'abord la scène dans la bibliothèque en huis clos, et ensuite l'annonce où du coup, ça applaudit et tout. Qu'est-ce que t'as pensé de ce fameux dénouement où, alors, c'est une succession certes intérimaire... Mais on a enfin une succession à Logan Roy, c'est quand même le titre.
Bah, ça vient, je trouve, moi, ça vient comme un cheveu sur la soupe, et je trouve ça génial, justement, que ça vienne comme un cheveu sur la soupe à ce moment-là. C'est que, on comprend pas vraiment que c'est arrivé, et en fait, ça arrive, et il fait, ah, ok, donc en fait, là, vraiment, c'est officiel. Ok, bah, donc, mais je trouve que ça va vraiment très, très vite.
Mais
là
oui.
Où on pourrait justement s'imaginer un couronnement et tout, pas du tout.
Mais moi,
c'est
j'ai
juste,
pas compris parce qu'il parle dans la pièce. Quoi. Et je pensais, enfin, tu vois, ils n'arrêtent pas de dire, il y a un appel avec le conseil d'administration à midi et tout. Et en fait, bah, c'est malin, mais ils font ce truc où ils montrent pas l'appel, il n'y a pas besoin. Du coup, alors par contre, moi, je sais pas combien il y a d'autres gens dans le conseil d'administration. Parce que là, on avait.
On s'en fout.
Bah, on s'en fout peut-être. Mais du baf, oui et non, parce que je me rends. Là, tu vois, j'ai l'impression qu'une fois que tous ces gens-là, ils s'étaient mis d'accord, donc Carl, Frank, Jerry, Kendall, Roman, Shiv, et encore Shiv, elle dit rien. Donc 6 personnes. S'ils disent c'est Kendall et Roman, entre guillemets, ça suffit, tu vois. Et je suis là, ok, mais du coup, le board et tout, c'est qui? Je comprends pas trop les trucs business des fois.
Ouais.
Mais bon, c'est le résultat.
Mais on
qui
s'en
compte.
Fout. Oui.
Ah, ce connard de Greg qui est là. Long live the king! Long live the other king et tout. Mais quel suceur, celui-là, je le déteste. Je le déteste.
Bah
j'essaye
oui.
De pas parler trop fort parce que mon mec a pas vu l'épisode et qu'il vient de passer dans le couloir, mais waouh. Je le hais. Mais après, il sait. Quoi? Après, il sait que je hais Greg. Ceci n'est pas un spoiler. Je hais Greg, Valentin. Je le hais. D'où tu l'aimes bien, n'importe quoi? Personne n'aime Greg dans cette maison, c'est illégal. Y a un tout petit truc avant de... Alors, on a parlé un petit peu de la chute de Shiv et de ce qu'on pense que ça signifie ou non pour son état. Donc, on va pas s'attarder dessus. Mais il y a quand même ce moment où Shiv accuse le coup. Et elle croise... File-toi. Elle croise Marsha dans l'escalier et et Marsha lui dit est-ce que ça va et tout, et Shiv elle est en mode c'est le moment où elle est en mode tout le monde me casse les couilles, tu vois, non. Et Marsha elle la regarde de haut en bas une ou deux fois, et j'ai vu des gens sur Reddit qui étaient en mode Marsha à la cloque qu'elle est enceinte, genre elle a figé qu'elle est enceinte, parce que donc depuis le début de la saison Shiv elle porte beaucoup de noir, donc c'est des trucs où on voit pas trop les reliefs, et beaucoup de blazers boutonnés au niveau du ventre. Et d'ailleurs dans cet épisode elle passe beaucoup de temps à se reboutonner le blazer, elle, apparemment, quand Tom s'assoit, enfin, elle a tendance à protéger beaucoup son ventre, ce qui est pas, voilà, ce qui est pas inintéressant quand tu le sais. Et du coup, il y a des gens qui pensent que Marsha a compris que Shiv était enceinte. Ce qui est un peu un truc de l'instinct féminin magique, tu vois.
Ouais, et puis tu sais, t'as toujours des femmes qui captent ça, genre parce que t'as une forme de glow que les femmes enceintes ont, et qu'apparemment, si toi-même t'es passé par là, tu vois un petit peu, t'arrives à percevoir ce qui se passe chez les femmes.
Voilà, chez les femmes. Donc peut-être, je pense que c'est dans tous les cas, les gens qui ont cette info ont un levier sur Shiv potentiellement. Et oui. Je serais personnellement terrifiée que Marsha ait un levier sur moi. Donc, et la dernière fois qu'elle a parlé à Shiv, encore une fois, elle n'a pas été très tendre. Donc à voir comment ça se passe.
Oui.
Et ensuite, bah, scène finale, enfin scène quasi finale, intro à la scène finale, Kendall et Rom sont dans le bureau de leur père, apprennent qu'ils faisaient du sudoku.
On a parlé de la chute tout à l'heure.
On peut en reparler si tu veux, mais on a parlé surtout que ça veut pas dire faut se coucher ou quoi.
Grand chose.
Voilà.
T'as raison. Pardon.
Moi, c'est juste un moment dur dans la vie d'une femme. il faut que je le dise. À la journée d'appel de la préparation à la défense, là, la JAPD, la journée militaire que t'es obligé de faire et tout.
Mm-hmm.
Anecdote de vie de bolosse de ma vie. C'était vraiment très dur pour moi parce que j'étais en anxiété sociale de fou. Revenir dans la ville où j'ai grandi, avec tous les gens où j'étais au collège et lycée, c'était pas ma vision du paradis. Et c'est probablement une des journées où je me suis le plus ennuyée de ma vie. Mais j'ai fait ce truc où, au milieu du genre de self, du coup, du réfectoire, de la caserne, où il y avait du coup, pas juste mon lycée, l'intégralité des gens de ma tranche d'âge et de mon année qui passaient leur JAPD en même temps. Et je me suis croûtée avec mon plateau en plein milieu du réfectoire. Et c'était très dur.
Donc, voilà. Good job.
Qu'est-ce qu'une chute dans la vie d'une femme? Quelque chose dont on se souvient 15 ans après. Mais ça nous empêche pas de shine. Ok, c'est pas grave. Quid de Ken et Rom dans le bureau et de cette petite discussion relations presse, relations publiques, comment on spin finalement cet héritage, cette succession en...
C'est intéressant parce que dans ce monde du 21e siècle, tout n'est qu'une histoire d'histoire qu'on raconte et de storytelling.
Oh, comme, dans le monde d'avant aussi,
pour
tu sais.
Hein. LinkedIn. Ouais, mais d'autant plus dans ce monde. Tu vois, effectivement, on peut partir du principe que peut-être la Bible, c'était la toute première forme de storytelling ever, tu vois.
Oui, non, mais non, il y en avait avant aussi. Hein. Mais non, je sais plus de. Avant, les gens.
Les grottes de Lascaux.
Oui, en vrai. Je suis à fond dans un. Je suis en train de lire un bouquin, La Sapiens, sur l'histoire de l'humanité et tout. Je suis un peu dans l'anthropologie.
Trop bien.
Je vous en ferai un live si c'est bien. Non, je pensais plus à. Avant, en fait, les gens, le petit peuple, n'est-ce pas? La plupart des gens n'avaient pas de contact avec les dirigeants et les machins. Tout n'était que storytelling, tu vois. On te dit, le roi, c'est machin. Oui. Il habite à 800 km, il vient de gagner une bataille contre 1000 pélos. Et t'es là, moi, je connais personne qui y était. J'ai pas Twitter pour voir les vidéos en direct et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, ça a toujours été une histoire de storytelling.
T'as vu le dernier duel ou pas?
Non, c'est bien. C'est le truc avec Matt Damon. Il paraît que c'est bien.
Oui.
Ben, je regarderai.
C'est sur Disney+. Let's go.
Cool. Ok. Merci de me prêter ton Disney+.
Avec plaisir.
Du coup, donc cette histoire de storytelling, qu'est-ce qu'on en pense?
Bah oui, donc il y a Carolina et Hugo qui sont là. Ok, les gars, comment on parle, comment on présente votre nomination? Est-ce qu'on y a plusieurs façons de faire? Soit on la présente de façon sympa, soit on la présente de façon beaucoup plus hardcore pour votre daron. Et en fait, on enfonce un peu le daron pour finalement vous faire ressortir vous. Ouais. Quoi. C'est un peu
concept des vases communicants. Et vous montez, ouais.
Et effectivement, c'est très intéressant parce que ils sont en train de leur raconter tout ça et en même temps. Les deux mecs, Roman et Ken, sont en train de regarder son siège là, dans son bureau, et ils ont une sorte de fascination pour ce fauteuil.
Le fauteuil, la veste.
Qui est un peu comme un trône, tu vois, qui est un peu un truc, c'est un peu son manteau, et voilà. Effectivement, il y a ce truc aussi du sudoku qui est un peu étonnant de pourquoi est-ce qu'il jouerait au sudoku. C'est vraiment bizarre.
Il
n'y
en a aucun des deux qui le sait. Et ils sont si tristes de pas le savoir. Genre Kendall, il dit, je crois que je le savais. Je suis là, non, tu savais pas parce que votre père il vous disait rien quoi. Et même Roman pour le coup, qui a passé des soirées tranquilles en tête à, enfin peut-être pas en tête à tête, mais en tout cas à boire du whisky avec son père et tout, relativement plus récemment que Kendall, il savait pas que ce truc aussi simple que ah putain il faisait du sudoku, tu vois. Genre tout le monde qui a un daron qui fait du sudoku, c'est que son daron il fait du sudoku normalement, mais pas eux, pas les Roy.
Oui, puis. Oui, ça prouve aussi que sans doute Logan ne montrait pas ces petits moments de hobby, tu vois, qu'il gardait pour lui, peut-être limite de façon un peu un peu égoïste, quoi, tu vois, de c'est mon moment à moi, et en fait je vais être dans mon bureau et pas le faire dans le salon, quoi, tu vois.
Oui, c'est aussi un truc d'humanité, tu vois. C'est que moins t'es humain aux yeux des gens, plus ils ont peur de toi. Et bah malheureusement, y compris ses enfants, tu vois, mais c'est aussi l'appart où, enfin, l'immeuble où il travaillait beaucoup et tout. Et oui, t'as pas envie d'être Logan Roy, titan de l'industrie, qui se fait choper en charentaise en train de faire son sudoku, quoi.
Exactement.
Malheureusement.
D'ailleurs, j'avais été étonné parce que dans l'épisode précédent, il est en chaussettes chez lui, Logan. Et j'avais, quand Roman vient le voir,
yes.
En fait, j'étais étonné de le voir en chaussettes parce que je me disais, mais je crois que c'est la première fois qu'on le voit en chaussettes.
Et
il
non
est chez
pas
lui,
en
pépouze.
Bas de contention.
Oui.
Foreshadowing.
Ouais. Donc j'ai trouvé ça hyper hyper touchant, et effectivement les deux qui sont en train de leur décrire un petit peu les deux voies possibles, c'est intéressant parce que t'as Roman qui dit, bon, en gros ça voudrait dire que... Il dit un truc du genre, ça voudrait dire qu'il faut qu'on dise que papa c'est Hitler, c'est ça?
Mm-hmm. Je,
en fait, ça,
non,
ça vient très vite
ça,
dans le film d'Edwin.
Il dit c'est opération shit on dad. Dans mon récap rigolo, j'ai dit c'est l'opération papa full Hitler.
Parfois, j'arrive plus à savoir ce qui se passe entre où est la vérité, où est le récap rigolo.
Mais c'est parce que, comme on l'a établi au début de ce live, je suis un peu autrice de succession, l'air de rien. Mais je le dis pas souvent parce que je voudrais pas me la raconter, bien sûr. Ça reste entre nous.
Donc écoute-toi.
Et du
Donc
coup,
écoute, ouais, voilà,
je... parce qu'ils disent, il y a l'opération on embaume Lénine. Et alors ça, la ref, c'est que quand Lénine est mort, ils ont embaumé son corps et ils l'ont laissé à la disposition du public pendant plusieurs jours pour glorifier cet homme et cette figure qui est devenue plus qu'un homme, et pour que le peuple puisse payer ses respects, voilà, témoigner ses condoléances et rendre hommage. Et du coup, l'autre opération n'a pas de nom, et c'est Roman qui l'appelle. Ah oui, donc c'est l'opération on chie sur papa. Et Hugo dit non, pas vraiment. Et Roman, il fait, si, c'est vraiment l'opération on chie sur papa. Mais il fait pas de vanne sur Hitler, je pense. C'est juste moi.
Pardon.
T'inquiète.
Désolé. Je suis perdu.
Tu comprends que Roman, il veuille pas faire l'opération on chie sur papa?
Bah, Roman, il... Bah, bien sûr, Roman, il veut... Roman, il est team papa, quoi, depuis toujours. Donc, c'est le fifi, ça son papa, et c'est... Tu sens aussi que, effectivement, il sait pas pourquoi il est mort, que peut-être il y a de la culpabilité derrière.
Peut-être. Oui, parce que c'est vrai que Shiv, elle amène ce truc de « je pense qu'il est mort à cause de nous, mais aucun des deux autres. » Donc, on sait pas si c'est quelque chose qui les travaille aussi, quoi.
Non, mais c'est sûr que Roman, ça le travaille. Roman, ça le travaille déjà.
Oui, oui, parce que Roman, il a son truc du, oui, oui, du coup de fil. Je suis bête, ouais. Je pense pas que Kendall, il se dit, il aurait peut-être pas été dans l'avion, machin et tout, mais parce que je pense que Kendall, il est là. Ciao. On va devenir PDG.
Kendall, lui, maintenant. Voilà, c'est ça.
Speaking of Kendall, maintenant. Du coup, à la fin de cet épisode, on finit avec un sourire. C'est sympa, ça arrive pas tout le temps. On finit avec un sourire de Kendall Roy, mais ça arrive encore moins souvent. Pardon. Un sourire de Kendall Logan Roy, qui décide de trahir son frère, déjà, et potentiellement sa sœur, parce qu'il avait dit on fait tout à trois, et le premier truc qu'il fait, c'est je vais faire le truc tout seul, et d'aller faire du chantage à Hugo en utilisant ce fameux délit d'initié de Tchekhov, ce god ceinture de Tchekhov, pour l'opération Papa c'est Hitler. Est-ce que t'as kiffé?
Kujit. J'ai très hâte de voir comment Kendall va évoluer et de voir à quel point, en fait, il va peut-être même devenir potentiellement pire que son père dans les 5-6 épisodes qui restent là, où on a 6 heures pour voir à quel point ce gars qui se disait être la version moderne et saine et consciente de son daron va tout simplement finir par... faire exactement comme lui, parce que finalement, est-ce qu'il est possible de faire autrement? C'est très possible que non.
Bah, ça dépend ce que t'entends. Genre, c'est quoi possible? Genre, dans quel but? Pour accroître sa richesse en permanence? Probablement que non. Pour
est-ce que c'est possible
plus, par contre, tu vois.
Oui, oui, oui. Est-ce que c'est possible de rester au top pendant autant d'années en n'étant pas un requin?
Non, je pense pas. Mais je pense que tout le monde dira non, je pense pas, ce sera toujours pareil, tu vois. Si tout le monde se dit faut être un connard pour réussir, tout le monde est un connard parce que tout le monde a une excuse
Bien
pour
sûr.
Être un connard. Donc c'est compliqué.
Mais en fait déjà quand tu vois comment ça se joue entre eux au niveau de la présidence de la République, C'est-à-dire que, enfin, de la République, de la présidence des États-Unis, en tout cas, tu te dis, OK, en fait, ils sont déjà en train de tenir potentiellement par les couilles le président et de se faire tenir par les couilles en retour. Mmh. Et en fait, rien que ça, et c'est un tout petit morceau, t'imagines, tu te dis, mais...
Oui, le business, il marche comme ça.
C'est quoi les implications derrière, quoi? Tu vois, c'est énorme, potentiellement.
Oui, comme dit Steve Marty, c'est un killer, quoi. Et il commence en disant, c'est ce que papa aurait voulu. Genre, à ma place, papa, il aurait fait ça. Et je pense qu'il a raison. Papa, il aurait clairement fait ça.
Bien
donc,
sûr.
Alors.
Mais ça fait 4 ans, ça fait 3 saisons qu'il dit, moi, je veux pas faire comme papa.
Et oui, là, bah, coup comme d'un lui seul, dit Shiv, tu prétends toujours être différent, mais enfin, le même est différent. Mais dans le même est différent, il y a le même quand même, tu vois. Il y a pas. Et elle lui dit d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que t'es le plus dangereux. En fait, t'es la pire parce que Shiv, c'est la seule qui montre quand même une petite sensibilité non fasciste finalement, parce qu'elle est quand même en mode, on a une grosse élection qui arrive et c'est quand même chaud. Là, dans cet épisode, quand Mencken doit venir, elle est là. Vraiment, non, j'ai pas envie de le voir le lendemain de la mort de mon père, et je comprends parce que, enfin, c'est un peu comme si t'avais fucking Éric Zemmour qui vient à la veille funèbre de ton père, tu vois, t'es là, bof. Ouais. C'est vraiment ce genre de figure de la droite, très à droite, quoi. Et du coup, oui, il y a cette idée de tu ne peux pas gagner si tu n'agis pas comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire gagner? Et en effet, c'est ce que papa aurait fait, c'est une super réplique, tout est là. Et ce sourire à la fin aussi. Je trouve que c'est le pire et le meilleur sourire. Ouais, parce qu'on a vu quand même Kendall sourire un peu, rire un peu dans les 4 saisons qui sont passées. Mais on n'a jamais vu ce sourire-là, je crois. Il fait peur de fou.
Il est temps. C'est-à-dire que papa est mort, donc maintenant il peut l'arborer, quoi. Mm-hmm. Effectivement, Vince, je suis assez d'accord avec toi. Kendall, c'est la version soulibarée de Logan. C'est une bonne idée.
Oui. Bah écoute, du coup, ça va c'est nous très amener... possible. Tranquillement vers la fin de ce podcast et du coup faire de ce débrief et du coup les potentielles prédictions qu'on a pour la suite. Alors avant ça, il y a juste un sujet qu'effectivement on n'a pas abordé qui est que il y a la vraie tortue sur le chat qui dit à un moment Roman parle de discussion avec son père que Shiv et Ken ne connaissent pas, c'est très bref, mais est-ce qu'on sait quel dossier il a? Alors tu l'as compris comment toi Fab? C'est quand ils sont en train de négocier qui va être PDG
Pour moi, c'est juste les discussions qu'ils ont dans l'épisode précédent.
Oui, je suis d'accord.
Il revient voir le daron et en fait, il l'a jamais dit à ses frères et sœurs. Tout comme il n'a pas dit non plus que il avait viré Jerry sur ordre de papa, quoi.
Et il leur avait pas dit qu'il lui avait envoyé bon anniversaire. J'espère que tu vas bien. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il parle de ça. Il a pas plus de dossiers que ça. Alors, on ne sait pas s'il savait ce que Logan comptait faire avec Madson et tout. Je pense que de toute façon, Madson va rester dans les parages pour les épisodes à venir, donc on en saura bientôt plus. Qu'est-ce que tu imagines de la suite et de la fin de cette saison? Parce que, en vrai, chaque épisode surprend quand même, tu vois. J'ai beau être là, ouais, les prédictions et tout. À chaque fois, je suis là, j'ai aucune idée de ce que je vais regarder cette semaine. Plus ça va, plus...
Ils ont l'air de dire que ça se termine sur les élections.
Ouais.
Sur le jour de l'élection. Moi, j'espère qu'on va aller en Suède au séminaire de Gojo parce que je trouve que ça serait très marrant de voir la culture. Comment ils ont imaginé la culture de cette boîte, qui est une sorte de Facebook qu'on imagine.
Un peu Twitter, parce qu'en plus, social. Il a un côté très Musk, hein, Madson dans l'idée aussi. Mais oui, c'est un... Alors, c'est aussi un truc de streaming, parce qu'ils disent, c'est un truc de streaming, mais où il y a genre les paris sportifs, la MMA, l'e-sport et des séries et tout. Parce que quand ils parlent du deal, ils disent en gros, nous, Waystar, on a le contenu que les gens y veulent, et vous avez le service de stream qui marche parce que nous, notre appli, elle est éclatée. Donc, il y a quand même ça.
Souvenons-nous un peu Twitch, de ce moment où il va pisser sur l'appli GoStar là.
Ah bah oui, sur l'appli Waystar. C'est comme ça qu'il crée un lien.
On voit dans le générique
avec Madson
en train de bugger.
Non, oui. Dans le générique, on voit l'appli Gojo Waystar, la nouvelle appli.
Ah, tu crois?
Ouais, c'est l'appli mélange des deux.
Putain.
T'inquiète, je suis en décryptage. Je suis sur Reddit. OK. Donc t'as hâte de la du séminaire? du petit team building.
J'espère qu'on va aller voir. J'espère qu'on va voir Gojo. Et en fait, comme je le disais, là, j'ai à la fois hâte de voir comment Ken va évoluer, mais aussi de voir comment Shiv va contre-attaquer. Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a aucune raison qu'elle ne contre-attaque pas.
Je pense aussi qu'elle
va
essayer.
Je sais pas comment ça va se goupiller.
Je pense pas qu'il y a un monde où Shiv, elle se dit, OK, bah, je vais reprendre mes jetons, cultiver mon jardin et me casser d'ici. Et je pense que c'est pas très intéressant. En plus, si le seul perso féminin se barre de la course parce qu'elle est enceinte, encore une fois, c'est pas très... Je pense que la série est un peu plus moderne que ça. Mais là, je t'avoue que j'ai l'impression qu'elle a zéro truc sur lesquels se retourner, à part... On a appris dans l'épisode Menken. 1 de cette saison que elle est quand même en... Il y a l'équipe des candidats démocrates qui la drague. Donc Menken et Connor, c'est des républicains. Elle est démocrate, elle faisait de la com' politique. Mais là, si on est à 10 jours de l'élection... Enfin, même pas, du coup, à 6 jours de l'élection, bon, c'est compliqué de faire un turnover. Par contre, il y a une idée comme quoi peut-être que la mort de Logan apporterait à Connor les quelques points de sympathie qui lui manquent pour aller un peu au-delà des 1%. Et que dans ce chaos, du coup, last minute d'élection, il pourrait y avoir des choses qui se passent. Mais ça, j'avoue que j'ai du mal à me projeter dans c'est quoi la suite pour Shiv. Mais moi, mon hypothèse, mais pas happy end, c'est parce que j'espère, c'est que elle va retomber avec Tom et faire une vie avec Tom et passer sa vie à pas savoir s'il est avec elle pour les bonnes raisons. Tout comme Kendall, il va passer sa vie à pas savoir si son père voulait vraiment qu'il soit chef, quoi. C'est la tragédie de ces gens-là, ils savent pas trop faire des liens ensemble. Oui, comme dit Navo, l'appli s'appelle Go Star, donc Gojo Waystar.
Oui. Moi, il y a un truc qui, je crois, va me manquer si effectivement on a cette fin de saison sur 10 jours, enfin on a cette saison complète sur 10 jours et donc finalement il nous reste 5 jours. C'est que mais peut-être qu'ils le feront, hein, tu vois, mais c'est d'avoir une fin à la Six Feet Under. Alors, désolé pour les spoils, mais en
ça
gros, la fin de Six Feet Under, c'est vraiment, ils te projettent dans le temps, en fait, en l'espace
genre,
de quelques minutes.
Et 10 ans plus tard. Ou c'est toute leur vie.
Ouais, c'est, je te spoil même pas, mais c'est complètement ouf. La fin de Six Feet Under est folle, vraiment. Donc, vous pouvez même aller voir, genre, Six Feet Under Ending, si ça vous intéresse pas, parce que ce moment de télévision est complètement fou. Et effectivement, je trouve ça, en fait, je crois vraiment que je vais avoir un seum. Je le sens venir gros comme une maison. Et tu vois, il y a deux épisodes, enfin, il y a deux semaines, je te disais, en fait, peut-être que j'ai plus envie de regarder. Mais là, maintenant qu'ils m'ont ressaucé, je sens que ça va être dur pour moi de me dire, OK, en fait, en gros, ça veut dire que dans 10 jours, on va avoir tous les arcs qui vont se terminer. Et peut-être même potentiellement pas, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, on saura jamais.
Il y a forcément des trucs en suspens. Hein.
Qui était Rosa. Tu vois, on n'aura jamais cette histoire. Et en fait, ça en dit tellement long sur Logan. Et tu vois, il y a plein de choses de Logan qu'on ne saura jamais. Et je trouve ça un peu triste, en fait, parce qu'ils ont creusé les personnages de façon tellement profonde, là, que je sens que ça va s'arrêter très brutalement et que ça va nous laisser sur notre faim et qu'on ne saura pas, finalement, tu vois, ce qui va se passer après.
Ouais.
Est-ce que Tom est vraiment le mec du générique?
Je sais pas. Et je pense que, pour le coup... S'ils nous disent rien jusqu'à la fin sur Tom, c'est le mec du générique, c'est que c'est pas le mec du générique, tu vois. Je pense que c'est pas genre, ils ont volontairement laissé le flou. C'est genre, non, les gars, ils ont fait un générique saison 1 pour une série qui s'appelle Succession où le daron devait mourir. Du coup, dans le générique, qui est une famille à l'ancienne avec un daron et ses enfants, c'est le daron de la série et ses enfants, c'est genre logique. Mais je me prépare au potentiel plot twist. Ça reste HBO, finalement, on ne sait pas. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect frustration, surtout que c'est pour ça que je voulais pas à la base raconter avant que ce soit très public que toute la série c'était 10 jours, parce que je trouve que ça empêche de, tu vois, genre je sais qu'on verra jamais Shiv maman, du coup, parce que pas le temps, on verra jamais Connor, je sais pas, briguer un deuxième mandat de président parce qu'il va peut-être être président, enfin tu vois, on saura jamais comment ces gens évoluent, et en même temps... Je trouve que la série est tellement actuelle et tellement dans son jus et moderne que ce serait audacieux de prétendre représenter dans 10-20 ans à quoi ressembleraient ces persos et le monde, tu vois, parce que c'est quand même une série qui est très, 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 très une série de son époque. Je pense qu'il va y avoir un dilemme entre Waystar et Shiv pour Tom, dit Navo, et qu'il va choisir Waystar et qu'on va péter un plomb. Mais on va pas péter un plomb, c'est évidemment ce qu'il va faire. Bien sûr, c'est son arc. Il l'a déjà fait la saison dernière, hein. Il a choisi Waystar par rapport à Shiv. Genre, il nous a dit...
Bien sûr.
Dans Succession, les gens, ils disent qui ils sont et je pense qu'il faut les croire. Hein. Et on peut dire, oui, mais il était blessé et tout, mais à la fin, il l'a fait. Enfin, qui trahit sa femme auprès du père de sa femme pour qu'elle perde son héritage. Enfin, qui fait ça, tu vois? Oui, mais il s'était engueulé, elle était pas sympa. Bah, cool, divorce-la, du coup. Va pas faire ça, va pas la trahir. Bref, ouais. bref.
Horrible.
Est-ce que tu as des choses à ajouter, Fabrice Florent?
Eh bien non, parce que ça fait 3h30 qu'on est en live.
Non, sérieux?
Et que...
J'ai pas l'heure sous le nez, il est vraiment... Oh putain, il est 23h30, incroyable. Sorry, fallait me dire, hein.
Et toi qui aimes les podcasts longs, là, je crois que t'as servi ta commu, là.
Merci Fabrice de m'avoir accompagné pendant 3h30. T'as le droit de me dire quand c'est long, après j'accélère, hein.
Ah mais non,
pas de problème.
J'ai kiffé. C'était juste. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? RDV la semaine prochaine.
Oui.
Je ne serai pas disponible.
Mais ça sera super.
Mais
ce sera.
Mimi aura trouvé un
différent, but the same. Différent, but aussi bien. Alright. Ben merci Fab d'avoir été là, comme toutes les semaines, merci, presque. Merci le chat, merci les raiders, merci à celles et ceux qui ont découvert la chaîne et qui sont restés. Merci Navo pour ta participation, merci Tortue, merci Darvec, merci tout le monde. Moi je vous donne rendez-vous jeudi pour un live jeu vidéo, a priori. Et maybe ce week-end pour un autre live. Voilà, on verra. Des gros bisous.
Et pas de problème technique?
Mais non, pas de problème technique. Bravo Internet, voilà. Et merci encore une fois à Nodus, grâce à qui je ne saurais pas faire des lives. Fabrice, on te retrouve sur tes différents flux podcasts comme d'habitude.
Tout à
et
fait.
Et un peu sur Twitch aussi.
N'hésitez pas à venir me suivre.
Abonnez-vous néanmoins.
Je vais revenir sur Twitch, les gars.
Vous aurez eu l'info.
Faites-moi
ici, je vous fais un shout-out. Je te fais un shout-out dans le chat. Shout-out.
Venez me follow.
Fabrice Florent.
Je reviens avec des soirées libre antenne bientôt.
Trop bien, je pourrais venir des fois.
Oui, tu viendras quand tu veux.
Trop bien.
Surtout que maintenant, on sait comment marche la visio.
Mais oui, c'est fou. J'ai même pas à venir de façon physique. C'est fou.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup.
Des bisous.
Internet, à très
Salut.
Bientôt. Merci Fablo.
Ciao.
Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Vous pouvez retrouver le reste de mes contenus audio sur le flux Mimi Hegel, mais en podcast. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Pour les récaps rigolos de séries, ça se passe sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une très belle journée et un grand merci à Valentin Nortier pour le générique.